patience, my friend.
Afraid, are you?
This station is being brought to you via Nullsoft Shoutcast streaming technology. For more information, visit shoutcast.com.
Bonjour, je suis Patrick Giraud, responsable du Lucasfilm Magazine, le magazine officiel de Star Wars en France, et vous êtes sur Star Wars en direct.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Citlan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars.
Plusieurs dossiers sur la saga.
Des événements et rencontres entre fans.
Un énorme forum de discussion.
Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct.
Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe.
Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Star Wars en direct est une présentation de SimpleNet. Avec SimpleNet, obtenez à moindre frais une vitrine publicitaire pour votre compagnie ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Jam its transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinate tractor beam is pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Et bienvenue à tous. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Mon nom est Lunatique, je suis en compagnie de Will Mutaze.
Bonjour, bonjour.
Qui est encore en train de lire.
Oui, oui, c'est vraiment passionnant ce livre-là.
et puis Wookie Mark qui va nous parler de Star Wars Galaxy un petit peu plus tard dans l'émission. Et qui devrait être dans le chat bientôt s'il n'est pas déjà dans le chat. Et vous pouvez nous voir sur la webcam, bien sûr, allez cliquer sur l'icône correspondant sur la page d'accueil de StarWarsOnDirect.com. Donc, sujet principal aujourd'hui, le dernier roman, NGU, The Unifying Force.
Fini!
Et puis, juste à temps, comme sujet secondaire, on va voir l'entrevue qu'on a faite à SFX la semaine dernière avec Peter Mayhew. Plus une traduction qui suivra.
En fait, ça fait 2 semaines.
2 semaines?
Ouais.
Ah, possible.
Ça passe. On a eu congé la semaine passée.
Ok. C'est tellement...
Ça va trop vite.
C'est ça. Il va y avoir les chroniques, évidemment. La chronique hyperespace. La chronique de nouvelles diverses sur Star Wars. Et cette fois-ci, Star Wars Galaxies, avec les nouveautés du jeu. Et puis, la chronique événements. Puis, comment nous rejoindre? Par email à studio@commercial.swendirect.com, sur MSN Messenger en rajoutant l'usager swendirect@hotmail.com, et puis vous pouvez nous envoyer des messages par là. Et puis on est sur le chat, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez sur la page d'accueil de swendirect.com, cliquez sur le lien webcam en direct. Et puis qu'est-ce qu'on a en plus de ça? Présentement, nous sommes en train de faire le 50e émission. Si on compte anglais et français ensemble, c'est la 50e émission.
En tous les deux.
C'est en tous les deux.
Oh.
Incluant les éditions spéciales, etc. Donc,
on commence à se faire vieux.
Petit landmark d'atteint.
D'atteint, c'est cela. Quel est le mot que vous cherchiez?
Cette semaine, lundi dernier, l'émission spéciale numéro 3 qui avait eu lieu ici avec la Revanche des Nerds, le reportage est passé lundi dernier. Je viens tout juste de le voir, c'est quand même très bien.
On est tous contents, sauf moi, je m'excuse de ma prestation encore une fois sur la religion Jedi.
Et puis,
je sais qu'on pense pas tous de la même façon.
Exactement. Et puis, ben, si par hasard il y aurait des gens du Lucasfilm Magazine qui écouteraient, ben, j'aimerais bien savoir vos commentaires sur l'émission. On va demander la même chose en anglais. Donc, c'est vous bien. Nous enverrez un email à studio commercial à swandirect.com. Donc, on va immédiatement aller à la prochaine pause musicale et puis on revient immédiatement après à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars avec la chronique Hyperespace. À tantôt.
Chronique est une présentation de Star Wars en direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Nous sommes maintenant rendus au moment de la chronique hyperespace.
C'est Akbar. En passant, je voulais te le dire parce que c'était pas trop clair.
On va parler de tout ça tout à l'heure. Et oui. Donc, pour ceux qui veulent pas savoir les spoilers,
nous vous invitons à baisser le volume pour les 20 prochaines minutes, étant donné qu'on a un mois de news spoiler à rattraper. On va d'ailleurs faire signe à notre ami Wookie Mark de se précipiter à l'extérieur de l'appartement pour les 20 prochaines minutes. Cours! Oh merde! Ouvre la porte avant! Alors, ce qu'on vous demanderait, c'est de ne pas divulguer aucun spoiler dans le forum. On vous demanderait de ne pas divulguer aucun spoiler non plus dans les forums de cette lampe-net ou tout autre forum que vous visitez à la journée longue, à l'année longue, qui ne sont pas permis. Alors, on va commencer tout cela.
Dans le chat aussi, tu as mentionné forum, mais pas dans le chat.
Alors, dans le chat de swendirect.com, où vous pouvez nous voir, vous pouvez toujours aller dans My Room One, où vous pourrez discuter de tous les spoilers dont vous désirez. Sauf toi, là.
Je me parle de quoi, là.
OK. pardon, une petite toux qui fait rage. Mm-hmm. Et évidemment, alors, on vous demande de ne pas divulguer aucun spoiler dans le chat en direct. Sur ce, on va partir. Non, c'est beau.
OK.
Je suis déjà
préparé.
1, 2, 3. Top chrono.
C'est parti.
Alors, on va partir à partir du lundi 3 novembre.
C'est vrai que ça couvre un mois complet, les nouvelles d'aujourd'hui, donc.
Alors, le site officiel nous a dévoilé quelques nouveaux noms. Alors, nous avons Ellie, Guidan Danou, Bana Bremou, Fangzar Moté et la sénatrice Fema Baab. Alors, dans le même ordre, il y a Chantal Freer, Christopher Kirby, Bayling, Warren Owens, Christy Wright et Olive Levy qui vont jouer les rôles de ces acteurs-là. C'est Christopher Kirby, si je ne me trompe pas, qui était à SFX d'ailleurs, qui fait la voix de notre cher...
J'ai aucune idée.
Cyclops dans X-Men Evolutions et la voix de quelques animés japonais aussi.
Possible.
Ellie et Moté sont des assistants de Padmé, les autres personnages sont des sénateurs et des sénatrices. D'ailleurs, dans la même journée, le 3 novembre dernier, on a eu la chance de voir la version bébé du AT-ST, fait par l'artiste, un des fans du site de Force.net, mm-hmm. qui est un très bon artiste d'ailleurs au niveau de ses dessins.
Très des bons sketchs.
Ouais. Très bons sketchs. Alors, le 6 novembre, la couverture du Insider est apparue et nous avons une nouvelle, un scoop pour vous. Ewan McGregor a un énorme mole dans le milieu du front. C'est visible d'ailleurs dans quelques derniers films, mais ça commence à paraître plus. Je sais pas si c'est avec l'âge. Je sais pas, mais ça paraît vraiment.
Dans le milieu, ouais. Non, il est teinté là.
T'as envie de peser dessus, tu sais. Mollet. Dans les autres détails, on voit aussi que le site Indelco News a eu une présentation spéciale au Presidio par rapport à la nouvelle sortie du DVD et de la trilogie originale. Donc, ça m'aurait montré quelques extraits d'épisode 3. On voit un extrait où Anakin est plus sombre que jamais avec une cicatrice à son visage. Un autre extrait montre Anakin, Obi-Wan et Palpatine qui écrasent leur vaisseau en flammes sur la surface de la planète, dont on parle au début du film depuis quelques mois. L'extrait suivant montre l'animation qu'aura l'animal qui transporterait Obi-Wan lors de sa poursuite contre Grievous. Et le dernier extrait montrerait un petit bout du duel entre Obi-Wan et Anakin, mais sans effets spéciaux. Je sais pas si c'est entre Obi-Wan ou avec...
C'est peut-être le même extrait qu'on a vu dans l'extrait vidéo du
Making Of. Le documentaire, exactement, du Making Of qui est sorti la semaine dernière. Très beau documentaire. Et on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. La station de radio anglaise XFM fait une entrevue avec Anthony Daniels. Alors, Jar Jar, il a confirmé que Jar Jar serait brièvement dans le film et que même lui avait une scène avec le Gungan. Le film était plus mature, avec une attention particulière sur les personnages et non sur ce qu'il appelle les gros monstres. Le film est plus sombre, il traite des gens qui sont méchants entre eux. Donc, bon. Ça risque d'être beaucoup plus intéressant comme film, beaucoup plus mature. Bref, 13 ans et plus. On se croise les doigts et on touche du bois. Alors, encore une fois, des détails sur Grievous qui reviennent pas mal les mêmes. Les bras sont squelettiques et l'avant-bras se divise en deux. Le masque est un mélange du masque de Quiet Riot et celui de Ghostface dans le film Scream. Alors, le masque de Quiet Riot, ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, imaginez le masque de fer. Imaginez Dr. Doom aussi, ça ressemble énormément à ça.
Des yeux carrés découpés.
Ouais. Et c'est assez freakant. Je vous invite à passer sur...
Ça fait Jason high-tech.
C'est ça, je vous invite à passer sur TheForce.net pour voir la nouvelle du 7 novembre parce que l'image représentée par le même qui a fait le bébé ATST, très bien réussi. Les jambes sont aussi minces et squelettiques et ses pieds ressemblent à des pieds de dinosaures, les pieds de raptors. Attention, il va s'amuser à vous sortir les tripes avant même d'avoir fini. de vous manger. Vader va être... Alors, le 10 novembre, le site de Force Planet nous a dévoilé des scènes de l'épisode 3. Vader va être présent pour environ 5 minutes dans le film, c'est ce qu'on nous dit. On va le voir dans la scène du réveil, c'est la scène où Anakin se réveille avec son armure robotique et il réalise ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu. Dans cette scène, on le voit sans sa cape et sans la partie supérieure de son masque, comme à la fin de Return of the Jedi. Petit cliché, Knights of the Old Republic, Darth Malak.
Fallait que tu reviennes avec ça. Hein?
Évidemment. Nous allons voir Anakin recevoir le nom de Darth Vader, c'est à ce moment qu'il devient un seigneur des Sith. Et dans la dernière scène, nous allons voir Vader, Tarkin et Palpatine sur le pont d'un Star Destroyer qui supervise le début de la construction de la Death Star.
Ça me semble un petit peu pas une meilleure fin que ça.
Ça, effectivement, ça peut être dur à battre. Peut-être un Wookiee qui se plante dans le windshield du Star Destroyer.
Ça, tu vois Chewbacca.
Ouais, c'est ça.
Dans le wind.
Alors, le 11 novembre, nous avons appris que le vrai prénom d'Obi-Wan est en fait Ben. Mais qu'il a appelé Obi-Wan depuis très très longtemps, alors personne ne reconnaît son vrai nom. Il y a une scène où Anakin et Obi-Wan sont à bord de leur Jedi Starfighter dans le milieu de la bataille spatiale, et Anakin ayant découvert le vrai nom d'Obi-Wan, que c'est pas dans le film, ça risque d'être avant, peut-être dans les Clone Wars, peut-être. Il l'appelle Ben. Obi-Wan répond, c'est pas le moment de faire des blagues, Anakin, tu sais à quel point je déteste que tu m'appelles ainsi. Mais Anakin persiste, est-ce que Qui-Gon savait ton vrai nom? Obi-Wan détruit quelques vaisseaux ensuite, et quelques vaisseaux ennemis, et ensuite il dit qu'il a peur que tout le monde sache son vrai nom maintenant qu'Anakin le sait. Peut-être qu'il va même le garder pour lui.
Une grande trappe Anakin.
Ouais. Et comme moi, pas capable de le contrôler. Suivant la mort de Mace Windu, Palpatine croit que c'est le moment approprié pour mettre à jour Anakin sur son identité. Dans cette scène, Palpatine dévoile son identité à Darth Sidious et Anakin. De Darth Sidious à Anakin, pardon. Et il mentionne ses plans pour créer un empire afin de mettre un terme à la guerre destructive et ramener l'ordre et la paix dans la galaxie. Alors on voit qu'il joue un peu sur les termes, comme Ben avait fait avec Luke pour la mort de son père. Son but est de séduire Anakin. Exactement. Il doit donc être persuasif et convaincre Anakin de ce qu'il fait et la bonne chose à faire sur le plan individuel et pour le bien de la galaxie. Anakin est le seul membre respectable de cet ordre. Il ajoute que les Jedi devraient être éliminés agressivement et violemment. Tel Wookiee élimine son Joe Louis présentement. Palpatine manipule Anakin parce qu'il lui dit que il dit que c'est la mort, c'est un point qui est très vague au niveau des Jedi. On va découvrir une partie des mystères sur les fantômes Jedi. Palpatine dit à Anakin qu'il va partager avec lui une façon de déjouer la mort pour devenir immortel et possiblement aider ceux qui sont proches de lui. Palpatine dévoile à Anakin que Qui-Gon est en fait le premier à prendre avantage de l'habilité à déjouer la mort. Pourtant, Anakin, on voit Qui-Gon, il disparaît pas, il se fait brûler sur le bûcher des Jedi. Donc, Palpatine indique que Qui-Gon était le meilleur des Jedi, car il suivait son propre chemin, suivait ses sentiments, il ne suivait pas aveuglément les ordres du Conseil Jedi.
Ça fait-tu Unifying Force 5 un peu, ça?
Un petit peu, hein? Palpatine ajoute que Qui-Gon a réussi à prolonger son existence, ce qui amène des questions intéressantes au sujet de la relation de Qui-Gon, Dooku et Palpatine. Alors, à la fin de la scène entre Anakin et Palpatine, le maître Sith présente un choix à Anakin, joindre les Jedi ou joindre l'Empereur. Anakin joint Palpatine, ce qui signifie officiellement le passage au côté obscur d'Anakin. Il cesse d'être Jedi et devient un apprenti Sith.
Donc il va avoir son sabre rouge, probablement à ce moment-là.
Il y a des chances, effectivement. D'ailleurs, les sabres rouges, c'est intéressant, là, dans les Clone Wars, pour la prochaine émission, là, on va pouvoir en discuter.
Ouais.
Alors, Samuel L. Jackson était en Espagne et il s'est fait interviewer pour promouvoir, lors d'une promotion pour le film SWAT. Il demande comment était l'expérience de jouer un chevalier Jedi. Alors, c'était fantastique, c'était beaucoup plus de travail que ce qu'avait demandé George, mais il avait adoré le fait que George ait créé ce rôle particulier. Lui, il aurait voulu être un simple Stormtrooper ou juste traverser l'écran et dire qu'il était dans le film, mais il y a eu Mace Windu, fait qu'il était extrêmement content. Alors, la question qui ressort surtout de cette entrevue-là, c'était « Avez-vous eu la mort que vous demandiez pour votre personnage? » Il dit « Oui, je l'ai eu, parce qu'on sait qu'il y a eu un sabre laser mauve, on sait qu'il a demandé d'être dans les films, puis il l'a eu, fait que c'est quand même bien. »
George doit être un fan de Samuel, pour lui donner des permissions comme ça.
« I love you in Shaft! » Alors, l'amitié et l'origine de Stormtrooper est développée un petit peu. Alors, on voit que le soldat clone provient de l'usine Trooper Factory 011, sur la planète Coruscant. Il est le prototype d'un Stormtrooper. C'est ce fameux Stormtrooper-là qui va devenir l'ami de Obi-Wan. Mm-hmm. Obi-Wan l'appelle OH-11, et les deux ont des dialogues ensemble pour établir leur relation. Cependant, un moment critique dans le film, lorsque Palpatine tourne les clones contre les Jedi, OH-11, qui est avec Kenobi devient raide et robotique comme s'il était contrôlé. Kenobi, qui réalise ce qui arrive, allume son sabre laser et il frappe 011 sur le torse. Alors, ce qui se passe en fait, c'est qu'il voit la cible. 01 dit « La cible maître Jedi Obi-Wan est engagée. » Obi-Wan frappe le soldat clone et Kenobi dit « C'était toujours Ben pour toi, mon ami. Au revoir. » Ce qui amène un peu le fait encore là, de son prénom qui est intéressant. Si vous voulez voir quelques images de l'épisode 3, on vous invite à passer sur septclan.net. Dans les nouvelles du 13 novembre, il y a quelques images qui sont sorties du Hyperspace, pas du Hyperspace, mais du Star Wars Insider, qui sont quand même quelque peu intéressantes. Alors, Jedi Nick Gilliard et d'autres cascadeurs ensemble en train de préparer des actions, c'est quand même palpitant. Et la nouvelle image de Before the Helmet d'Hyperspace du 13 novembre était le sabre laser de Darth Sidious en train de se faire nettoyer et raffignoler.
Très stylisé.
Effectivement, je crois qu'on peut dire sans aucun doute qu'on sait maintenant où il cachait son sabre laser. Et nous n'en donnons pas plus sur le sujet. Le 16 novembre dernier, on a appris que les funérailles de Padmé vont se tenir sur Naboo et que la scène ne devrait pas être plus longue que la scène du mariage, malheureusement. Parmi les gens présents, il y a C.O. Bibble, la reine, quelques assistantes, la famille de Padmé et les loyalistes. La mort de Padmé est utilisée par les loyalistes comme un point de rencontre. Padmé est amenée à sa tombe sur un cercueil flottant, un peu comme Anakin comme Han dans Empire Strikes Back.
Quand Boba Fett,
c'est ça, dans le Carbonite. Ouais. C'est un peu la même chose que ça au niveau de son cercueil. Et je trouve ça dommage d'ailleurs un peu là, qu'il la fasse pas plus longue que ça, malheureusement. Alors, le 18 novembre, on a appris que Yoda va se rendre sur Kashyyyk et qu'il va découvrir que la prophétie mentionne que le Seigneur Sith sera tué par le prodige. Et lorsqu'il sera mort, son apprenti va aussi mourir. Et quand on regarde aux événements qui se passent plus loin dans la famille Skywalker, Vader va tuer Palpatine, et en tuant Palpatine, il va mourir. Et donc, l'enfant prodige était Luke. Ce qui répond à une autre question qu'on se posait depuis plusieurs moments.
Donc l'élu, c'est Luke.
L'élu, c'est Luke. Et voilà. Le journal Toronto Sun, qui a fait une entrevue avec Hayden Christensen, nous parle de l'épisode 3 un peu. Il dit qu'on va entendre la respiration de Darth Vader. Il dit qu'il pourrait être énormément dans le trouble pour avoir dit ça, parce qu'il finalise l'histoire de son personnage et tout le monde connaît la suite. Mais je trouve ça bien qu'on ait appris qu'on va entendre le Darth Vader
breathing. On va l'entendre parler, ouais.
Juste ça même, c'est suffisant. Moi, je te le dis, là, c'est juste de le voir sortir d'une espèce de
fumée,
le brouillard, là, de l'ombre. Puis là, tu le vois qui sort dans la lumière.
Non, après qu'il ait tout détruit sa chambre, tu l'entends au travers de la poussière qui retombe. Ouf, quelle image.
Mais il faudrait qu'il ait son masque à ce moment-là, puis ouais. Il l'a pas.
Ben oui, il l'a, c'est juste la partie supérieure qu'il n'y a pas.
Non, mais c'est ça, mais je veux dire, avec la partie supérieure,
okay,
ça ouais. Serait mieux.
Bon, on va le voir sur le...
On va le voir sur le film, exact.
Non, mais sur le
Star Destroyer, ouais. Effectivement. Dans le 25 novembre dernier, Ewan McGregor nous confirme effectivement... un petit spoiler que Rick McCollum voulait pas trop parler. Il a dit qu'il avait fait des scènes sous l'eau. Il aimait filmer sous l'eau. Il adore filmer sous l'eau parce qu'il y a personne dans sa vision. Tu peux rien voir. C'est très paisible et tranquille. L'une des scènes qu'il a particulièrement aimé faire dans un de ses films, c'est la scène sous l'eau dans Trainspotting. Il dit que c'était très excitant, effectivement, pour aller chercher deux contraceptifs.
Ouais, c'est ça.
Non. C'est...
Je m'en souviens même pas.
En tout cas, je préfère pas dire le mot de toute façon. Wookie a beaucoup de fun présentement. Le mercredi 26 novembre, nous avons appris que les gens de ILM avaient déjà commencé à travailler sur l'épisode 3 dans le Homing Beacon. Alors, les 25 premières minutes du film, George en a besoin pour le 5 janvier. Alors, pour que le travail puisse continuer après, donc faire le premier trailer, le premier teaser, évidemment, pour le mois de mars, on suppose. Donc, probablement énormément de chance que d'ici le mois de mars on ait le premier teaser, ce qui va être intéressant.
C'est tôt, je trouve, c'est très tôt.
Ça, non,
habituellement en novembre t'as le teaser, puis en 2005 t'as les
peut-être qu'ils vont nous en donner un petit peu plus là, de nanan là, pour ce coup-ci. Alors, les éditeurs utilisent un outil qui est appelé iViz. Est-ce utilisé sur des Macs? Fort probablement. Vive les Macs. Et alors, Rick McCollum disait aussi dans le Homing Beacon qu'en mars, ils vont probablement aller à Londres et qu'il aimerait pouvoir isoler la séquence avec les Wookiees et la faire plus tard en Australie. De cette façon, il n'y aurait pas besoin d'amener les gens de l'Australie à Londres et vice-versa. McCollum dit que le travail va très bien et qu'il espère qu'à Noël, ils vont pouvoir voir le film pour la première fois. Probablement simplement en version très basique, mais tout de même, une version intéressante à regarder. Le directeur de l'animation, Rob Coleman, nous a montré une scène avec Obi-Wan et Yoda dans une nouvelle pièce du Temple Jedi sur le service Hyperspace lors des rapports de production avec Pablo Hidalgo, qu'on nous aurons peut-être à l'émission, on essaie d'en travailler là-dessus.
Exactement.
Les seuls Jedi qui étaient présents étaient Yoda, Plo Koon, Ki-Adi Mundi, Stasali, Seisitin et Hagen Kolar dans la scène qui avait été filmée à Ciné pour le Conseil Jedi. Il reste encore des fauteuils vides. Ça va être rempli avec des personnages numériques. Alors, on parle de Maître Jedi Hungry, la race de Pablo Jill. On a suggéré à Rob et John d'examiner les scènes précédentes du Conseil pour remplir les fauteuils vides. Peut-être qu'on va revoir Heathcote et des personnes comme ça. Alors, lorsque John se fait poser des questions sur les couleurs des sabres laser lors de la bataille spatiale, il dit que les méchants ont des couleurs chaudes. Et les rouges, oranges et les jaunes sont pour les méchants. Les bons ont des couleurs froides comme le bleu, le blanc. Le bleu et le blanc. Ah. Et le vert aussi, qu'ils ont complètement oublié. Mm. Alors on va finalement voir les fameuses couleurs blanches des sabres laser, tel Obi-Wan.
Ouais. New Hope.
L'explication se fait là. Et le 27 novembre dernier, effectivement, le premier documentaire web du making-of de l'épisode 3 était disponible pour les membres du service Hyperspace.
Assez impressionnant.
Ça n'en montrait pas beaucoup, mais ça en montrait assez pour être le fun. Moi, ce qui a surtout ressorti, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va être possible de se le procurer le mois prochain pour les
en janvier
ouais. Pour les non
les non membres d'Hyperespace.
Les non membres d'Hyperespace, exact. Mais ce qui ressort selon moi le plus, c'est vraiment qu'on voit un début de Jedi Starfighter en construction avec à l'arrière-plan les statues qui sont sur la véranda de Padmé. Et la véranda de Padmé qu'on voit depuis un bon bout de temps là sur
un des plateaux les plus reconnaissables.
C'est ça, les plus reconnaissables. On le voit très bien que c'est sur Coruscant que ça va se passer.
C'est un balcon extérieur.
Exact. Et ça va être très intéressant. Alors, je crois qu'on peut finir là.
La musique est...
Exact. Donc, on peut finir sur cette merveilleuse petite musique.
Donc, on va indiquer la fin des spoilers dans le chat. Alors,
est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublierais qu'il faudrait qu'on mentionne? Je crois pas.
Il y a Dark Jedi qui mentionnait que les images n'étaient plus sur le serveur. Il parlait de celle de Insider. Ce sont des liens, mais il me semble qu'ils étaient encore là. Enfin. Quand tu as composé ton...
Oui, effectivement.
Ils étaient là encore.
Ils étaient là encore.
Donc.
Alors. Mais ce n'est pas des images qui sont... qui en disent énormément sur le film, de toute façon.
Exactement. Donc, on va faire une petite pause. Cependant, ce ne sera pas une musique. C'est une petite promotion de Star Wars en direct que Jeremiah a fait. A fait les voix, en fait. Et puis, c'est Raven qui a réédité et puis qui a mis de la musique, des effets sonores. Puis ça fait comme un mini radio-drama humoristique un peu, là. C'est comique. Faut dire qu'il y a un accent français, donc...
Ah, d'accord. Alors, je ne peux point attendre d'entendre ceci.
Donc, on vous passe ça, puis on revient avec les nouvelles diverses immédiatement après.
Localiser la base rebelle, capitaine.
Oui, Seigneur Vador. Nous avons repéré la fréquence de leur émission pirate, Star Wars en direct.
D'où émettent-ils?
Ils émettent depuis Hoth.
Changez de cap. Nous partons éliminer ces rebelles. Personne ne se mettra sans trompe.
Oui, mais les rebelles sont menés par un certain lunatique.
La force est puissante en lui.
Oui, alors, on l'abandonne ?
Oui. C'est trop risqué. Nous prenons aucun risque.
Et voilà, on est de retour à Star Wars en direct. C'était la petite promotion humoristique de Jeremiah.
Exactement. Alors, avec la sortie du nouveau livre, d'ailleurs, de James Luceno, on est en train de tout repenser le concept là, pour Lunatic. On va essayer d'y trouver un nom site à moitié Yuuzhan Vong.
Oh, attention.
Ça devrait être assez intéressant.
Ouais. Enfin. Bon, maintenant, les nouvelles diverses de Star Wars. Qu'est-ce qu'il y a eu au cours du dernier mois? Je vais sortir ma petite feuille. Alors, on commence en littérature. J'y vais pas nécessairement dans l'ordre, mais c'est au cours du dernier mois. Bon, évidemment, la parution du roman The Unifying Force, le 4 novembre dernier, The Unifying Force de James Luceno, le dernier tome de la série Nouvelle Ordre Jedi, est paru aux États-Unis et au Canada, et probablement dans le monde, vous pouvez les commander dans les librairies en ligne.
Amazon.com.
Exactement. Aussi, en littérature, l'annulation du roman Escape from Dagoo, de la série Clone Wars. Donc, le roman Escape from Dagoo de William Dietz, la sortie était prévue en mars 2004, a été annulée. Sue Rostini a finalement donné la raison de l'annulation du roman sur le forum du site officiel. Elle dit... Malgré les excellentes habiletés d'écriture de Matt Stover, les réactions du public en général, et non les fans, face à Shatterpoint n'a pas été aussi formidable que l'on avait espéré. Une des raisons que nous croyons responsable de ce résultat est le fait que le livre ne met pas en vedette un personnage héroïque majeur, comme par exemple Anakin ou Obi-Wan. C'est pour cette raison que Escape from Dagoo a été annulé. L'annulation n'a rien à voir avec l'épisode 3 ou les romans Galaxies. Nous allons réessayer avec Sestus Deception, qui met en vedette Obi-Wan et Kit Fisto.
Oh! Fort intéressant comme duo.
Ouais. Ensuite, en Europe, la parution le 13 novembre dernier, le tome numéro 11 du Nouvel Ordre Jedi, Le Rêve Rebelle de Aaron Alston, est paru en format poche chez l'éditeur français Fleuve Noir. Il est disponible maintenant. Aussi, en France, surprenant... L'éditeur Delcourt a fait paraître la mémoire de Quinlan Vos de Durciman et Austrander aux éditions Delcourt. Et c'est disponible depuis déjà quelques jours dans la librairie française. L'histoire est tirée des comics numéro 19 à 22 de la série Star Wars Republic, The Dark Horse. Le second tome de cette série, Quinlan Vos contre ses démons, paraîtra le 18 février 2004. Et Delcourt a aussi confirmé l'apparition des BD Clone War 1 et 2 qui paraîtront respectivement en avril et mai 2004. Ils ont décidé de refaire des bandes dessinées enfin.
Youpi!
Pour les francophones de France, c'est très intéressant. Ils ne seront sûrement pas disponibles ici.
Ah.
Comme d'habitude.
On va trouver un moyen de les trouver.
Exactement. L'auteur du roman de l'épisode 3... Elle a été annoncée. Le site officiel a annoncé l'auteur du roman de l'épisode 3. Il s'agit de Matthew Stover.
All right.
Ceux qui suivent les romans Star Wars connaissent Matthew Stover pour ses deux excellents romans, Traitor et Shatterpoint. Le roman de l'épisode 3 sera basé sur le scénario de George Lucas. L'action se déroule 3 ans après les événements dans Attack of the Clone et raconte la dernière descente du côté obscur d'Anakin Skywalker et sa transformation en Darth Vader. Le roman sera disponible en avril-mai 2005. En passant, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai parlé à Matthew Stover.
Oh!
Et oui. Et puis, il a dit qu'il va être très heureux de faire une entrevue avec nous pour quand il va faire son quand il va paraître son roman.
Ben moi, j'ai l'impression que ça risque de paraître dans les alentours du 22 au 24 avril.
Qui est la Celebration. C'est ça, j'y ai
qui
dit d'ailleurs.
Qui serait pendant la Celebration, qui serait à Indianapolis.
Mais ben, j'ai dit peut-être qu'on va se rencontrer là-bas d'ailleurs, dans les emails. Alors, ensuite de ça, la trilogie post-NGO de Troy Denning. Troy Denning a répondu à quelques questions posées par les forumeurs de TFN, les gens du forum, concernant la trilogie post-NGO prévue pour le second semestre de 2005. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette les réponses qu'il a données? C'est que, un, les antagonismes sont différents. Donc, les méchants risquent d'être spéciaux. La trilogie est définitivement postérieure au Nouvel Ordre Jedi, que ce soit pour la parution ou pour l'intrigue.
Eh bien,
donc, ça peut être assez lointain, dans le sens que peut-être que Ben Skywalker va avoir grandi assez. La trilogie est en cours d'écriture. Il y a toujours des idées et des modifications entre lui et Del Rey. Il ne travaille pas avec d'autres auteurs pour cette trilogie. Il est seul.
Ah,
quand même intéressant. Et encore une fois, j'ai communiqué avec lui. D'ailleurs, il était supposé être à l'émission aujourd'hui.
Ah, eh bien. Malheureusement, c'était
pour donner d'ailleurs, ouais, c'est ça, pour donner d'ailleurs ses commentaires sur le dernier roman NGO et la série au complet. Cependant, justement, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce aux États-Unis et il est chez ses parents au Wyoming. Donc, il n'a pas pu être en ligne
participer avec nous.
Cependant,
on va l'avoir dans une autre émission, c'est probablement.
Cependant, il a été très intéressé à faire des entrevues pour ses trois romans de la trilogie.
Ah,
donc,
très bien.
Encore une fois, c'est très loin, mais quand même, on verra si Star Wars en direct va être encore en ligne d'ici ce temps-là.
Envoyez des dons, s'il vous plaît.
Quelques nouvelles sur les prochains romans. Sue Rustini a encore donné quelques nouvelles sur le forum du site officiel concernant les prochains romans Star Wars ainsi que les dates de parution des romans en 2005. C'est quand même loin, là. C'est quand même très loin. Bon, Timothy Zahn a commencé l'écriture de son roman sur le projet Bound Flight Project.
Ce fameux projet.
Oui. Où est-ce que plusieurs maîtres Jedi sont supposément morts?
Ils sont morts.
Le nouveau contrat de publication sera annoncé aussitôt qu'il sera signé. Les départements légaux qui prennent leur temps, tout semble indiquer que Del Rey renouvellera son contrat.
Eh bien.
J'imagine que la série NGO quand même a été très vendeur. Je pense que c'est une raison pour laquelle de renouveler le contrat avec Del Rey.
Effectivement. Ce qui est une très bonne idée d'ailleurs parce que Del Rey, Random House et j'essaie de me souvenir l'autre.
Bantam,
c'est ça. Non, pas Bantam.
Avant c'était Bantam Spectre.
Avant, c'était Bantam. Maintenant, c'est Random House Del Rey, puis j'essaie de me souvenir de l'autre compagnie qui fait le
partie
du consortium de Random House. C'est une très, très bonne compagnie de publication pour les livres de science-fiction et de fantastique.
Okay, okay.
Pour la série Star Wars, c'est une très, très bonne compagnie.
Okay. Il y aura un roman qui fera le lien vers l'épisode 3 en février 2005. L'auteur a été choisi, et aussitôt que le contrat est signé, il y aura une annonce sur le site officiel. Selon moi, ça va être James Luceno.
Je dirai mes commentaires sur ça plus tard dans l'émission.
Il y aura un roman paperback sur la guerre des clones qui paraîtra en décembre 2004. Ce roman remplace Escape from Dagoo. Il mettra en vedette un personnage très connu. Un autre auteur a été choisi, mais le contrat n'est pas encore signé. Ça peut être Luceno encore, un des deux, celui-ci ou... l'autre que j'ai parlé au préalable, parce qu'il a déjà mentionné dans certains forums qu'il allait écrire un livre. Donc,
d'accord.
Un autre livre Star Wars. Il n'y aura pas de comics de prévu pour la période du Nouvel Ordre Jedi ou pour faire le lien avec le roman Survivor's Quest de Timothy Zahn. Donc, aucune BD pour ça. Il y aura par contre un e-book ayant rapport avec le roman Survivor's Quest. Ensuite, Del Rey prépare quelque chose pour la prochaine Saint-Valentin. Dark Horse, par contre, ne fera rien.
Ne fera pas de comics comme ils avaient fait déjà avec...
Valentine. Mais tu vois,
Valentine Story Léo, avec Anne et Leia, qui était coincée dans le faucon, que c'était très drôle, planté sur Hot.
Exactement. Quelques lignes de Survivor's Quest sont disponibles sur le forum du site officiel. Allez jeter un coup d'œil. En plus de ça, les noms des auteurs du roman de poche Garde des clones prévu pour décembre qu'on a parlé plus tôt et du roman introduisant l'épisode 3 qu'on a parlé plus tôt, prévu pour 2005, devraient être annoncés avant la fin décembre. Donc ce mois-ci. Bon, à partir de demain, on est décembre. Le magazine Insider continuera à publier des histoires courtes sur Star Wars. Il n'y en avait pas dans les derniers numéros car les auteurs avaient pris du retard.
Des excuses.
Oh, vilain. et puis voici les dates de parution pour l'année 2005. Donc, janvier 2005, le paperback de Sestus Deception. Février, le roman qui fait le lien entre l'épisode 3. Mars, le paperback de Survivor's Quest. Avril-mai, le roman de l'épisode 3. Mai 2005, le paperback de Jedi Trials. Juillet 2005, le premier livre de la trilogie de Troy Denning. Septembre 2005, le deuxième livre de la trilogie de Troy Denning. Octobre 2005, le roman de Timothy Zahn sur le Outbound Flight Project. Et en novembre, le troisième livre de la trilogie de Troy Denning. Autrement dit, Troy Denning, à deux mois d'intervalle, on a un roman de cette trilogie. C'est quand même assez rapide, c'est un bon rythme. C'est pour ça qu'il est déjà en train de l'écrire probablement.
Exact.
Parce qu'il va l'écrire les trois d'un coup. Et puis,
il va probablement falloir qu'il s'adapte à un style un peu comme Michael E. Stackpole d'écrire son roman en 48 heures.
C'est ça. Bon, produits dérivés maintenant. Les figurines apparaissent d'ici la fin de l'année. De la saga Wave 15 qui va apparaître à mi-décembre, qui comprend Bail Organa, Janus Grigianus, le Imperial Dignitary 1, Obi-Wan Kenobi Nightclub, Ilan Sleaze Bagano Nightclub, le McQuarrie Concept Stormtrooper, le franchise numéro 4, Padmé Amidala Lars Homestead, et puis Ai Vida. Ensuite, la 16e Wave Saga, qui est aussi pour la mi-décembre, contiendra Luke Skywalker Hot Attack, R3PO, Hot Trooper, je vais essayer de prononcer l'autre, Ahmed Beck, et puis le Imperial Dignitary 2 qui s'appelle Kren Blista Vani. Oh my god. Ok.
Et on s'amuse énormément avec les noms.
Les prononciations, exactement. Et puis en mi-décembre aussi, tu as les Ultra Figures, la première wave qui comprendra un Wampa, le General Riken, C-3PO Escape Pod, et puis les Saga Screen Scene pour la fin décembre qui contiendra le High Jedi Council partie 1 et 2 et le Geonosian War Room partie 1 et 2. Et ça c'était pour d'ici la fin de l'année. Donc Noël va être très chargé pour les collectionneurs. Et puis les nouveautés pour le printemps 2004, il va y avoir trois nouveaux Unleashed, c'est-à-dire Chewbacca, Clone Trooper et un Luke Skywalker from Hoth. Sont très belles les figurines. Et puis pour le printemps 2004 aussi, les figurines 3 pouces et 3 quarts A New Hope qui contiennent General Jan Dodona, John Vander Gold Leader, un TIE Fighter Pilot, le Captain Antilles Fan Choice numéro 5. Puis ces 4 figurines seront accompagnées par un ensemble Star Destroyer qui inclura entre autres l'amiral Ozel, Dengar et Bosk. En Europe, maintenant, les statuettes Atticus. Du côté européen, la compagnie Atticus, qui vient de lancer son nouveau site web ce mois-ci, c'est-à-dire www.atticus.com, a décidé de reprendre le concept de Hasbro et de produire, elle aussi, des statuettes Fan Choice, le choix des fans. Rendez-vous sur le forum pour le premier vote qui se fera parmi les 10 personnages suivants. Greedo, Tusken Raider, Bib Fortuna, Amiral Ackbar, Lando Calrissian, Gamorrean Guard, TIE Fighter Pilot, Biker Scout avec Speeder Bike, Sebulba ou Watto. À noter que les cinq statuettes ayant obtenu le plus de votes seront produites lors de la prochaine wave. La 6e statuette de cette même wave est soupçonnée d'être un personnage de l'épisode 3.
Moi j'ai l'impression que c'est le Scout Trooper qui va gagner sans aucun problème. J'aimerais ça que ça soit Ackbar, par contre.
Non, Scout Trooper, quand j'ai été voir, était en tête.
Tu vois, puis j'ai même pas été voir.
C'est ça.
Puis je peux te le prédire, ça risque d'être de fortes
chances. Les statues d'Atticus sont tellement belles que tu peux même imaginer. Là.
Pour la majorité du temps.
Ouais. Jeux vidéo maintenant. Jedi Academy sur Mac. Ouh, je pense que j'en connais un qui va être content.
Effectivement. Même plus qu'un qui va être content.
Bonne nouvelle pour les possesseurs de Mac. Le troisième opus de la série Jedi Knight sera accessible pour vous. En effet, c'est Aspyr qui s'occupe de cette version. Il devrait être mis en vente d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. KOTOR sur PC, la sortie nord-américaine, c'est le 18 novembre dernier que Knights of the Old Republic sur PC a été mis disponible sur les tablettes nord-américaines. Jetez également un coup d'œil au guide du jeu qui fait environ 304 pages, soit le double du guide de la version Xbox. 304 pages, là, ouch.
Il n'y a pas ça dans le livre de Galaxies.
C'est ça, exact. Nouveau serveur pour Star Wars Galaxies, vous avez sûrement déjà entendu parler des deux nouveaux serveurs qui ont été ouverts en Europe et plus précisément à Amsterdam. Il s'agit des serveurs Forestar et Chimera. Que l'on peut trouver dans la liste des serveurs sous le nom Europe Forestar, Europe Chimera. Ainsi, tout le monde devrait savoir qu'ils sont prévus pour être peuplés par les joueurs européens, mais ne leur sont pas exclusifs. Donc, les Américains peuvent aller populer ces serveurs-là aussi s'ils veulent. Film et télévision maintenant. Dernière partie de chroniques diverses. La série animée Clone Wars. C'est le vendredi 7 novembre qu'a débuté la série Clone Wars aux États-Unis. Sur Cartoon Network et le service Hyperspace de StarWars.com, les 10 premiers épisodes ont déjà été diffusés et les 10 derniers le seront au mois de février 2004. Pour ce qui est de la série Clone Wars au Canada, elle sera diffusée sur Télétoon dès le 3 janvier prochain en français et en anglais. L'horaire régulier de la série sera le samedi 17h et le mardi 21h30, heure de l'Est.
Exactement, et vous l'avez entendu à Star Wars en direct. En exclusivité.
Exactement.
La news vient d'arriver sur cette lampe.net. Okay.
Pendant que je faisais ma chronique.
Exactement.
Si vous avez des questions, consultez le forum télévision sur cette lampe.net où Marie Morancy, la responsable de Télétoon, répondra elle-même à vos questions.
Responsable des relations publiques, en
fait. Relations publiques?
Oui.
Ah, OK. Maintenant, le compte-rendu de la réunion de Lucasfilm avec ses partenaires de vente. Voici le sujet principal qui aurait été abordé lors de la rencontre entre Lucasfilm et ses partenaires de vente au centre Presidio de San Francisco le 5 novembre dernier. La première chose, la série Clone Wars paraîtra en DVD possiblement en 2004. La sortie de la trilogie classique sur DVD serait pour septembre 2004. La campagne publicitaire de l'épisode 3 débutera en janvier 2005. L'épisode 3 sera en salle, bien sûr, en mai 2005. La sortie du DVD et VHS de l'épisode 3 sera en novembre 2005. Et puis, deux idées de séries télé planeraient dans l'esprit de Lucasfilm.
Et
à confirmer.
J'aimerais d'ailleurs, sur ce sujet-là, rajouter que la compagnie Mainframe, qui nous avait donné les reboots, qui sont d'énormes fans de Star Wars, ont lancé une nouvelle série qui s'appelle Highway 35 de la compagnie Hot Wheels, pour célébrer justement le 35e anniversaire de Hot Wheels. Et c'est une excellente série, et je crois que c'est une compagnie qui devrait être considérée pour faire une émission télé de
Star Wars. Tu penses à une série télé animée, toi, dans
exact.
Le sens?
Ben, en 3D.
Et non avec des acteurs. Ah,
okay. Exact.
Ah, ça reviendrait probablement moins cher.
Ben, exact. Pas juste ça, ça satisferait le goût du bienfait des gens comme des fans comme moi qui sont pas nécessairement très satisfaits de ce que les Clone Wars apportent.
Exactement. Exact. Mais ça pourrait aussi amener le fait que les acteurs de la trilogie classique sont rendus trop vieux, ils pourraient de façon digitale, exactement.
Apparaître
c'est
quand
ça.
Même.
C'est ça. Et finalement.
Toujours être associé à la série.
Exactement. Et finalement, les DVD de l'épisode 1 et 2 seront discontinués, bien oui. Ceux qui n'ont pas encore les DVD de l'épisode 1 et 2 devront faire vite pour se les procurer. En effet, Fox a décidé de discontinuer les deux DVD à partir du 31 décembre 2003. C'est cette année, ça. À Noël cette année.
Il va falloir que je me dépêche.
Pour se concentrer sur la préparation de la sortie DVD de la trilogie classique qui est prévue pour septembre 2004. C'est étrange que Fox décide de discontinuer Attack of the Clones seulement un an après sa sortie DVD.
Pas vraiment considérant le fait
s'il y a le super méga coffret qui va
ben sortir. C'est ça là. Il y a probablement qu'ils vont nous apporter un coffret où on va pouvoir mettre les six épisodes de la syslogie, comment ça s'appelle?
Hexalogie.
De l'hexalogie Star Wars. quel beau mot. Après la quadralogie Alien, l'hexalogie Star Wars. Alors, il va juste manquer comme le DVD de l'épisode 3 inséré dans un merveilleux coffret d'une 75aine de dollars.
Ils ont toujours plein de bonnes idées de marketing, cette bande de Lucasfilm.
Excusez, le terme hexalogie sonne pathologique un peu.
Oui, oui. Pour plus d'informations sur ce que l'on vient de vous mentionner, visitez notre commanditaire siteclan.net.
Et là, voilà. Si tu rajoutes l'épisode 2.5, qui sont les Clone Wars, entre guillemets, ça fait une heptalogie.
Ouais, heptalogie, octologie.
Octologie avec les making of.
9, c'est quoi? En fait.
Une série à la puissance 10.
c'est bon, ça.
Donc, on va vous laisser sur une autre pause musicale, bien sûr. Et puis on revient après le sujet principal. On vous revient à Star Wars en direct après la pause avec le sujet principal qui est The Unifying Force. D'ailleurs, j'ai choisi la chanson qui joue présentement par rapport aux Yuuzhan Vong qui sont anti-machine. Donc, c'est la tune Rage Against the Machine, Killing in the Name of. qui est quand même assez propice au sujet. Donc, on revient après la pause pour vous parler du dernier roman de NGO, The Unifying Force. Sur Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Justified, but wearing the badge, they get chosen white. Those who died are justified, but wearing the badge. www.sitecom.net.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Hi, this is Michael Sheard, Admiral Ozzel from The Empire Strikes Back, and you are listening to Star Wars on Direct.
Et re-bienvenue sur les ondes de Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. On va faire des petits bonjours à ceux qui sont dans le chat présentement.
Bon, on va commencer par dire un bonjour à notre cher ami Michael Sheard qui nous a enregistré cette merveilleuse ligne.
Bien sûr, donc dans le forum Akira 94, Dask, Dark Jedi, Iris, Fire Frank, un nouveau visiteur, Jeremized, Kit, deux fois.
Effectivement.
Raven, Snow Trooper, Star Wars Fan et Wookie Mart.
Qui est avec nous au studio.
Qui est avec nous au studio, bien sûr. Alors, maintenant le sujet principal. Est-ce qu'on parle de l'histoire? Est-ce qu'on raconte l'histoire?
Oh, moi, je te laisse raconter l'histoire parce qu'avec la toux que j'ai là, oublie ça.
Ben, disons, on va faire nos critiques parce que l'histoire est quand même assez longue. Aller sur cyclan.net, chercher résumé détaillé de Unifying Force, puis tout le synopsis est là au complet détaillé, donc ça me sert à rien pour moi de vous le lire. Je pourrais vous le lire, mais...
Ben, très franchement, c'est une histoire qui est très longue, qui est disant multiples parties.
Exactement.
Je vous dirais, la meilleure chose à faire, c'est vraiment, si vous êtes francophone, que vous ne lisez pas en anglais, attendez que le livre sorte en français. Mais si vous êtes capable de le lire en anglais, allez le chercher, allez le lire, ça vaut la peine.
Exactement. En gros, il y a des prisonniers sur une planète qui s'appelle Selvaris. Il y a Han Solo et Léa avec le Faucon qui vont sauver des prisonniers qui ont une information importante, comme de quoi qu'il va y avoir un sacrifice sur Yuuzhan'Thar, la planète... l'ancien Coruscant, dans le fond, qui a été refait. Et puis, il réussit à avoir cette information-là. Ensuite de ça, il décide de préparer une attaque pour reprendre Coruscant. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Zona Mossecot. On apprend que Zona Mossecot est le... Comment dire? Le
fait partie du...
C'est comme un enfant de la planète d'origine.
Un enfant de Yuuzhan'Thar.
C'est ça, de la planète d'origine. Enfin, c'est dans les révélations. Donc, on va aller directement avec... peut-être pas les critiques, on va quand même y aller avec les révélations directement, on va juste les nommer.
En passant, Akbar meurt dans le livre.
Ben oui,
bien sûr. En passant.
Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, j'ai noté ça quelque part, donnez-moi quelques secondes. Les révélations, bon, Boba Fett est en vie.
Eh oui.
Ce vieux crouton de 60 et quelques années. Non, mais...
Avec d'autres Mandaloriens, assez surprenamment. Ouais. Ça, faut, ça vaut la peine de le noter. Je pense qu'on risque d'avoir, peut-être, en tout cas, j'espère qu'on aura plus de détails
suite à ça.
Dans la trilogie de Troy Denning. Mais,
Ils ont aidé à libérer plusieurs planètes. On l'apprend dans The Unifying Force que Boba Fett et sa bande de Mandaloriens ont aidé à libérer quelques planètes des Yuuzhan'Vong. Quelle surprise, mais ça peut être intéressant.
Ce que j'aime de l'apparition de Boba Fett, c'est qu'il va sauver Han, puis il va le regarder, il va interrompre un peu la barre, plein milieu de la bataille, puis il va dire « J'ai jamais rien eu contre toi. Mon business a toujours été contre les Jedi. »
qu'est-ce qu'on a appris aussi? Bon, le virus Alpha Red, Rouge Alpha, je sais pas comment ils l'ont traduit en français.
Ouais. Alpha Red.
Et de retour, dans le fond, c'est-à-dire qu'il a été déclenché sur la planète Kaloula comme test. On voit les effets, d'ailleurs, de qu'est-ce que ça donne.
J'ai l'impression que notre James Luceno est un valeureux fan de la boisson alcoolisée Kaloula achetée dans le café.
OK. Je savais pas que ça avait un...
Ça ressemble énormément au nom
possible.
De la...
Bon, on apprend aussi que Zona Mossecot est une graine, un cycle, un enfant, dans le fond, du Yuuzhan'Thar original.
C'est ça.
Des Yuuzhan'Vong, de la planète natale, et non Coruscant modifié. Aussi, bon, on a appris aussi que les Usenvong ont été strip of the force et
qu'ils sont fait retirer la force. leur pouvoir dans la force.
Pas le pouvoir, mais le fait d'être visible dans la force.
Ben, ils sont
C'est pas comme des Jedi, les Usenvong. Ils sont dans la force, mais.
Ils sont comme tous les êtres. Ils font partie de la force.
Ils font partie de la force.
Si on compare ça avec les Jedi, on peut comparer
ça. Mais c'est pas le pouvoir d'utiliser la force comme
ça. Non, c'est ça. Mais on peut comparer ça un peu avec ce qui s'est passé avec Ulic Keldroma.
Moi qui s'est fait.
S'est fait retirer la force par Nami Sunrider.
Ouais, c'est ça.
Et qui n'a pas pu se repentir.
Exactement.
Avant de se faire.
Et puis on apprend la plus grosse surprise qui n'en est pas vraiment une. Mais si on se fait au dernier moment, on pouvait quand même soupçonner ça que Omni était celui qui contrôlait le Supreme Overlord Shimra.
Mais je trouvais pas
qu'il était un ex-shaper.
Je trouvais pas que ça se voyait vraiment. Je trouve qu'on a vraiment bien amené ça.
Ben moi, qu'est-ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est que il mettait beaucoup trop d'importance sur Omni dans les derniers romans. On le voyait tout le temps, puis il mettait beaucoup d'emphase sur ce personnage-là. Si elle aurait été vraiment juste un petit fou du roi comme.
C'est ça.
Comme ils disent.
Un Joker. Là.
Un Joker, il aurait pas mis autant d'emphase là-dessus. Donc, j'avais. C'est pour ça que je t'avais posé à une des dernières émissions. Je dis, penses-tu que Omni a un pouvoir spécial, quelque chose comme ça, peut-être possible, quand on parlait de Final Prophecy?
Et oui.
Et on voit que oui, c'est un ex-shaper qui a l'habilité d'utiliser la force. Il a réussi à retrouver comment utiliser la force. Et puis, il y a des cellules de World Brain. Je sais pas comment on dit World Brain en français. Mais
non, de Yamosk.
De Yamosk, c'est ça.
Ce qu'il a fait, okay, c'est qu'il s'est implanté. Étant un ancien Shapers, il a fait quelques recherches dans le laboratoire probablement de Quillaquad.
C'est ça.
Ben, avant ça, là, même de la première Quad qui a voulu tourner.
Dans les Worldship, là.
C'est ça. Puis, il s'est implanté des cellules de Yamosk. Et il a retrouvé les pouvoirs de la force.
Et il peut contrôler d'autres personnes, etc.
C'est ça. Il a un peu triché, mais ça prouve qu'on peut retrouver la force.
Exactement.
Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je me souviens plus quel Jedi autre dans le Nouvel Ordre avait perdu la force aussi. Ah oui, c'était... La Callista. Voilà. Qui avait aussi perdu la force. Et qui a disparu, d'ailleurs. Peut-être qu'elle va revenir dans la trilogie de Twilight Zone.
C'est un personnage de qui, ça? Barbara Ambly.
Mais oui.
Pas certain qu'il va revenir.
Je veux dire, on continue.
Non, c'est ça. C'était les révélations principales. Maintenant, je vais donner ma critique, les bons et les mauvais points. Ensuite, Sébastien
va donner ses mauvais points.
va blaster le roman un petit peu. Donc, les bons côtés. Bon, ce livre est formidable pour moi. Il y a très peu de répit dans ce livre. James Luceno, ayant la lourde tâche de terminer la série en un seul roman, a dû précipiter l'action. On le voit que c'est...
Ah, c'est tout le temps, ça arrête.
Tout le temps, ça arrête pas. C'est action après action. Il n'y a vraiment jamais de long break.
Là où il y a des moments où ce qui arrête, on en entend parler juste avant un moment d'action. C'est juste ça. Quand ils sont sur le point de retourner dans un moment d'action, ils vont dire, il y a 16 jours.
Mais si ce n'est pas de l'action... c'est qu'il nous explique quelque chose par rapport à la force ou par rapport au Usenvong. Donc, c'est soit de l'action ou des explications ou de la philosophie, etc. Mais il y a tout le temps quelque chose d'intéressant qui sort un à la suite de l'autre. Bon, il y a beaucoup de batailles, autant spatiales que terrestres. Spatiales avec les chasseurs, les flottes, et puis terrestres avec les Jedi et les commandos. Les Jedi semblaient tellement avoir de la facilité à battre les guerriers Usenvong comparativement au début de la série, que j'ai l'impression que James Luceno a créé les Slayers justement pour que les Jedi aient des adversaires de taille. Parce que si tu regardes au début de la série, avec des guerriers normaux, les Jedi avaient beaucoup de difficultés. Maintenant, ils font comme si c'était un battle droid. Ils battent super facilement. Donc, j'ai l'impression que...
ils sont habitués.
Luceno a inventé les Slayers pour mettre un peu de challenge pour la fin du roman, d'ailleurs. Les Slayers qui sont des super guerriers qui ont une carapace qui... Les sables laser peuvent pas. Ils ont même pas de carapace, dans le fond, ils n'ont pas d'armure.
Non,
c'est leur peau qui sont un peu comme.
Comme le Cortosis.
Ouais, c'est ça.
Un peu comme le Cortosis, parce qu'au lieu de faire défaire la lame du sabre laser, puis la rendre.
Inutilisable.
Non, immatérielle, okay. C'est que ça va juste l'absorber, dans le fond, ça absorbe le goût.
Bon. Il y a beaucoup de réponses sur les Usenvong qui ont été données. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de nouveau et que je n'ai pas été surpris par les nouvelles révélations que l'on faisait, comme si on les avait déduits du livre de Final Prophecy et que l'on faisait que les confirmer de Unifying Force. Comme je viens de dire tantôt, même le rôle de Omni n'était pas une surprise. Autrement dit, tout avait été dit dans The Final Prophecy, mais c'était pas confirmé. Tu lisais entre les lignes, tout était là. Mais j'avais pas l'impression que les surprises m'ont pas surpris, dans le fond.
Ok.
C'est plus ça. Bon, en tant qu'encyclopédie Star Wars ambulante, James Luceno a bien lié certains éléments décousus de la série NGO. Comme je pense qu'il fait mention à la fin du roman, il dit oubliez pas d'aller chercher le vaisseau, je pense que c'est Pride of Celonia, qui est encore dans une région inconnue quand Zona Mosekot est parti, le vaisseau c'est qui est en orbite qui est encore là. Il dit oubliez pas d'aller chercher là, des trucs du genre. Et puis il a fait de nombreuses références à divers romans Star Wars et BD Star Wars de l'univers étendu. Il a aussi raconté l'histoire passée de certains personnages Jedi pour les remettre en contexte de leur cheminement jusqu'à présent, comme on mentionnait Ordonte Kip. Si on mentionnait Kip, qui ont fait son historique assez exhaustivement.
Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard.
OK. L'apparition de Boba Fett m'a fait sourire. Même s'il n'a pas eu un rôle important dans The Unifying Force, il a confirmé le fait qu'il n'avait pas de haine envers Han Solo en le sauvant d'une mort certaine. D'ailleurs, il était vraiment sur le bord de mourir. Là. Puis Boba Fett a fait exploser la tête du Yuuzhan Vong qui est en train de l'égorger.
D'ailleurs, notre ami Han frôle la mort plus d'une fois dans ce roman-là.
Exactement. Comme il le mentionne, sa haine a toujours été pour les Jedi. Je crois même que c'est la première fois que Boba Fett mentionne ce fait dans un roman Star Wars depuis que l'on sait que son père fut tué par Mace Windu. Je pense pas que Boba Fett l'a dit une seule fois dans l'univers étendu que c'était les Jedi qui détestaient vraiment. Ensuite de ça, un autre moment qui a été super, selon moi, c'est lorsque Jason était complètement uni avec la Force face à Omni et que son grand-père, Anakin Skywalker, lui dit dans la Force, sois fort, stay firm. C'est bon, il entend son grand-père Anakin dans la Force. Soit Wookie qui complètement détruit la mythologie. Ma scène préférée est très inspirante, est le discours de Luke aux Jedi avant le départ pour la bataille finale. Un hommage à tous les Jedi et au rôle important qu'ils ont dans cette galaxie et dans la finalité du conflit en cours. On a un extrait audio de ça d'ailleurs qu'on va faire écouter tout à l'heure. Il est en anglais donc on verra, mais quand même bien. Un extrait audio pour que je parle. Bon, j'aime bien l'idée, probablement décidée par Del Rey, d'un nouvel ordre Jedi dédié à être la volonté de la Force et non les gardiens de la justice. J'aime bien aussi le fait que l'apprentissage de la Force sera davantage par la recherche intérieure de chaque individu au lieu de concepts forcés par un enseignement formel. Je crois que les romans se déroulant après la série NGO pourront profiter grandement de ce nouveau concept pour raconter de nouvelles aventures originales. De nombreux fans seront consternés par ce nouveau concept de la Force qui détruit, d'un certain point de vue, la mythologie du light side, dark side des films. À ceux-là, je dis qu'il faut évoluer et que toutes grandes philosophies peuvent être interprétées de façon différente.
J'irai peut-être pas jusqu'à dire détruit, mais je reviendrai là-dessus plus tard.
Que dire du dernier paragraphe du roman? Luceno a de façon incroyable lié l'univers étendu de Star Wars avec nous, les lecteurs, en mentionnant que, j'ouvre les guillemets, les rires des héros étaient entendus au-delà du temps et dans les galaxies très lointaines. Ce qui nous pointe directement à nous. C'est vraiment...
Exactement.
Ensuite, les mauvais côtés, parce qu'il y en a beaucoup de mauvais côtés quand même. J'ai donné une très bonne note, mais...
Moi, je dirais qu'on va aller peut-être écouter l'extrait audio avant de faire ça.
Ben, en fait, on va demander dans le chat, tiens. Mais avec le délai, c'est quand même...
Moi, je dirais qu'on l'écoute, le petit
extrait. J'ai trois
audio.
Extraits. J'ai le discours de Luke avant la bataille. J'ai l'apparition de Boba Fett. Et puis, j'ai Luke contre Shimra.
Non. Fais le discours de Luke avant la bataille.
On va faire les mauvais points, on va passer à un autre.
C'est ça, puis après ça, je ferai les miens, puis on finira avec Luke versus Shimra.
Donc, on va vous faire écouter le speech, le discours que Luke a fait aux autres Jedi avant de partir en bataille. pour la reconquête de Coruscant.
De Coruscant.
Luke took his lightsaber from his belt, ignited the blade, and held it over his head. Wordlessly, the other Jedi began to follow suit. Taking note of Leia's hesitation, Han nodded in encouragement. "Go," he said quietly. "You're as much a Jedi as any of them." The Jedi tightened up around Luke, angling their lightsaber slightly so that the tips pointed toward his, and in the end, creating a stand of colorful blades that thrummed ominously in the crisp air. "This day has been years in the making. What we do from this moment forward will test our fealty to the Force in a way that the Jedi haven't been tested in more than a generation. Be mindful that we are not the purveyors of conflict and inequity, but the guardians of peace and justice. Above all, we want what the Force wants, no matter where that leads us. If some of us are not seen again today, that does not mean that our actions will have been in vain or will not be remembered." Han looked to those who didn't have lightsabers, the few outside the circle, Javatha, Harar, and Danny, wondering where he fit in. But he added his voice to the rest when they said as one, "May the Force be with us."
Et voilà, c'était le petit speech de Luke. Évidemment, c'est en anglais parce que les audiobooks ne sont pas faits en français, bien sûr.
Effectivement, malheureusement.
Sinon, ça serait des livres auditifs, c'est ça?
C'est cela. J'ai bien aimé la petite passe Trois Mousquetaires avec les sables laser comme ça.
Un danger de coincer l'âme ensemble.
C'est pas, non, c'est pas comme Ghostbusters.
Bon. Cross the beams, cross the beams. Tu disais qu'il y avait quelque chose dans le chat pendant...
Mais effectivement, c'est Jeremiah qui nous parlait de ce qu'il avait fait un petit peu plus tard. Okay. Il aimerait ça le réentendre vers la fin de l'émission, d'ailleurs.
D'accord. Il n'était pas là pendant cette...
Non, c'est ça. Alors, ce que Star Wars Fan parlait avec nous, c'est que ça serait bien de penser aux droits d'auteur de Jeremiah. Mais ce que je disais à nos auditeurs, c'est que tout comme Atom Films, qui requiert les fanfilms de Star Wars, une fois que les auditeurs nous ont soumis un travail de fiction, il devient notre propriété. Et nous en retenons tous les droits.
Exactement.
Alors, Jeremiah disait qu'il devrait racheter Star Wars en direct pour être le nouveau propriétaire et récupérer ses droits. Je lui souhaitais bonne chance.
Bon, maintenant, les mauvais points de ma critique sur The Unifying Force. On commence. Malgré tous les bons côtés que j'ai pu dire, il y a quand même des points négatifs. Une des premières choses que j'ai remarqué, c'est le nombre d'erreurs de frappe un peu partout dans le roman.
Ça n'a pas d'allure, hein?
C'est hallucinant.
Electric.
C'est ça, c'est comme... J'en ai compté au moins 10 et ce n'est pas normal d'en avoir autant dans cette publication.
C'est ça, là, je m'en souviens d'au moins 10 juste comme ça.
C'est ça.
Puis c'était vraiment effrayant. Là, je les ai, je disais, voyons, hein, ce mot-là va après c'est lui. Ça. Là, ça a pas
au départ, je me suis dit, bon, ok, c'est peut-être, moi, je suis pas aussi bon que vous en anglais. J'ai dit, bon, c'est peut-être un nouveau mot. Je cherchais, mais non, ça n'existe pas ce mot-là.
Non, ça se dit pas là non plus.
Il y a beaucoup, beaucoup de frappes, faute de frappes, c'est hallucinant. Là. Fait que ça, c'est très mauvais pour une publication. Ils ont dû faire ça super rapidement à la dernière minute.
Ah, c'est...
Bon, j'ai complètement détesté la façon dont Lucino a présenté la mort de l'amiral Akbar. Nous savions qu'il aurait dû mourir dans Destiny's Way. C'est ce que Walter John Williams avait dit, sauf que Del Rey avait dit non. Donc, enfin. Et puis, on sait qu'il était aussi gravement malade, mais de lui accorder qu'une seule ligne de texte pour l'importance qu'il a eue dans la Nouvelle République, c'est complètement honteux.
On va dire deux, là, parce qu'il est renommé un petit peu vers la fin, mais quand même, c'est pas suffisant.
Ouais, c'est ça, tu sais. Ça a été présenté pratiquement comme « Excusez-moi de vous déranger, mais Akbar est mort. »
Quoi? C'est exactement ça.
Tu sais, on veut un peu plus d'explications.
Puis même à part Silgal dans le conseil qui était là, qui était présent, au moment de l'annonce de la mort de Akbar, il n'y a pas grand personnage qui ont réagi là, fortement ça. À sa mort.
Le paragraphe finissait. Puis...
Ouais.
Selon moi, ce qui aurait dû être fait, c'est de faire mourir Akbar en arrière-scène et seulement le mentionner dans la trilogie de Troy Denning. Montrer, bon, il est mort en arrière-scène, bon, il y a une cérémonie, etc. Mettre plus de temps que deux lignes de texte. Il vaut plus que ça, d'après moi. Surtout pour un personnage des films. Si tu regardes, c'est dans Darksaber qui est mort un des généraux de la rébellion, là.
Krix-Madine.
Ouais. Krix-Madine, il a un rôle moins important qu'Akbar, puis il y a eu une mort plus détaillée. Aussi
moins
même.
Important, ça se ouais, discute, là, ça. Mais c'est quand même. C'est vrai qu'Akbar, il n'a pas eu une mort à la hauteur de son personnage.
C'est ça. Bon, aussi, pour ma part, moi, je m'attendais à une mort majeure dans ce roman. Que ce soit un personnage important des films ou un des personnages importants de l'univers étendu, il y a beaucoup de jeunes Jedi qui auraient pu mourir.
Kip.
Aussi. La fin d'une série comme ça méritait une autre mort comme Chewbacca. Han, Luke et Jag auraient pu mourir les trois. Mais même que l'auteur nous l'a fait croire pendant quelques pages.
Effectivement.
Han, bon, il y a... La fois que Boba Fett l'a sauvé, il y a une autre fois qu'il se fait mordre par un ampistaf, et puis on a l'impression qu'il est mort du poison Yuuzhan Vong, mais on voit...
Qu'il va mourir du poison dans pas longtemps.
T'as Luke contre Shimura qui se fait aussi empoisonner, et puis t'as Jag qui s'écrase avec son Clawcraft, son chasseur sur Coruscant, mais que les arbres l'ont pogné, puis c'est pas écrasé complètement.
Effectivement. C'est ramassé sans dessus-dessous quand même. Mais...
Oui, exactement. Un autre point négatif sont les questions qui n'ont pas été répondues ou expliquées seulement vaguement. Le fait que les Yuuzhan Vong ont été bloqués de la force, ils n'ont pas expliqué comment c'est arrivé. Oui, ils ont perdu la symbiose avec la planète natale d'origine, mais est-ce que ça les retire de la force automatiquement? C'est vraiment pas expliqué.
Je pense que c'est de la façon qu'ils disent ça. C'est Zonama qui explique que justement, là, ils auraient détruit eux-mêmes Yuuzhan Tar de par leur propre ego et leur devenir en guerrier.
Mais pourquoi la force aurait disparu par ce fait même?
Donc Yuuzhan Tar et les dieux ont décidé de les punir de détruire Yuuzhan Tar.
Ouais, mais. Mais c'est pas clair, c'est pas bien expliqué.
C'est ça, c'est vague.
C'est expliqué vaguement.
Exact.
Puis. Comment un mini a-t-il réussi refaire partie de la force à nouveau? Il l'explique pas non plus. On le sait que oui, il s'est implanté des cellules de Yamoth, tout ça, mais le fait qu'il a retrouvé la force, c'est sûrement pas seulement parce qu'en s'implantant des choses comme ça aurait été le fun de le savoir. Même le concept de la force unificatrice n'est pas expliqué et clair à 100%. Il reste encore
Beaucoup de détails pour Troy Denning.
Exactement. Un dernier point négatif, j'ai aussi remarqué une chose étrange qui contredirait un fait que nous avons appris dans The Unifying Force, le point que je te parlais par rapport à Palion. Dans The Final Prophecy, nous faisons la connaissance de Devis, qui serait, selon ce que Jaina a senti dans la Force, le fils de Palion. Dans The Unifying Force, à la fin, Palion mentionne clairement qu'il voudrait prendre du temps maintenant pour se marier et fonder une famille. C'est écrit, je vais l'écrire, je l'ai noté mot pour mot en anglais.
Je vais suivre avec la traduction.
Il mentionne, voici que j'ai marqué ça. Ok, Palion said that he never took time to marry and have a family. Donc,
il s'est jamais marié.
Ouais, c'est ça.
Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu un enfant illégitime.
Selon moi, c'est une erreur qu'ils vont expliquer comme ça. Mais d'après moi, c'est parce que James Luceno et Greg Keyes écrivaient leur roman en même temps.
Okay.
Donc, les deux scripts sont arrivés. Puis Delray aurait dû s'en apercevoir, mais il me semble, tu donnes pas des soupçons mineurs comme ça. C'est un détail. Malgré ces points négatifs, je donne quand même un 9 sur 10 à ce roman parce que j'ai été très diverti par celui-ci dernier.
Bon.
Alors, on fait un autre extrait audio.
Alors, on va écouter le retour de Boba Fett dans l'univers Star Wars.
Exactement. On entend un peu la description et puis après on saute dans l'espace quand justement Boba Fett mentionne « Bon, j'ai rien contre toi, mais seulement contre les Jedi. » Donc, on vous lance, on revient dans environ 3 minutes. Oui, c'est ça, à peu près dans 3 minutes.
The fatal volley was coming from halfway down the corridor, where half a dozen soldiers were crouched, kneeling and thrown on the deck. They wore pinch-cheeked helmets that were as domed as an R2 unit, bisected by horizontal viewplate strips, and surmounted by flag-like targeting rangefinders. Their gray uniforms were exoskeleton by blast dissipation vests, forearm gauntlets, knee pads, armor mesh gloves, and alloy boots with zero-G grip soles. They were armed with blaster rifles, handguns, combat knives, rocket dart launchers, and whatever else might have been hiding in the alloy utility pouches affixed to their broad belts. A weapons system all his own, the leader wore a combination jetpack and anti-personnel missile launcher, and his belt was red. Catching sight of Han, the trooper tendered a distinctive fingertip salute before hurrying off. "Fett?" Han managed. "Fett?" Leia shook her head in refusal. "It can't be him. Anyone could be inside that armor." Han nodded his head in agreement. "That's gotta be it. Besides, I mean, even if it is him, he was probably trying to kill me, not save me." Han, Leia, C-3PO, and the surviving Kalula soldiers stepped over the bodies of the Yuuzhan Vong and raced after the troops in Mandalorian armor who had already moved off. Finished. "Three skips converging on us," Leia glanced at him. "It's our old friends." Han's eyes darted to the authenticator screen. "The ones that tracked us from Selvaris? What is this, a personal vendetta?" One of the curved-tailed, tandem-piloted coral skippers appeared in the wraparound viewport, coming straight at the Falcon. "Take the shot," Han said into the intercom. Singularity swarmed in advance of the approaching skip, but sheer firepower overwhelmed them, and the vessel came apart in roiling fire. "Catmane is really getting good," Leia said. Han shook his head negatively. "That wasn't him." He leaned back in his seat to glance through the upper panes of the viewport. A classic Firespray-class security patrol craft shot overhead. A cross-shaped ship affixed to an oval engine suite. It was followed by four gladiators, so named because they looked like swords thrust to the hilt through circular shields. "It is Fett, and he's clearing a lane for us," Han snorted. "Just like him to make sure he has the upper hand on a debt." "Incoming transmission," Leia said. "From the fire spray." Boba Fett's voice crackled through the comm.
"Just wanted to remind you, Solo, that my personal fight was always with the Jedi. You were nothing more than cargo."
Han snorted. "For what it's worth, Fett, you were never more than a nuisance." Fett laughed shortly.
"To better days, Captain."
"Count on it."
Et encore, et c'était l'extrait avec Boba Fett. Et maintenant, Sébastien va pouvoir
déblatérer un peu
sur bon. Pourquoi qu'il aime pas tout à fait Unifying Force.
James Luceno est un très bon écrivain. Je vais commencer par dire que mes opinions ne reflètent pas les opinions du producteur et de l'émission de radio tout en partant. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, mais faut qu'un livre, je puisse embarquer dedans, je puisse me sentir dedans. Le problème de Unifying Force est que il saute énormément d'histoire à histoire à histoire à histoire à histoire. Il va pas rester très longtemps sur une même histoire, sur un même groupe de personnes. Il va beaucoup faire du va-et-vient entre Han, Leia, les Jedi, les Yuuzhan Vong, les Shamed Ones des Yuuzhan Vong, et ainsi de suite. Là. Une roue qui tourne tout le temps. Bon. Moi, ce que j'ai remarqué énormément dans ce livre-là de James Luceno, Danny disait plutôt que James Luceno est une véritable encyclopédie ambulante.
Je pense que c'est l'auteur qui connaît l'auteur actuel. Je parle d'un roman qui connaît le plus Star Wars.
Okay. J'ai très hâte de discuter avec lui. On est en train de travailler, essayer de l'avoir sur l'émission ici. Mais j'ai extrêmement hâte de parler avec lui parce que il y a énormément de détails qui ressortent dans The Unifying Force qui font rappel à des histoires de Kevin J. Anderson. Alors, si on fait un petit retour sur la série New Jedi Order, on peut voir que Kevin J. Anderson, qui a été connu, qui est célèbre à cause de ses Weapon of the Month.
Oui, c'est super, ses armes
extrêmement
de destruction massive.
C'est ça. comme le fameux
Sun Crusher.
Le Sun Crusher.
En français,
Le broyeur de
soleil.
Quelque ça. Chose comme ça. Ouais. Chose
le broyeur d'étoiles. Le
broyeur d'étoiles. on retourne d'ailleurs sur Kip. Il fait un petit retour sur tout ce que Kip a vécu dans sa vie, de comment est-ce qu'il est rendu, là où il est rendu maintenant.
Son
cheminement de Jedi. Et puis, il fait rappel à plusieurs romans où on voit que On retourne un peu sur la trilogie Jedi Academy de Kevin Jenderson. D'ailleurs, le roman Unifying Force débute avec le Faucon en pleine action, comme dans Jedi Academy.
Sauf que c'est certain que si on raconte l'histoire d'équipe, la majorité de ce qu'on connaît d'équipe a été seulement dans la trilogie de l'Académie Jedi.
C'est ça, de l'Académie
Donc,
Jedi.
Si on parle d'équipe, puis qui a fait sauter Carida, qui a fait plein de mauvais coups, puis qui a été du côté obscur, ben c'est dans Jedi Academy que ça va être. C'est certain que c'est lié à Kevin Jenderson dans ce cas-là.
Mais on voit quand même un bon retour, là, surtout sur Kip, là, dans ce roman-là. Quand j'ai lu le retour sur Kip, je me disais, est-ce qu'il va y arriver quelque chose d'ici la fin du roman? Et finalement, il survit, mais je pense qu'on s'attendait tous un peu à...
Il n'y a personne d'important à part Akbar, puis Akbar, c'est comme... On a jeté un poisson aux poubelles.
C'est ça,
carrément.
Exactement. Ils l'ont stuffé, puis ils l'ont servi à un buffet. Le buffet chinois Montcal.
Mon Dieu, il y a Nathan qui vient de...
Eh ben mon Dieu. Bonjour. Hello, Nathan.
Hi, Nathan.
évidemment, moi... J'ai quand même des bons points qui ressortent là, de New Jedi Order. James Ussino écrit d'une façon très tolkienesque. C'est qu'il va donner beaucoup de descriptions. Ouais. C'est quelqu'un qui, je suis sûr, est passionné de la Deuxième Guerre mondiale et des grandes guerres, des grands combats, parce que à toutes les fois qu'il met beaucoup de détails, on peut voir qu'il met énormément de détails sur justement les combats. On peut vraiment se sentir à la place d'un pilote ou à la place de Nastchoka ou à la place de Crefé qui sont à la tête des...
Les généraux, les...
C'est ça, de l'amirauté de l'Alliance Galactique de Yuuzhan Vong. Une écriture quand même très bien. Moi, j'ai trouvé le livre assez long à débuter. Là, je veux dire, il commence bien en action puis tout ça, mais... Quand j'ai vraiment accroché dans le livre, j'étais rendu à peu près à la moitié. C'était un petit peu, tu sais, comme dur
parce
à embarquer.
Tu avais trop hâte de voir la fin.
Un peu, oui, effectivement. J'étais pressé.
Dès le début du livre, je me suis dit, je suis certain qu'on apprend les détails seulement dans les deux derniers chapitres. C'est à peu près ça. On apprend beaucoup de choses dans les deux, trois derniers chapitres.
Je dirais même dans les deux derniers chapitres, sans trop se tromper. Là. Mais j'aimerais faire une petite parenthèse pour retourner un peu sur mes folles théories.
OK.
L'histoire qui tourne en rond entre la trilogie originale et puis le New Jedi Order. Dans le livre, il y a Leia qui dit quelque chose d'assez frappant. Puis ça m'a vraiment marqué, je voulais vous le lire. C'est... I keep thinking that my father must have finally come to this point when he summoned the strength to save Luke from the Emperor. I know from her journal that my grandmother felt this way, and I have the strongest feeling that my mother must have also reached this stage. With war erupting all around her, her home world threatened, is this what Jason has been trying to tell us along, that violence is never the answer, even if it seems the shortest and most direct path? Ça, j'ai comme fait. Attends une minute, là. Elle a lu... Les journaux intimes de sa grand-mère.
C'est dans Tatooine Ghost.
C'est assez... ça rapproche, là.
Ouais, oh. Tu l'as-tu lu, Tatooine Ghost?
J'ai pas eu la chance encore.
C'est un des meilleurs romans ever.
C'est ça.
Je te le prêterai en partant.
Ah, je l'ai déjà. Mais, non, c'est ça. Mais c'est quand même... J'ai trouvé juste le petit paragraphe-là, c'est comme... Ça nous ramène à l'épisode 3.
C'est ça, je te dis. Il est bon pour, comment dire, fermer les...
C'est toutes les boucles.
Conclure, c'est vraiment, même la fin du roman, on dirait que c'est la fin de l'univers étendu Star Wars. J'ai dit, on arrête là. Puis c'est comme, tu sais, la façon que le dernier paragraphe est dit.
Exact. Ouais. Évidemment, comme Daniel disait, je lisais là, le livre, j'étais rendu au chapitre 43, il y a 45 chapitres. Je suis arrivé au chapitre 44. J'ai commencé à le lire en diagonale, puis j'ai fait « Bon, ben tabarouette, il a réussi à se rattraper. » Parce que à aller jusqu'au chapitre 43, j'étais pour le mettre dans la même catégorie que, pour moi, Cathy Tyers et Barbara Embley se retrouvent.
C'est assez bas, ça.
Les pires auteurs de l'univers étendu de Star Wars. Alors, évidemment, quand on regarde ça, c'est vraiment pas bon, là. Surtout à comparer à Barbara Embley.
Pourtant, non. Moi, il me semble tout ce qui combat dans l'espace, c'est quand même bon. Qu'est-ce qui combat terrestre, c'est bon. Je veux dire, ça se compare pas du tout à Barbara Embley, selon moi.
L'histoire en tant que telle, j'ai trouvé longue à accrocher. J'aimais pas ça qu'on passe, tu sais, comme... à répétition, là, tout le temps très vite, là, d'un chapitre à un autre, on passait tout le temps à du monde différent. J'aurais aimé ça, c'est bon, finis ta bataille-là, là, après ça, va t'en voir qu'est-ce qui se passe là, tu sais, ça aurait pu être fait comme ça, mais il se promenait vraiment là partout, puis
ben, il y a ce côté-là que j'ai trouvé ça un peu mêlant, c'est les changements de stratégie en cours, tu sais, la flotte de l'Alliance Galactique était à Mont-Calamari, qui était la nouvelle capitale temporaire, et là, les Xenvong s'en vont là, mais le général Nashchoka, ben le War Master,
l'amirauté Xenvong,
c'est ça, il décide, il doit avoir un piège là-dedans, donc il s'en va tout de suite vers Coruscant, fait que là, l'Alliance Galactique sont mêlés, eux autres aussi envoient d'autres. Toutes les flottes se dispersent, puis c'est vraiment une tactique qui est difficile à suivre.
Il y a une grosse tactique qui n'a pas fonctionné pour aucune des deux amirautés, parce qu'il n'y avait personne qui avait prévu que ça se passerait d'une telle façon. Il y a eu en partie le happening, l'arrivage de Alpha Red sur Kalula, qui a fait que ça l'a mêlé aussi un peu beaucoup les gens.
Ben, c'est surtout l'arrivée du Nomos Ecot dans le système de Coruscant
la pause là.
Ça a mis la marde partout, puis faut aller là.
C'est bon, mais là on s'en va là, puis
c'est là que ça se passe.
Il y a quelque chose qui est pas correct là.
C'est ça.
Puis moi, ce que j'ai aimé par contre, c'est le fait qu'il visait à la destruction des Yamosk, qui sont les vaisseaux un peu qui vont contrôler, un peu comme l'empereur contrôlait la flotte impériale à la bataille d'Endor. Les Yamosk vont contrôler les vaisseaux à la bataille de Mont-Calamari. Et ils visaient pour aller détruire ces Yamosk-là, mais ils sont au centre complètement de l'armada. C'est très dur d'aller les chercher. On voit que le combat est vraiment, vraiment horrible.
Oui, il y a des chasseurs de l'Alliance qui se faisaient détruire rapidement.
Même Jaina s'est fait ramasser,
assez
impressionnamment d'ailleurs. Et ce qui m'a déçu, c'est qu'on n'a pas vraiment pu voir... Il n'y a pas vraiment de Yamosk qui s'est fait détruire par l'Alliance galactique. Ça m'a un peu déçu. J'aurais adoré que la mort, justement, de l'amiral Akbar ait été de prendre son vaisseau d'amirauté, de dire à tout le monde foutez le camp, puis lui aux commandes de son vaisseau, il plante directement dans
la mort. Ça aurait fait une belle mort.
C'est ça, qu'est-ce
que j'ai recherché. Comme là, il y a Luke qu'on nous a donné l'impression qu'il était mort. J'ai dit s'il meurt comme ça, je vais être satisfait parce qu'il a fait quand même un grand combat, puis ça va sauver la galaxie, dans le fond. Fait qu'il dit, ce serait une belle mort, mais comme Akbar, faire l'acte que tu as décrit, ça aurait été une belle mort aussi pour lui, mieux que Akbar est mort.
c'est vraiment là très très décevant de la part de James Ocino de donner une mort si peu digne et si peu honorifique à Akbar. Évidemment, on parle des Jedi et de la nouvelle force, de la nouvelle Unifying Force. C'est un livre de 500 pages, là, des Unifying Force. Puis, je dirais que ça devient intéressant à partir de la page 508. 520 pages, ça devient intéressant à partir de la page 508.
Il fait le compte-rendu de toute la série en trois chapitres.
Il y a une chance que le livre d'instruction de Knights of the Old Republic PC soit plus intéressant à 300 pages.
Peut-être. Sincèrement, là, je
me demande qu'est-ce qu'il explique pendant si longtemps. Il doit avoir une bonne partie qui raconte l'histoire, le contexte.
C'est un mini-roman.
Ouais, c'est ça.
Mais c'était vraiment là, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. D'ailleurs, plusieurs points qu'on voit par rapport à Kevin J. Anderson dans le livre, là, comme je disais plus tôt, il parle de prendre d'assaut Coruscant via des routes qui ont pas été mappées depuis longtemps. Alors, une des maps qu'il pense, c'est en passant par le système de l'empresse Theta, qui est dans les Tales of the Jedi. Fait qu'aïe, on remonte à très
longtemps. Ça fait très longtemps, les BD et les légendes du Jedi en
français.
C'est
ça. On retourne sur Rosus pour recréer l'Académie Jedi pour ceux qui vont vouloir devenir des Scholar Jedi.
C'est
donc
ça, les enseignants Jedi.
Thion qui va retourner sur Rosus. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant qu'elle...
Il retourne aux sources.
Il retourne exactement partout aux sources. Là. Rosus était la planète... Jedi, la planète d'Académie Jedi là, dans les Tales of the Jedi. Là.
Dans le début de la République.
Dans la vieille République. Ouais. C'est vraiment là, je suis content qu'il retourne à cette planète-là. Puis, la planète que Luke parle dans la trilogie des Australiens, de Sean Williams,
The
Force Heretics, on découvre une planète qui était dirigée par des Jedi et compagnie. Là. J'ai hâte de voir si Troy Denning...
S'il y a un développement sur ça.
C'est ça, si Troy Denning va revenir là-dessus. Je l'espère énormément.
Parce que ça rapprocherait le lien entre les dessins, les bandes dessinées et les romans.
Exactement. quelque chose qu'on a tous voulu voir se développer.
Oh oui.
Évidemment, depuis le début de la série, c'est
les relations,
la vie amoureuse
des jeunes solos.
De nos personnages favoris, les jeunes solos, qui, d'ailleurs, dans ce livre-là, tout comme dans la majorité des livres de Kevin Janderson, se retrouvent encore une fois dans le trouble.
Bien sûr, Jenna est encore dans le trouble.
Par contre, cette fois-là, ils réussissent à s'entre-sauver eux-mêmes. Ouais. Autre clin d'œil au livre de Kevin Janderson, Jenna vient taper sur l'épaule à Jason un instant et lui dit... T'as toujours été bon avec les animaux. Alors, ouais, souvenons-nous.
Quand il était à l'Académie. Ouais.
L'Académie Jedi. Quand il s'était fait, enlever par un des maîtres Jedi fous. Alors, finalement, Jaina se retrouve seule. Elle a besoin de temps pour penser.
T'as Jack, lui, qui est nommé diplomate pour le... C'est quoi les initiales du...
Le CEDF.
C'est le Chiss Expendary Defense Force. Oh, quelque chose comme ça.
C'est quand même pas pire.
C'est ça. Il devient diplomate comme ça. Puis Jaina, elle mentionne que elle, son but maintenant est de devenir diplomate dans un conseil, dans le conseil de l'Alliance Galactique.
De l'Alliance Galactique, à côté de Luke, Kip et Sil'Gal, puis des autres, évidemment. Alors exactement. Maintenant, le conseil qui est formé de la moitié de Jedi et à moitié de représentants de l'Alliance Galactique, ce qui est très bien.
Et, d'ailleurs, c'est le seul espoir qu'on a pour Jaina et Jag, parce qu'ils vont se rencontrer dans ce genre de réunion-là, etc.
Mais j'adore la façon que Jaina... Parce que Jaina dit pas à Jag, c'est fini, je ne veux plus jamais te voir.
Elle dit,
j'ai besoin de temps pour me retrouver moi-même, j'ai besoin de temps pour réapprendre à dealer avec la Force. Parce que, encore dans ce livre-là, on voit qu'elle passe quand même pas mal proche là, à certains moments du côté obscur.
Ouais.
Entre
guillemets.
Même sa mère, ouais, c'est ça, entre guillemets, évidemment. même sa mère aussi, là, qui, à un instant.
Elle utilise beaucoup les sabres laser dans le.
Ouais, Léa utilise énormément les sabres laser.
Son sabre laser, ouais.
Waouh, un petit couteau de chasse, là, qu'elle s'amuse énormément avec. Moi,
elle a-t-il encore le sabre laser rouge? Oui, je pense, qui avait été donné par. Par Noomi Sunrider, mais son arrière-grand-mère.
Jima Daboda, non. Ouais. Ce sabre-là a été détruit par l'empereur dans Dark Empire.
T'es sûr de ça?
100% certain.
Parce qu'il me semble que le
100% certain.
Mais c'est quoi le sabre qu'elle a d'abord?
Léa? C'est elle qui se l'est fait ou elle s'en est fait donner un par quelqu'un d'autre, mais c'est pas le sabre de Jima Daboda. Ça, je suis sûr à 100%.
Mais moi, j'ai toujours imaginé rouge le sabre à Léa. Je sais pas pourquoi.
Ça irait bien avec elle.
Ou c'est rosé, rouge.
Ça irait bien avec elle, je dirais.
Faudrait que je retrouve c'est dans quel roman. Je pense que c'est Luc qui lui donne.
C'est pas impossible. Oui, je pense que oui, c'est Luc qui lui donne en lui disant « Tiens, parce que tu vas en avoir besoin pour te protéger
des fois. » T'es quand même une Jedi. Ah ben, bouge pas, continue à parler.
Donc, d'ailleurs, parlant de Leia, il y a un instant où on manque de voir Han qui va mourir en se faisant frapper par un amphistaff au cœur sur Kalua. Alpharet avait déjà été déployé, donc les Yuuzhan Vong étaient moins forts. Ah, ok. Et c'est... d'ailleurs, Troy Denning, tu sais, en. Mais bon, Leia, qui on la voit, est en train de comme prendre panique et puis elle se précipite sur Han pour essayer de le sauver et tout ça. Mais ce qui m'a déçu un peu, c'est qu'on la voit pas comme piquer une rage de colère intense de, entre guillemets, côté obscur de la Force.
C'est même le contraire.
Comme 20 Yuuzhan Vong.
C'est même le contraire. Elle jette son sabre laser à terre et
elle
voit, Han,
elle se précipite sur Han. Le sabre rouge, c'est sur la couverture de Star by Star de Troy Denning.
Le verso, rouge ou rosé, là.
C'est ça.
D'après moi, c'est rouge parce que j'ai toujours l'impression qu'il était rouge. Ça a l'air plus comme Mace Windu un peu. Là.
Non, ça serait rouge. Ouais. Plutôt que mauve. C'est vraiment.
C'était peut-être aussi en honneur de son père qui avait donné une lame rouge. Je me souviens plus.
Pas impossible. Je me souviens que c'est Luke qui lui donne.
Ouais.
Je me souviens plus dans quel livre. Je me souviens que c'est Luke qui lui donne.
Ça doit être dans ce. Non, c'est peut-être pas dans celui-là, mais ça doit être dans la série Nouvelle Ordre Jedi.
Au début de Vector Prime. Là, dans...
Balance Point, peut-être.
Enfin, bref.
Ouais.
C'est ça. Fait que Jaina finalement dit pour Jaina puis Jag, ça reste en suspens. C'est laisse-moi prendre congé. Bon, en général, quand une fille te dit ça, c'est pas
non, regarde pas fort. Aussi,
mais... Fait que si ça se trouve, on va voir Jag qui va avoir trouvé quelqu'un d'autre avec qui mater. Puis dans quelques années, on va le retrouver avec sa petite famille tout ça. Puis Jaina va avoir manqué son coup. Mais qui sait, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se développer entre Jaina et nul autre que Lumpy.
Lumpy.
C'est Lowy là, qui l'appelle.
Ouais, c'est ça.
Le fils de Chewbacca.
Ouais, t'as le fils et le filleul qui vont poursuivre l'œuvre de Chewbacca auprès de la famille Solo.
Ils ont ramené
le fils de
Holiday Special.
Mais ils l'ont ramené d'une façon très bien, puis c'est Now that the war has ended, Chewie's son continued, Louie and I will be assuming my father's life debt to you. Fait que là, il y a deux.
Mais il est réapparu dans un des Roman Gio quand il était sur Kashyyyk, je crois.
Okay.
Puis justement, non,
Louis, c'est l'Obaka, ça. C'est
ouais, c'est ça.
Louis, non, c'est mais... l'Obaka, mais c'est Louis and I will be assuming my father's life debt to you. Donc c'est Lumpy qui parle à ce moment-là. Okay. Et évidemment, ouais, c'est ça.
Et puis Danny Cui et Jason, un peu la même chose. Jason, il décide de, moi, je veux pas être un académicien, je veux pas enseigner. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ça, il part de son côté, d'après moi, ça va être un ermite, genre. Là.
Ouais.
Puis Danny Cui, elle qui reste sur Zona Mosekot, qui va continuer à étudier les Yuuzhan Vong. Zona Mosekot va retourner en région inconnue où est-ce qu'elle était juste avant de.
Dans les Badlands.
C'est ça. Je pense en orbite de la planète Mobius ou Mosus, quelque chose comme ça.
Mobius, ça arrête là.
Il faudrait que dans la carte, il me semble qu'on le.
Mobius.
Mobius, c'est ça. Donc, elle va retourner là. C'est là que les Yuuzhan Vong vont habiter. Ils
exact.
Vont reconstruire la planète, etc. And they live happily.
And they live happily ever after, c'est
after,
ça.
C'est ça.
Ils vécurent heureux et ils ont beaucoup d'enfants.
Bon, maintenant, je vais sauter les commentaires audiobook parce que ça va être trop long. Là. Juste pour dire que l'audiobook est très abrégé. Il coupe beaucoup de scènes. Donc, on n'a absolument rien du début. On a... Tous les chapitres importants, les deux derniers, là, aucune mention dans l'audiobook. Ça finit avec le War Master Nash Choka qui se livre, et puis ça finit comme ça.
Eh bien.
Il n'y a aucune explication sur le Nouvel Ordre Jedi, aucune explication sur...
Ça, c'est pas bon.
Sur,
ça, c'est vraiment
sur
mauvais.
Où les Jedi font, qu'il n'y a pas d'académie, qu'ils okay. font plus de l'exploration interne de la Force, mm-hmm. eux autres. Même, il n'y a aucune explication de ça.
En tout cas, The Unifying Force, je vais lui donner un 7 sur 10, pour être gentil, parce que les deux derniers chapitres rattrape vraiment tout le restant du livre, en tout cas dans mon cas, là, selon moi, je trouve que c'est vraiment le cas. Et il y a énormément, j'ai l'impression que c'est une œuvre qui est, entre guillemets, dédicacée à Kevin Janderson.
Moi-même, j'aurais probablement fait une duologie, et non pas juste un livre.
Parce qu'il
y a beaucoup de...
Développement des personnages qui pourraient être beaucoup plus ouais, développés, mais...
Non, encore, juste la mort d'Akbar aurait pu avoir... un chapitre, tu vois des personnes au seuil d'Akbar dans son lit, bon,
mais même
gagner ça pour moi. Si vous
la scène que j'expliquais tout à l'heure, ça aurait pu être une seule...
un paragraphe.
Un seul paragraphe qui disait, et soudainement, sorti de nulle part, un croiseur, mon calamarien, fonçait directement sur le Yamask, créfé, comprend rien de ce qui se passe.
C'est pas le style à Akbar de faire un banzai, vraiment pas.
Ben c'est ça, mais j'aurais aimé ça, justement, qu'il fasse quelque chose comme ça, qu'on voit que... Il y avait ça en lui un peu là quelque part. Puis qu'il était prêt.
Ben, il était trop malade et puis il
était prêt
comme,
à sacrifier.
Il fait comme
sa
dans
vie.
24 dans la deuxième série, le chef de comment il s'appelle la compagnie là, antiterroriste, le CTU.
Du Counter-Terrorist Unit.
C'est
là.
Ça, le chef de okay, CTU
ouais.
qui
a été irradié par l'uranium qui
exactement.
Va se planter avec l'avion qui a la bombe.
Ouais. Exactement. Un petit sacrifice.
Mais
ça.
J'aurais aimé ça qu'on voit justement une réaction comme ça de la part de. Que vraiment personne s'y attend. Ça aurait été une surprise totale. Il n'y a personne qui serait attendu, puis ça aurait fait une mort extrêmement héroïque, puis extrêmement honorable. Puis. Il y aurait peut-être eu un Yun Akbar qui serait...
Yun Akbar, bien oui.
Un nouveau dieu Yuuzhan Vong.
Ouais, je pense qu'il y a juste Ganner qui...
Qui mérite son Yun Yamka.
Ouais, c'est ça. Bon, commenter sur la série en général.
Je suis déçu de la façon que ça se termine. Sincèrement, là, même si c'est pas tout à fait terminé, j'étais un peu déçu de la façon que ça se termine. Je suis très content pour la Force, par contre. Déjà, c'était avec Walter John Williams qu'on avait appris qu'il n'y avait pas de côté obscur, qu'il y avait juste une force.
Non, c'est dans Twitter. Matthew Stover.
Fait que c'est Matthew Stover. Mais c'est qui qu'on avait interviewé qui nous avait parlé
de Stover.
C'est Matthew Stover.
On a interviewé les deux. Mais
c'est ça.
Matthew Stover, c'est lui qui dans Twitter que Verger explique le nouveau concept à Jason.
Mais c'est vraiment ça que j'ai aimé les nouvelles versions de la force. Là. J'ai adoré ça au bout.
Moi, je dis ça ouvre des horizons pour les prochains romans.
C'est ça. Moi, j'ai toujours été de ceux justement qui disaient qu'il n'y avait pas vraiment de côté obscur. C'est pour ça que le JJM veut dire deux choses, autant Grand Jedi Master que Grey Jedi Master. Parce que, tout comme Luke, marche souvent sur la fine ligne grise, la mince ligne grise entre les deux.
Puis un peu le fait que ce que Martin disait tout à l'heure, que ça se répétait trop, la littérature Star Wars, ben justement avec un concept comme ça, ça va ouvrir d'autres avenues pour pouvoir développer là-dessus.
Exactement.
Sans nécessairement briser, parce que le concept n'était pas découvert dans le temps des films. Donc,
exactement.
Dans le temps des films, c'était encore Light Side, Dark Side, mais loin.
T'sais, pour revenir à ma folle théorie.
Ça reste logique pareil.
Pour revenir à ma folle théorie de l'histoire qui se répète. En tout cas, non, je peux pas le dire parce que ça serait un spoiler. Donc, Akbar, il peut piloter un cruiser Mon Calamari tout seul de son.
Il pilotait pas un B-Wing quand il s'est fait capturer par.
Je pense que oui.
Par un des impériaux avant Return of the Jedi. Il était esclave de quelqu'un.
Mais il pilotait une navette Tidirium aussi.
Ah, ça se peut. Mais fait que donc. Au pire, il serait probablement pas tout seul à nouer.
Non, c'est ça. Mais à un moment donné, dans les Star Wars Tales, qui sont des purs actes de fiction, Akbar est d'ailleurs le pilote personnel de Darth Vader.
C'est ça.
Donc.
Exactement. Bon, moi, je trouve que oui, c'est une des meilleures séries ever. Quand même, c'est un ennemi assez impossible.
Très bonne série depuis ce qu'on avait, depuis ce qu'on avait eu. Là, je veux dire, je suis très très content de la série en tant que telle. En gros, un ennemi aussi indestructible que les Yuuzhan Vong, ça l'a fait du bien.
Ça fait différent de l'Empire.
Ça fait du mal aussi.
ça fait différent des impériaux qui reviennent tout le temps. Puis
qui se bataillent pour des miettes de pain des restants de l'Empire. Là,
des petits méchants comme dans. Comment il s'appelle celui qui a comme un masque là, dans The New Rebellion, des petits méchants minables là, qui durent un roman là.
Je m'en souviens même plus. Mais même les Chousa Bakura, les Siriouk là.
Ouais, les Siriouk.
Qui étaient quand même des bons méchants, mais qui durent pas longtemps non plus là. Je suis content des Yuuzhan Vong. En faire une série de 19 livres, c'était peut-être un petit peu poussé là.
20.
21.
Avec le numéro 0.
Ouais, ça c'était supposé être 21 au départ.
Ouais.
Si on compte le livre de Greg Bear, Rogue Planet, c'est.
Qui est introduit 22, les Yuuzhan Vong, exactement.
Yuuzhan Vong numéro 0. Là. Si on compte les e-books, il les y a. Puis, je me souviens plus quel autre e-book aussi.
T'as la trilogie de Michael Friedman qui a été annulée. Puis Greg Keyes est embarqué dans le décor pour faire Edge of Victory 1 et 2.
C'est ça. Michael A. Stackpole s'est fait couper un livre de sa trilogie à une duologie.
Ouais, c'était Siege. On a eu Onslaught puis Ruins, mais on n'a pas eu Siege, qui était le livre du milieu. Moi, je trouve que c'est une bonne série. Est-ce qu'elle va être battue? En qualité, peut-être. En longueur, je ne crois pas que Delroy va se lancer à nouveau dans une longue série comme ça.
J'espère que non.
Ça serait horrible.
Comme
s'ils font, je dis, prenez 5 auteurs, les 5 font la storyline, puis c'est tout le temps les mêmes. Parce que là, changer d'auteur à chaque fois, ça crée de la difficulté.
Je dirais pas ça, je dirais, prenez 5 auteurs, faites les 5 hardcover, puis après ça, faites vos softcover entre les hardcover pour expliquer plus de détails.
Ben, c'est un peu ça qui a été fait, parce que les hardcover, ils suivaient vraiment la ligne directrice. Puis les paperbacks, c'était pour mettre de la chair autour de là.
C'est ça, mais je dirais qu'il aurait dû faire les paperbacks avant, justement, pour pouvoir mieux remplir les trous. Parce que là, comme on regarde Final Prophecy puis Unifying Force, il n'y a pas vraiment de balance entre les deux. Donc,
mais moi, je dis que avoir trop d'auteurs, ça peut être nuisible pour une longue série. C'est une belle expérience que... Ils ont dû travailler des heures supplémentaires en masse pour réussir à faire ça.
Sur Rustini et Charlie Shapiro doivent être extrêmement fatigués. De là, je dirais l'explication des quelques fautes de frappe dans le livre. Je leur pardonne pour ça. Pour moi, James Luceno a dû remettre le script assez tard. Assez tard, proche de la date d'impression.
Selon moi, si une série plus longue ou égale à The New Jedi Order advient qu'elle a existé, selon moi, ça va être entre l'épisode 3 et 4, et puis ça serait genre la purge des Jedi par Darth Vader. Donc, tu le verrais, tu sais, de livre en livre, tu verrais un peu le cheminement que Darth Vader a fait, puis tu vois les Jedi se sauver, etc. Un peu comme beaucoup de fan-films présents.
Quelques fan-fictions dans ce comme dans les Star Wars Tales, effectivement, ça pourrait être intéressant.
Ben, il y a toute la Clone Wars aussi, qui est
un
concept de série qui peut être très intéressant, parce que ça nous ramène aux séries classiques.
Le problème, c'est que c'est déjà en train de se faire en roman, en BD et en dessin animé.
Oui.
Donc, est-ce que ça va aller plus loin que ça en détail? il y a déjà quand même quelques romans qui expliquent certaines batailles.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ça serait bien qu'il y ait un roman qui explique la clone noire en tant que telle.
Ouais. C'est parce que, ouais, une espèce de truc général.
C'est une série complètement consacrée au site.
Oui.
On recule
dans le temps. Il n'y a aucun roman vraiment dans le temps des Tales.
On recule 4000 ans, puis on explore vraiment les sites en détail sur la culture, toute la quête. Mais ça, je pense qu'il n'y a vraiment personne qui s'est assis pour vraiment dire c'est quoi un Sith, là. Puis là, je remonte jusqu'à George Lucas, là.
Ben, en fait, oui.
Mais pas trop clair sur le concept, là.
En fait, George Lucas a donné le concept du Sith avec Darth Bane à... c'est qui écrit le roman pour le premier épisode?
Terry Brooks.
Terry Brooks a expliqué la provenance des Sith.
C'est qui Darth Bane?
C'est le premier, c'est celui qui a décidé qu'il y avait un maître en apprenti seulement. C'est à partir de lui que c'est commencé, ça.
Exactement. Puis on a vu son apparition dans le comic Jedi vs. Sith, qui est une série de 6 comics, qui était quand même très intéressante, mais qui accote pas les Tales of the Jedi de Kevin J. Anderson. Je dois dire que jusqu'à présent, là, puis Kevin J. prend le pas mal, les Tales of the Jedi, c'est sa meilleure œuvre, selon moi. Là, toute la recherche, toutes les histoires qu'il y a eu là-dedans, c'est vraiment merveilleux.
Mais comme on parlait avec Mike Gallo, peut-être qu'il va y avoir une série de romans qui va être autour de Knights of the Old Republic. Donc, ça pourrait être ça, éventuellement.
Ça serait intéressant.
Le fait que je parlais entre l'épisode 3 et 4, et c'est le fait qu'il y a 18 ans. Donc, tu peux en mettre beaucoup d'espace pour travailler, que George Lucas va enfin dire, maintenant, je vous ouvre cette période, et puis vous pouvez travailler dans cette période.
Moi, il y a bien un grand gap. Là.
Ouais, ça serait bien d'avoir aussi l'histoire un peu des Wills.
Ouais.
Ces fameux Wills dont nous ne savons rien.
Allons-nous savoir la race de Yoda, c'est ça que...
Exactement.
On pense toujours que les Wills est la race de Yoda.
Ah bon.
C'est la rumeur qui court. Belda qui nous dit dans le chat que les Impériaux, Gilad Palin a eu un beau rôle dans NGO, effectivement, on le voit souvent. Ouais. Les Chiss.
Il s'est rattrapé, il compense, il fait comme le bon côté de Thrawn, dans le fond. Thrawn est un amiral extrêmement... génial, mais qui était très méchant, maléfique, tandis que
Palin, c'est
un officier, mais qui dans la série est devenu l'amiral maintenant.
Mm-hmm.
Et puis il est aussi bon ou presque Thrawn, mais pour la bonne cause.
Mais c'est l'apprenti de Thrawn, donc il met à l'épreuve,
c'est leçon.
C'est leçon, ce qui est selon moi très bien. Quelqu'un que j'ai énormément manqué dans la série NGO, c'est l'amiral Dala.
On l'a pas vu.
Qui a été, qu'on s'entend qu'il est parti à quelque part, qu'on sait pas où, puis qu'on sait pas quand est-ce qu'on va la revoir.
Pas encore perdu dans son trou noir, là.
Non, parce que, mais d'ailleurs, autre superbe clin d'œil à Kevin J. Anderson, le Maw Installation, là où les Jedi sont allés se réfugier.
Vu qu'il n'y avait plus de base en tant que telle, c'était là que l'Académie Jedi était relocalisée.
Exactement.
Exactement.
J'ai hâte de voir, ça serait bien que j'aimerais la voir réapparaître dans une série future. Là.
Bon, spéculons sur le après NGO. Qu'est-ce qui s'en vient plus tard?
Bon.
Plus loin, je veux dire, pas dans la littérature, mais qui va se passer chronologiquement plus loin que le point où on en est maintenant, qui est 30 ans après Return of the Jedi.
J'aimerais ça que la série Trident, puis là, j'aimerais ça, puis j'aimerais pas ça, mais j'aimerais que la série de Trident commence par. Ça s'en vient, effectivement. Je vais revenir sur le point de Belda dans le chat un petit peu plus tard. J'aimerais que la série de Trident post-NGO commence par les funérailles de Luke sur Ozus.
Ouf!
Ça serait un événement déclencheur extrêmement
intéressant. Mais mort de comment? Vieillesse?
Mort de vieillesse, oui.
Ah, si on est loin dans tout ça.
Oh, oui, là. On parle dans une vingtaine d'années, probablement.
C'est que t'as son fils qui est tout jeune Jedi. Là.
C'est ça. Ce que j'aime de la façon que
Unifying Force une belle mort, oui, mourir de vieillesse c'est beau, puis t'as fait ton utilité à la galaxie, mais il me semble qu'il faudrait qu'il meure dans un acte, en faisant un acte honorable.
Ouais, mais ce que tu dis là, c'est qu'on touche à quelque chose d'un problème dramatique au niveau du personnage de Luke qui me bug depuis que les films existent. C'est que la raison dramatique de Luke ne sert à rien d'autre que de ramener son père.
Ouais.
Après les films, il n'y a plus vraiment sa raison d'être. Oui, bon, il remet en place une académie qui le quitte, mais c'est réactionnaire aux besoins, tu sais, c'est pas... Il y a rien
Luke est l'élu.
Oui, bon, c'est plus Anakin l'élu, je pense, mais bon, Anakin,
premier, là,
Skywalker. Pour
septième, là.
Anakin Senior et non pas Anakin Junior.
Mais bon, ça peut être une autre discussion une autre fois, là, mais mm-hmm. Moi, je considère que le rôle dramatique de Luke...
Luke a fait son travail jusqu'à maintenant.
C'est ça, il a fait ce qui était requis de lui, mais il n'a jamais eu à choisir dramatiquement parlant. Si je parle de drame, je regarde Han Solo qui a le choix. À un moment donné, il décide, son choix dramatique, il le fait dans New Hope.
A New Hope, ouais.
Quand il décide de revenir à aider le kid, tu sais. Mm-hmm. C'est là qu'il fait son choix dramatique. Puis à partir de là, il vit avec son choix. Mm-hmm. Mais Luke a jamais eu ce choix-là à faire. Son destin l'a toujours comme poussé dans le cul pour arriver.
Il a fait une autre décision majeure ici, c'est qui ça. Était de issue de l'académie. Et puis il y a un nouveau concept de la force, mm-hmm. qui est la force unifiée au lieu de la Living Force. C'est le Unifying Force qui se concentre plus sur la vision du futur. Donc il essaie de diriger vers là, ouais. Qui est une autre grande décision. Puis il est temps pour lui et Mara d'aller prendre un break, d'élever leur enfant. Puis...
Ben, d'ailleurs, justement, c'est comme ça que ça finit que Anne puis Léa, Anne dit à Lumpy et à Lobaka, hey, là, on vient juste de se débarrasser des deux nogris qui nous suivent comme des ombres parce qu'on veut prendre des vacances, là, fait que tu vas pas me commencer avec ta maudite dette de vie, toi, là. Va-t'en en vacances.
Ça, ils s'en vont dans la région du corporate sector en vacances. Et puis Mara et Luke, c'est ça. Et puis Mara et Luke vont les suivre pendant un petit bout de temps. Ils s'en vont avec eux.
C'est ça, ils vont retrouver Ben, qui est leur fils.
Ben Skywalker. Ouais.
Ben Skywalker. Et oui.
Tort qui manque d'imagination.
Non, mais c'est un honneur. C'est un bel honneur quand même.
On en est plein de cul de l'honneur. Servez-vous de votre imagination.
C'est quand même dans le futur, les aventures de Ben Skywalker. Il va falloir que ça arrive à un moment donné. Hein.
Ça c'est peut-être un des points, justement, que Troy Denning disait que ça se passait très postérieur à la série. Très, ça veut dire combien d'années, on le sait pas. Mais c'est certain que voir Ben Skywalker à 5 ans, c'est pas intéressant.
Non.
Le voir à 10 ans, c'est pas intéressant.
Des enfants Jedi, on en a vu assez. Bon, Kevin J. Anderson puis Rebecca Moesta,
non, fait en
le merveilleux couple,
Menace.
On a vu en masse, ok? Je veux plus en voir des kids
20 ans, 20 ans plus. Ouais.
Mais même si Luke, d'ailleurs, en relocalisant l'Académie sur Osus, dit faut que les enfants, comme dans le temps de l'Ancienne République,
une base,
okay. soient amenés à l'âge de 6 ans, à l'âge de 3 ans et moins, pour justement grandir sans connaître ce qu'est le mal, puis après ça, être amenés au monde. J'espère que Jude Watson pourrait participer à la post-NGO parce qu'elle a amené des points extrêmement forts dans The Jedi Apprentice, la série Jedi Apprentice qui est extrêmement bonne autant pour les enfants que pour les adultes.
C'est un autre point que Belde dit. Oui, Luke a aussi amené, là, pas seulement le nouveau concept de la force, mais a amené l'Académie Jedi.
C'est ça.
Qui était une autre de ses décisions en tant que telle de... faire avancer un autre décision. Mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique.
C'est une décision, mais par besoin.
C'est ça.
Tu sais.
C'est pas dramatique.
C'est mathématique.
Fallait qu'il décide évidemment de faire ça sur un temps de site, là. Bravo.
Moi, je crois que, peut-être pas dans la trilogie de Troy Denning, mais peut-être plus tard, le vaisseau Alpha Red qui a été projeté dans l'espace à quelque part, il va se faire retrouver par quelqu'un. Et puis le virus va peut-être commencer à se spreader, et puis il va falloir réussir à le contrôler. Ça fait énormément. 24, la saison présente,
c'est ça, là.
Ça pourrait arriver, puis c'est peut-être ça qu'il dit, Troy Denning, quand il dit les antagonismes sont différents. Penses-tu que ça pourrait être
essayer de... n'est pas au courant de la discussion qui a eu lieu.
Avec Tahiri, ouais.
Mais on n'est pas au courant de la discussion qui a eu lieu entre Danny Kui et Zanama Seka.
Ben, je pense qu'ils en font mention indirectement. Ils demandent, je veux rencontrer Danny Kui pour qu'elle me parle des anomalies graphiques et puis d'autres choses. Probablement pour ajouter ça au vaisseau qu'ils ont construit par la suite pour qu'il y ait des armes quelconques, qu'il y ait les Dovin Basal puis les plasma canon, les canons plasma qu'il n'y avait pas sur les vaisseaux de Zanama Seka qui n'étaient pas prévus pour se battre au départ, mais d'après moi c'était ça, c'est pour implanter ça sur ces vaisseaux-là, en fait.
Exact. Donc, il y avait Belden un petit peu plus tôt qui nous disait que ça serait bien d'avoir une série sur la jeunesse de Yoda. Il y a quand même 300 ans à développer. 900 ans à développer. Ouais, je veux dire,
19 livres, c'est rien, comparé à ça.
Un livre par année.
Un livre par année. Del Rey a le contrat du siècle, mesdames et messieurs. Il y a Wookie Mark qui nous dit que ça sera plus Luke Skywalker, mais plutôt Luke Wheelchair Player.
Quoi, il va vendre en contrebande des chaises roulantes, non, c'est pas sûr.
Non, mais tu sais, s'il pousse les séries plus loin, tu sais, ça va donner, dans le chat, on s'amuse là-dessus un peu, là, c'est-à-dire que, à un moment donné, les personnages sont rendus trop vieux, là, tu sais. Les personnages sont rendus, je déteste ton micro, les personnages sont rendus trop vieux, puis... À un moment donné, tu sais, je suis d'accord qu'il faut amener du 109.
Mais d'ailleurs, dans la série NGO, les personnages principaux ont pris un rôle plus secondaire comparativement à tous les autres. Dans les hardcover, oui, ils étaient là d'importance, mais dans les paperbacks, pas nécessairement. Les personnages étaient encore là, mais les jeunes Jedi ont pris beaucoup, beaucoup de place.
Encore une fois, quels sont les personnages? De qui proviennent les personnages qui prennent beaucoup de place? Kevin Jenderson. C'était à se demander s'il n'y a pas une espèce de conspiracy theory que Kevin Jenderson était en arrière de NGO. Mais qu'on ne sait pas. C'est une question que je vais demander à Sue.
Parce que Kevin J. est le seul qui a fait une série de jeunes Jedi, à part Jude Watson avec la trilogie, mais là, après, seulement à l'Académie Jedi qui a été fondée, et puis Kevin Jenderson, et puis après, ben, personne n'a continué ce concept-là. Donc, il revenait avec les Young Jedi qui prenaient chaque individu, puis ils montraient leur développement. Donc, il fallait qu'il y ait un futur, donc c'est lui qui s'en est chargé. Et puis là, tous les autres auteurs, ben, maintenant qu'ils sont plus âgés, ils peuvent les réutiliser. C'est un club-école, Kevin Jenderson.
Ah, tout à fait.
Club-école pour les...
scolastiques.
Exactement.
Moi, personnellement, je ne suis pas nécessairement satisfait de ce qu'il a fait avec les livres de Star Wars. Par contre, il a travaillé sur la série des livres de Dune. Puis là-dessus, je trouve qu'il a fait du bon travail.
C'est ça. Il n'y avait peut-être pas les mêmes restrictions.
Mais il était deux à travailler sur les livres de Dune. Il n'était pas seul.
C'est ça. Il y a une coopération, donc j'imagine qu'il est resté en...
Il y a deux cerveaux au lieu de un, des fois ça aide.
un a complété l'autre, ainsi de suite.
Exactement. Il y aurait peut-être un dernier extrait qu'on pourrait entendre, qui est le combat entre Luke et Shimura, si vous voulez, mais je pense qu'on a déjà dépassé notre temps prévu pour cette chronique principale. On a beaucoup de choses encore.
C'est pas si pire quand même, sérieusement.
Bon, il nous reste l'entrevue de Mayu, la traduction. Okay,
ouais, finalement,
Star Wars Galaxies. Hein, on n'est pas fini, je pense. Donc, si vous voulez entendre l'extrait, écoutez-nous à 19h. On va probablement, on va probablement la passer dans l'émission anglaise, n'est-ce pas?
Et voilà.
Donc, je pense qu'on va conclure là-dessus. Et puis, non, j'ai pas d'autre chose pour le futur.
Pour le post-NGO. Ben, moi, la chose que je voudrais dire, c'est que Luke s'est fait blessé par l'Amphistaff de Shimura, qui est le Supreme Warlord.
Ouais,
Supreme Overlord.
Ouais, c'est ça. Le Seigneur Suprême.
C'est ça, le Seigneur Suprême, qui est pas vraiment le Seigneur Suprême, mais il portait l'arme du Seigneur Suprême. Ouais. Et puis, c'est une arme qui a aucun antidote à son poison. Et Jason a réussi à le guérir, mais Luke se sent que... Sans qu'il n'est pas tout à fait guéri.
C'est comme Frodo dans Lord of the Rings. Même après plusieurs années, il sent encore la blessure qu'il a reçue des Ringwraiths,
en français.
Les Nazgûl,
on va les appeler de
moins. Exactement, donc c'est un peu le même principe. Peut-être que lui aussi, il va peut-être mourir de ça, on ne sait pas.
Ben c'est ça, là, c'est une bonne façon d'amener sa mort. Si je m'en allais aussi avec ça, c'est que ça va être quelque chose qui va être à surveiller, là, j'ai l'impression, la série post-NGO, là, parce que ça a ouvert la porte à énormément de questions.
Exactement. Et moi, justement, le fait que c'est un ennemi différent selon Troy Denning, ça me pose des sérieuses questions. Comment il dit ça mot pour mot? C'est. Je suis allé juste en français, mais c'est.
des... Comment qu'il explique ça?
Des ennemis antagonistes.
Oui, des antagonismes, antagonistes différents.
OK.
Donc, quand il réfléchit, moi, c'est différent. Comme si c'est du jamais vu comme les Usenvong, qu'est-ce que ça pourrait être?
Moi, je pense qu'on peut conclure là-dessus. New York, 11 septembre, qu'est-ce qui peut battre ça? Usenvong, qu'est-ce qui peut battre ça? C'est sérieux, là, c'est quasiment rendu là.
Ouais, c'est ça.
Ça va être dur à battre.
Ouais. En tout cas, on va voir. Il va y avoir 3 livres pour nous expliquer et on va l'avoir en entrevue éventuellement. Donc,
on peut conclure là-dessus.
Ouais, on conclut là-dessus. Donc, on revient après la pause. Et puis, on va parler de. Ben, on va entendre l'entrevue de Peter Mayhew et puis on va la traduire par la suite. Donc, restez en onde sur Star Wars en direct.
SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie, un site web créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de jeux en ligne ne sont pas oubliés, nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même que des solutions de serveurs préconfigurés clés en main. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
« Hi, my name is Peter Mayhew. I play Chewbacca on Star Wars, and you're listening to Star Wars on Direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Bon, maintenant, on va passer l'entrevue qu'on a faite à SFX avec Peter Mayhew. Le contexte de la convention, c'était il y a 2 semaines, et puis il est en visite à la convention en tant qu'invité Star Wars.
Effectivement. La fameuse entrevue a eu lieu le samedi, qui était la journée précédant son question-réponse. Ouais. C'est la journée aussi qu'on... Avant le souper qu'on a fait avec lui.
Exactement.
Qui est d'ailleurs... je tiens à remercier personnellement Angie et Peter Mayhew qui nous ont gracieusement accordé leur présence à notre souper. On a d'ailleurs été fêtés joyeusement avec eux au bar de leur hôtel par la suite.
On fêté, c'est un grand mot. Là. On a discuté.
Et quelque chose qui n'est pas mentionné dans l'entrevue, puis que je peux quand même le mentionner parce que c'est des détails de l'épisode 3 qui ont été dévoilés. Mm-hmm. C'est pas vraiment un spoiler, là, puis maintenant, Chewbacca va être dans l'épisode 3, et une des réactions qu'il y a eu quand il est sorti sur le set de l'épisode 3 en Australie, c'est que Samuel L. Jackson est venu le voir, puis il a commencé à lui parler en chiriok. Donc, il a commencé à faire des sons de Wookiee, et Peter Mayhew a répondu. Il y a d'autres détails par rapport à ça, malheureusement.
C'est plus les arrière-scènes qu'on...
On peut pas en discuter. Ouais, c'est la preuve que dans des événements qu'on organise sur cette lande, dans des événements comme ça, faut être présent pour avoir accès à certaines informations vraiment magiques. Magiques, là.
Ouais.
C'est quelque chose qui change un peu ma façon de voir les gens qui ont travaillé sur Star Wars.
Exactement. Donc, sur ce, on vous part cette entrevue de 23 minutes et puis on revient immédiatement après avec la traduction de tout ça. À tantôt.
How do you like the convention so far? How do you enjoy the town of Montreal?
It's wonderful to see all these fans who are enthusiastic up here in Montreal. If only the weather was just as warm as the fans, it would be wonderful.
We'll work on it for the next time you come here.
Okay.
We're going to go with a couple of questions for the original Star Wars trilogy.
Uh-huh.
And I'm going to ask you, how did you get the role of Chewbacca in the first place?
I was in the right place at the right time. I'd done a previous movie, which was Sinbad and the Eye of the Tiger, which I played the Minotaur, and people have moved from movie to movie. Therefore, two makeup guys were talking. They were looking for an actor or someone to play a big hairy creature at the time. My name was suggested. I went up and saw George, saw the drawings on his wall, and within 20 minutes of being introduced to him, the deal was done and Chewie was mine. So it worked out very, very nicely.
Well, that's good for you. Of course, Chewbacca is mainly a role that is played in a suit. Some people don't give credit to the actors who actually play suits role, as we call them. Most of them don't understand what it's like to actually wear something as heavy and as hot as a suit of a hairy Wookiee.
Yep.
How was it? How was your experience?
It was new to me. Therefore, you accept these things as part of being a suited actor, and therefore you have these experiences. And when you look around at some of the other actors that were in, say, the cantina scene, you think you are fairly normal, but you know, with a hairy suit on. But you look at some of the other characters that have got green heads, latex heads on top of their own and stuff like this. I thought mine was pretty normal to be able to bear with, or I didn't feel a dog. But, you know, it was one of those things that the costume, you got your, you know, I was in on the beginning of it, so I knew what I was getting into, and it worked out wonderfully well.
That's great. How much did the costume weigh by itself?
Probably, I'd say 15-20 pounds.
15-20 pounds?
It's not that heavy. It's just a little bit awkward. Depending on where you are filming, studio work wasn't bad. But when we went up to Norway to do the Hoss scenes,
yes,
that made everything worthwhile. Because it was about minus 25 out there.
And you were the only one comfortable.
And I was the only one that was warm. yeah, it makes a big difference.
That's great. You just spoke of Norway for scenes on Hot. Would you have liked to film any scenes on Kashyyyk in the old trilogy?
I would have loved to have done, but, you know, when you think these sets are so expensive to build... And it, that, I think, is one of the reasons why they went to the Ewok planet rather than the Wookiee planet, because it was cheaper and easier to do.
Yes.
But, you know, I don't know. Hopefully, maybe in the new movie, you'll see something of the home planet of Chewie. I don't know.
Well, we'll see. We'll talk about
we'll
that
see.
A little later.
We'll talk about it later.
Actually,
yeah.
Well... Why not talk about it now, since we're introducing the subject? You're going to be in Star Wars Episode 3. StarWars.com has confirmed it.
Yep.
We will see Chewbacca again,
yes,
to the joys of many fans. One of our fans actually sent us a question, which makes a tons of sense, but I'm going to ask it just a little bit later in the show.
Okay.
How did you actually, like, got the call from George, who said, well, we're bringing back Chewbacca, and you're gonna play. Well, how did it all happen?
Yeah. I was at home. We'd come back. We've been away doing a lot of conventions. And we just came back. I think I've been home about 3 days. This would be March, April of this year.
Okay.
There was a phone call. And I picked it up. Hello. Hi. I've got Rick McKellen on the line for you. Hang on. Is this Peter Mayhew? I said, yes. So Rick came on, he said, hi Peter, the time has come, I'm just doing planning things, would you be available, and would you like to do the character of Chewie again? So I said, yes, when do we leave? So he said, oh, this is just a preparatory thing, because we're going to make you a new costume, and we want you down for costume fittings on set. I said, well, I'm available, let's work things out. He said, no, not a problem, I'll phone you back the day after all the flight arrangements and everything else. And I thought, yes, we've done it now, they made the offer, and Chewie is going to come back into life, which is wonderful.
So you went to Australia?
Went to Australia.
You did all the costume
work? Did all the costume work, and then they said, oh, you'll have to come back because we want to do final costume fittings and a little bit of publicity, which we went down and did. And in the meantime, we had arranged a series of conventions in Australia and New Zealand, and as being the thing was that we couldn't, until it was confirmed about the dates, we thought maybe we can do the two jobs in one, but we didn't, so we had to make another trip hard down to Australia and New Zealand for another 5 weeks, so we spent quite a time down there. I think I'm going to apply for Australian citizenship down there. I've spent so much time down there. So, but we had a wonderful time, and it was wonderful to be able to go back into the studios, meet all the people that were working on it, and be accepted. There was a buzz around the studios. Oh, not Peter's back. Chewie's back.
Oh, that's great.
So it made a big, it was a wonderful reaction.
Well, we saw from the hyperspace webcams that there are going to be some other Wookiees,
yes,
involved in the movie.
Yep. Yep.
Of course, you can't tell us anything about Episode 3, sadly enough.
No, but I think the Wookiees are going to be different to Chewbacca.
Oh, really?
because they are all different sizes and shapes.
Oh, this is going to make it really interesting.
Yes, it will be wonderful to be able to look around and see all the different Wookiees, yes, different sizes.
Other than Chewie's coming back.
Yeah.
How was the atmosphere around the... how was the vibe around the studios?
There was a pretty good vibe. Ewan came up, introduced himself, and said, "Hi, it's nice to have you. Hopefully we've got some scenes." But at that stage, nobody knew what my connection with the story was. So, but even Natalie and Hayden came up, and it was nice to be able to be almost not quite a grandfather, but to be a senior person there. It was lovely.
Set of episode 3, story of episode 3. There's a lot of rumors going around. I cannot ask you definite questions, so I'm just going to go ahead and ask you, is the role of Chewie in episode 3 will be relevant to the rest of the Star Wars trilogy?
It won't be a cameo.
Oh, that's great.
It won't be a cameo.
Great. During all the times you filmed with George Lucas, what's the funniest thing that actually happened on the set?
I don't know. I can't. It being such a long time ago, there were so many, not involving George, but there were so many pranks that were played on various people that I'm not gonna even attempt to go way, way back. You'll have to wait till the bloopers come out.
Okay.
And I don't know when that will be.
We hope there's gonna be some bloopers one day.
There should be.
What could you tell us about the best thing and the worst thing of working with George Lucas?
Best thing, George is very tolerant. I don't think there is a worse thing. George is a very clever person because he is the only one that's got the story in his mind, but he does know how to respond and talk to people to pass what he wants out of his brain and into his voice. Therefore, he'll talk to you, say, "I want this, this, and this," and you do it. You have a friend for life.
Great. Going back to 1977, did you actually saw the first showing of Star Wars?
Yes, I was in. It was a crew show, which is a show that is before it comes out just before the premiere.
Okay.
For the guys that have worked on it, and we were up in London and saw the opening shot of the big Carillion ships.
Yes.
And that I was impressed with. And then suddenly you have the sand dunes and all the C-3PO and R2, Mark. I just wondered, because it was about 15 minutes before Chewie actually appeared, I wondered what I was doing and where I would come in. But when you see yourself on the screen, it really makes a difference, because you can remember what you were thinking looking into that camera doing the action.
Okay.
It's wonderful. It was a wonderful experience.
So you liked it, and did you like the reaction of the crowd?
Yes,
in general?
Yes. The reaction of the crowd was, well, yes, Chewie's there, because it had been released in America before it had been released over in England. So, and all the crew were more or less on my side. Chewie was a good guy, so he got the traditional from the audience. It was great.
All right. Do you actually read some Star Wars novels?
No, I don't.
Or comics?
Some of the comics I will look through, but my good lady reads everything Star Wars that you can imagine.
Really?
From Yeah, from not the comics, but the hardback books.
Oh, that's cool.
So I get told what's going on, even though it's not relevant to the movies.
Yes.
You know, she reads everything, and she'll talk to me, oh, this is happening about in this book, and this book, and this book is relevant to this.
Did you enjoy the Chewbacca comic?
Yes. Yes, it was. I thought it was a good comic, and it was nice that I got to do the narration in front of it in the composite stories, and it was an interesting comic.
Okay, of course, latest series New Jedi Order just finished last week.
Yep.
We're already halfway through the reading of our book, and how did you react when your lady came to you and she said, "You're dead"?
Actually, she was as surprised as I was, because we just come home from Germany, and I was living in England. We'd gone over there to sort my house out before I moved to the States, and I got a phone call from one of her family asking whether I was all right, because the reports, some DJ on a radio station he'd heard that the book had come out, and he'd read the headlines: Peter Mayhew is dead.
Oops.
Instead of Chewie.
Yes.
So that was flashed across the radio waves. And, "Are you all right?" "Yeah, sure." "Why?" "Oh, people have heard on the radio that Peter Mayhew is dead." No. But
rumor of your death have been greatly exaggerated.
Yeah. I got a phone call from Steve Sainsway about a week, 10 days before.
Okay.
Knowing that, saying that this book was coming out and Chewie dies of it.
Oh.
So, but he said one thing about it. When Darth Vader died, on a comparison note, when Darth Vader died, he became more popular, and Chewie hopefully will do the same thing, and it's working out that way. So,
how did you thought, like, in order to kill the super Chewie, you have to actually crash a moon on his head? How was your reaction to the scene of the death?
Until I read, that was one of the books that I actually read. You know, when you hear that, oh, they crashed the moon on him, blah blah. I think, well, you know, he's tough. He's been through hell and high water, and therefore it's got to be something like that, pretty big to kill someone. And when you work it out, there was, out of the main group that remains, Chewie is the only one logically that you can kill off.
Yes.
Because you've got to have a hero, which is Luke. You've got to have the romance, which is Leia and Han. 3PO and R2 go right the way through, so Chewie's the obvious choice. Unfortunately, but we were told that it didn't affect any of the current movies, because Jedi, the book is set 25 years after Jedi. So, okay, fine. We went to Dragon Con, Celebration last year, and the author was there, and he wanted to. He called me over and he said, "I want to make amends for this." Went over to his booth and he handed me a personalized copy of his book, and all it's got in the front of it is "Sorry, mate." So, and signed. So, you know, things are getting better. To, you know, now we're the best of friends. So
great.
You know, it's nice that we can we can do things like this.
Yeah.
And the fans love it. You know, the fans love it. So it's great.
Well, not all the fans love the death of Chewbacca, but now they're getting around
to
it.
Now they're getting around to it. They know that they'll see him one last time in episode 3, so that will make a lot of fans very, very happy.
Yes, I think so. You were just talking about the Star Wars celebration in Indianapolis.
Yep.
How did you like going to the celebration? What was your best memory?
It was wonderful. The thing was that all the guys were in uniform. There were a lot of stormtroopers. We just had a great time. And the mere fact that there was a lot more fans than were estimated did cause a little bit of problems, but it's like any convention, you live and you learn by your mistakes. So
exactly.
Hopefully if they plan anything else, they will look at their past conventions and plan it as well, take into consideration the amount of interest in fandom that there are going to be, so hopefully they can make bigger areas for more fans.
Yes, I certainly hope so.
I do too, because it will make things not only easier for the actors that are going there, it will make it a lot easier for the fans to get around. They will be able to get their autographs a lot quicker and easier the more space you have.
Yes. Did you enjoy the fact that the Star Wars Celebration 2 took place in Indianapolis?
Yes. It was a city that I had never been to, so going to strange cities, you learn things. Even if it's only the route from the airport to the hotel to the convention center.
Yes.
And everybody wants to, when we go to a strange city, there's always a 501st stormtrooper there. So it makes a big difference if you've got a local guide. Most cities are famous for something. Even if you don't learn what it is until the day you leave, you can go away with that knowledge that certain cities produce certain things, other cities produce other things.
Then we'll have to bring you something tomorrow about what is Montreal famous for.
Montreal, I don't know.
We'll make you the surprise on the last day of SFX.
Yeah.
Okay. Now we're going to go to the fan question I was talking about earlier.
Yep.
And I think you're going to have a great joy answering that question. How did you feel being given the opportunity of sort of resurrecting Chewbacca?
It's been one of those wonderful feelings that I've known about or had a thought about for a number of years, and to actually come back and go into costume and feel the same way that I felt when I started it all those years ago. The character hasn't changed, the costume's changed slightly, but that character is still there. And it's a strange feeling when I put them out, I get into costume and I can be talking to you like normal. I put the mask on, Chewie comes alive. You go out, you do your bits on blue screen or whatever it is. You come back, you take the mask off, you go back to Peter. It's a weird feeling, and it's happened on every movie.
Oh, really?
It's a crazy feeling. It even happened on when Chewie got the MTV award in 1997, I hadn't worn the costume for 14 years, and put it on and got that feeling that Chewie is alive again. Took it off and I was back to normal. So it's a wonderful, and how many actors are capable of doing a character than having a 25-year rest from it.
Yes.
And still come back to do that particular character again.
I think that in the Star Wars universe, at least, you and Ian McDiarmid are the only one.
Yes.
That all came back.
And that is part of the the wonderful part of doing this. And you know, people say, has playing Chewie affected your life? Of course it has.
Yes.
You know, I wouldn't have been able to, if I hadn't have played Chewie, I wouldn't have been able to meet and done half the things that I have done in the past. So it's a wonderful feeling. And it's something that has gone down in the annals of sci-fi forever.
Well, there you go.
It's wonderful.
Thank you very much for being with us.
Okay.
And we hope to see you again here in Montreal. This is your second time around. We hope you'll come back for ExarCon 2007.
That's a long time away, but we'll think about it.
Of course.
Okay.
And have a nice day tomorrow. There's your big Q&A.
Yep.
We'll be there for that too.
Okay.
Great. Thank you.
Excusez.
On se retrouve à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars, et vous venez d'entendre l'entrevue que Sébastien a fait avec Peter Mayhew.
D'ailleurs, je veux dire,
qui était l'acteur qui personnalisait Chewbacca.
Exact. Je veux dire quelque chose tout en partant. Quand on fait des entrevues avec des vedettes comme ça, c'est tout le temps. Le mot en français pour overwhelming, c'est quoi?
Impressionnant.
Impressionnant, ouais. C'est surprenant. Tu t'entoures, tu penses plus vraiment comme à l'habitude. Et dans les personnages qui reviennent, autant dans l'ancienne trilogie que dans la nouvelle, j'ai complètement oublié notre cher ami, notre meilleur ami Anthony Daniels et Kenny Baker.
Oui. Kenny Baker.
Kenny Baker.
Oui.
C'est quoi le truc? Un Tyree, que ça s'appelle
Un tiara.
Bon, ok.
On n'ira pas plus loin.
Non.
Sans commentaire.
On enfreint certaines lois.
Ouais, faut pas qu'on en parle. Hors donc.
Bon, les questions. On traduit le Star Wars fan, donc baisse le volume.
Et voilà.
Ouais.
Ceux qui veulent pas avoir de spoilers, absolument aucun. Là.
C'est le temps.
On dit rien là, qui va complètement vous gâcher le film. Là, mais, ça.
Mais on parle de Chewie.
Ouais, exactement. Là, on a, avec ton micro supplémentaire, le volume a monté en général.
Excusez.
Donc, on va juste...
Moi, je baisse le mien.
OK.
Et voilà.
Donc, première question qui a été posée. Donc, Star Wars fan, baisse le volume.
Bon, c'est pas une question spoiler. Mais...
Non, c'est ça, enfin. Bon, comment qu'il a aimé la convention à Montréal jusqu'à présent?
Ben, ce qu'il nous disait, c'est que, parce qu'on se souvient qu'il y a deux semaines, il faisait quand même assez frais à l'extérieur, il nous disait que si la température avait pu être aussi chaude que les fans l'étaient, ça aurait été une fin de semaine parfaite.
Mm. Il faut mentionner qu'il demeure maintenant au Texas.
Exactement.
Donc, il y a une sérieuse différence de climat, là.
Définitivement.
Ensuite, deuxième question.
Comment qu'il a obtenu le rôle de Chewbacca?
Alors, ce qu'il nous disait, c'est simplement par le bouche à oreille. George Lucas a entendu parler de lui et de sa grandeur, et son agente a entendu parler d'un film qui savait pas trop c'était quoi, là, qu'il fallait qu'il joue un espèce de géant singe poilu. Et puis, elle l'a appelé. Il est allé faire son entrevue avec George Lucas au Lucas Ranch. George l'a regardé de la tête aux pieds. Puis 20 minutes après...
Si je me souviens bien, c'était dans les studios à Londres.
C'est vrai. À Livingston. Et puis...
C'était pas Livingston. Livingston, c'était pour Phantom Menace.
Livingston était aussi pour...
pas convaincu, mais enfin bref.
Il y en a un dans la trilogie classique, un des films qui a eu des scènes tournées là.
OK.
Mais enfin, c'est ça. Ça lui a pris seulement 20 minutes. Et George a décidé de garder...
Une anecdote.
Tourner le Wookie.
Une anecdote intéressante, c'est Peter Mayhew qui est rentré une fois, à un moment donné, quand il est rentré dans le bureau, il a vu un bandeau de personnages. Puis ça, un bandeau de personnages, c'est tous les personnages dessinés un à côté de l'autre à l'échelle pour avoir une idée de leur relation les uns avec les autres au niveau des grandeurs. Puis là, il regarde, puis il y en a deux qui le frappaient automatiquement. Il y avait Darth Vader, puis Chewbacca qui était aux extrémités du bandeau de personnages. Puis il regarde Darth Vader, puis il fait...
Non, c'est pas tout à fait assez grand pour moi, ça. Fait que là, il a regardé l'autre, il dit, je pense que ça va être lui.
Exact.
Ensuite, bon, quelles ont été tes expériences d'être un acteur costumé?
Exactement.
En costume?
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas le crédit qu'il faut aux acteurs qui sont costumés. C'est un costume qui est relativement assez pesant et surtout très chaud à porter. Un costume dans une vingtaine de kilos là, facilement. Et puis, ce qu'il nous disait, c'est que justement, quand il était sur les plateaux de tournage réguliers, il y avait en général très chaud. Mais par contre, quand il est allé en Norvège pour tourner les scènes pour Empire Strikes Back, c'est lui qui avait l'avantage sur tout le monde parce qu'en dessous de son manteau de fourrure, il était très bien. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, c'est que son costume était tellement bien fait, la neige, elle n'avait pas tendance à rester accrochée après. Puis George, en regardant Chewbacca, disait, il me semble que c'est pas assez, tu sais, il n'y a pas assez de neige dans ta fourrure. Tu peux, roule-toi par terre pour te mettre de la neige sur le costume. Exactement ce qu'il a fait. Il s'est couché par terre, il s'est roulé dans la neige. Puis ça l'a donné le Chewbacca qu'on a vu détruire le Probe Droid impérial.
Mais aussi, il y a une anecdote à ça, c'est une fois que la scène a été coupée.
Il rentrait à l'intérieur,
puis il attendait son costumier parce qu'il n'était pas capable d'atteindre la fermeture éclair pour commencer à défaire le costume. Il y a une fermeture éclair à l'arrière, il n'était pas capable de l'atteindre. Donc, il a fallu qu'il attende qu'un costumier se pointe à peu près 20 minutes. Toute la neige qu'il y avait dans la fourrure s'est mise à fondre. Puis là, à un moment donné, il était tout mouillé en Norvège, dans un petit chalet en bois. T'imagines que ça doit pas être très chaud, là. Fait qu'il se pense que c'est un autre testament aux comédiens en costume, c'est qu'ils sont appelés à souffrir un petit peu plus que la moyenne des comédiens. Des fois, les comédiens vont avoir des costumes encombrants, mais un habit, si on veut. C'est comme ça. Les robes de Jedi, ça ne doit pas être très frais non plus. Là, il y a plusieurs couches.
Mais ça doit être plus facile d'aller aux toilettes dans une robe de Jedi que dans un costume de Wookiee.
C'est surtout le fait que s'il retourne dehors par la suite, tout trempé.
Non. J'espère pour lui qu'ils n'ont pas osé faire ça. Non, mais bon.
Il ressort dehors, puis soudain, ses pieds commencent à peser plus lourd. Il se rend compte qu'il y a deux bottes de glace.
Exactement. Est-ce que tu aurais... Question spoiler, est-ce que tu aurais aimé jouer quelques scènes sur la planète natale des Wookiees Kashyyyk pour la trilogie classique?
Mais effectivement, il était très heureux dans le Holiday Special d'avoir eu l'opportunité d'aller sur la planète Kashyyyk. Il aurait adoré ça, faire des scènes sur la planète Kashyyyk, mais ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas eu l'occasion ni la chance de faire ça. Donc, il est un peu content que on va peut-être voir des scènes dans l'épisode 3 de Kashyyyk.
Exactement. Ensuite, comment a-t-il reçu la nouvelle ou l'appel qu'il allait être dans l'épisode 3?
Ben, il était chez lui, tranquillement. Il vaquait à ses occupations générales. Bref, il regardait les conventions qu'il pouvait, auxquelles il pourrait peut-être aller. Il y a soudainement le téléphone sonne, il décroche, il dit oui un petit instant, on a Rick McCollum au bout de la ligne. Alors Rick McCollum décroche, alors oui, Peter Mayhew, oui effectivement. On est en train de préparer le tournage de l'épisode 3 et on va ramener le personnage de Chewbacca dans le film. On aimerait savoir si tu serais intéressé pour reprendre le rôle de Chewbacca dans l'épisode 3. Ben là, évidemment, oui, ça me ferait énormément plaisir.
Mes bagages sont prêts.
C'est ça, mes bagages sont prêts.
Alors, pour moi, j'aurais été un petit peu sarcastique. Je dis, t'as peur, laisse-moi vérifier ma cédule.
c'est pour quand là, le tournage qu'on a... Ah, malheureusement, la fête de la lumière tombe là cette année.
Je pense que Rick aurait ri pas mal s'il aurait dit ça.
Effectivement.
Ensuite, poser la question, excepté le fait que Chewie revenait, quelle était l'ambiance dans le studio en Australie?
Ce qui était assez étonnant qu'il nous expliquait, c'est que lui et sa femme sont allés en Australie, ils ont adoré ça, ils ont passé tellement de temps là-bas qu'il a failli même demander un permis, un visa de
pour le travail,
pour rester là-bas, là. Ben, pas pour le travail, mais pour rester là-bas indéfiniment, là. C'est ça. Et ce qu'il disait, c'est que justement, quand il est retourné, quand il est arrivé sur le plateau, c'est pas Peter vient d'arriver, c'est Chewie is back. Mm-hmm. Chewie est de retour.
Ça a l'air que ça a eu un gros impact sur toute l'équipe de production.
Tout le monde a arrêté de travailler.
Ouais, sur toute l'équipe de production était présente, tout le monde a fait ouf.
Même d'ailleurs, comme on disait un petit peu plus tôt, quand il y a eu la présentation du costume à l'équipe de production, Samuel L. Jackson était tellement marqué par le retour de Chewbacca qu'il est allé le voir, il est allé directement devant lui, puis il a levé la tête, puis il a fait des sons de Chirou, puis il a parlé avec Chewbacca.
Conversation.
C'est quand même très drôle.
Ouais. Est-ce que le rôle de Chewbacca est
important
dans l'épisode 3?
Il a dit que c'était pas un caméo, c'est tout ce qu'il pouvait nous dire.
C'est correct en tabarnouche, ça.
Il va pas jouer un caméo. C'est ce qu'on voulait entendre.
C'est ça. La chose la plus drôle qui est arrivée durant le tournage avec George Lucas.
Je te la laisse peut-être celle-là, étant donné que je n'étais plus à l'écoute à ce moment-là.
Je m'en souviens pas, moi non plus.
Quelqu'un?
Ça va
très
bien.
Je pense qu'il dit qu'il n'y a pas vraiment eu rien de spécial. C'est un homme merveilleux avec qui travailler.
Moi, ben, le coup classique, là.
Oui, c'est ça.
Effectivement. Tel qu'à l'habitude.
Ouais, la réponse est ça. Je pense que quand tu signes ton contrat avec Lucasfilm, il faut que tu dises que George est quelqu'un de très visionnaire et qui est très facile à travailler avec.
Exactement.
Ça fait partie du contrat.
Exactement. Ça revient aussi avec la question suivante, les meilleures et pires choses quand tu travailles avec George Lucas.
Encore une fois, je n'étais pas là pour la question.
Il a probablement dit qu'il était très méticuleux, très...
Ouais, mais ça, des fois, c'est le compliment devient la réprimande en même temps. Là,
ouais.
Exact. Exactement. Je suis une personne qui a trop d'initiatives.
Personnellement. En 1977, est-ce que tu as vu la première de A New Hope?
Ça, j'étais là. Là, je suis revenu. Effectivement, lui, il a eu la chance d'aller assister à la première à Londres. Puis même, il ne pouvait pas assister à une avant-première là, pour, même, qui était faite pour le staff. Là, c'était vraiment la première en tant que telle. Puis il était dans les rangées arrière. Puis là, le film commence, le texte déroulant, il trouve ça super... super impressionnant. Le vaisseau qui arrive, il fait comme waouh, c'est vraiment fou. Puis là, les dunes de sable, les deux droïdes, puis il fait bon
quand est-ce que j'appelle.
Comment est-ce que Chewie fit là-dedans?
Moi, je suis où?
C'est ça.
C'est genre 20 minutes dans le film.
Ouais, finalement, ben, est arrivé le moment du fameux de la scène du bar, puis il s'est reconnu, puis il a fait comment, c'est le fun. Puis justement, même les personnes dans la salle étaient intriguées par le personnage, puis à la fin du film, ils étaient très heureux là, du personnage de Chewbacca. Puis il y en a quelques-uns apparemment qui auraient noté le fait qu'il avait poursuivi sa médaille.
Exactement. est-ce que vous lisez les romans ou comics Star Wars?
Lui, il lit pas beaucoup de romans Star Wars, comme pas en tout. C'est sa femme qui s'en charge.
Il disait qu'il a jeté un petit coup d'œil aux bandes dessinées des fois.
C'est ça. La bande dessinée de Chewbacca, évidemment, ouais. Il l'a lu. Il a lu Vector Prime parce que c'est le livre où il est décédé.
Son personnage meurt.
D'ailleurs.
Ouais.
D'ailleurs, la question suivante était, est-ce qu'il a aimé le comic de Chewbacca?
Il disait qu'il l'avait énormément apprécié, qu'il était très content du travail qui avait été fait.
Il y a aussi l'introduction.
C'était drôle parce que quand ils ont tué Chewbacca, ça a été un gros boom médiatique. Ouais, les nouvelles en parlaient, toute la kit. Puis, à un moment donné, sa femme arrive et lui dit... c'est-à-dire que les gens l'appelaient pour lui dire « T'es-tu correct, toute la kit? » Tout le monde pensait que c'était Peter Mayhew qui était mort et non pas Chewbacca.
D'ailleurs, c'est la prochaine question. Quelle était sa réaction quand Chewbacca est mort dans Peter Prime?
Lui, il a reçu l'appel à peu près 10 jours avant que le livre sorte.
Mm-hmm.
Puis, il n'y a pas personne qui savait le spoiler à ce moment-là ultime. C'est sorti assez vite par contre par la suite. Puis il y a justement un animateur de radio qui a lu le titre trop vite puis qui a dit Peter Mayhew est mort. Alors il y a plein de monde qui ont commencé à l'appeler. Ça va-tu, t'es-tu bien?
C'est ça. Puis c'était Steve Sensuit qui avait appelé justement Mayhew pour lui dire Chewbacca il va mourir, puis on va espérer que ça va faire comme Darth Vader. Après sa mort, il va devenir plus populaire. Et c'est qu'est-ce qui est arrivé?
C'est effectivement
Chewbacca est devenu plus populaire après sa mort.
D'ailleurs, c'est Harry Salvatore, si je ne me trompe pas, qui a écrit sa mort, qui était lui aussi présent à la Star Wars Celebration 2. Il l'a fait venir à son bout où il signait des livres de l'attaque des clones. Et il a signé un livre de Vector Prime. Sorry, mate. Je suis désolé, mon chum.
Ensuite, comment il apprécie la célébration 2?
Il a adoré ça. Par contre, il a remarqué plusieurs petites défaillances techniques là, qui avaient lieu là. Et il s'est permis, ce qu'il nous disait dans l'entrevue, c'est que, par contre,
l'espace pour les fans n'était pas là.
C'est ça, là,
il manquait d'espace, puis c'était
le nombre de fans qui a été prévu d'assistance était beaucoup inférieur à ce qu'ils avaient prévu. Bon, beaucoup supérieur à ce qu'ils avaient prévu, ce qui a causé quelques problèmes, mais il dit que on apprend de nos erreurs et puis que c'est des choses qui devraient pas se répéter dans le futur.
Il dit que ça devrait être plus facile avec plus d'espace pour ça va être plus fun pour les acteurs et les fans qui vont être là. Ça va être plus facile de circuler.
D'ailleurs, dans notre entrevue avec Steve Sansweet, on avait confirmé qu'il n'y avait plus d'équipe qui s'occupait d'événements pour Wizard of the Coast.
Oups.
Et c'est, je crois, suite à ce flop majeur qui a été, on doit le mentionner encore une fois, sauvé par les 501st.
Eh oui, et ceux autres qui s'occupaient de la sécurité.
Exactement, ceux autres qui ont sauvé la convention.
Bon, ben, voilà. Il y a quelque chose à dire pour un clone.
Et voilà, qu'est-ce qu'il a aimé d'Indianapolis?
Ben, il dit qu'il adore aller dans les nouvelles villes, à chaque fois, à chaque convention. Il dit même si c'est juste pour connaître le trajet de l'aéroport à l'hôtel, au centre de convention, c'est toujours quelque chose qui est très intéressant. Moi, je lui avais promis qu'on lui offrirait du smoke meat que Montréal est célèbre pour. Malheureusement, on n'a pas eu la chance, mais il a déjeuné avec des bagels de Bagel Beaubien. Petite plug. Et il était très heureux, d'ailleurs, qu'on lui ait offert...
Donc, il croit maintenant que les spécialités du Québec, c'est les bagels.
En fait, non. La spécialité du Québec, c'est le sirop d'érable, et ça, ouais. Il a reçu ça en cadeau de notre part. Mais la spécialité...
T'as pas donné une belle poutine?
La spécialité de Montréal... non. La spécialité de Montréal, c'est les bagels et... le smoke meat.
Exactement. Je ne suis pas sûr qu'on veut descendre dans l'histoire comme étant ceux qui ont vraiment tué Peter Mayhew.
Il y a déjà Houdini, c'était suffisant.
C'est vrai, c'était à Montréal.
Exactement,
c'est vrai.
Et finalement,
ensuite, la dernière question,
qui était d'ailleurs une question posée par Wookie Mart,
qui est quel est le sentiment d'avoir eu la chance de résurrecter,
de ramener à la vie.
Effectivement. Mais lui, il dit que ça a été tout un honneur pour lui de pouvoir ramener le personnage de Chewbacca dans l'épisode 3.
Ça faisait déjà plusieurs années qu'il y pensait.
Exact. Et il disait qu'il était très content de pouvoir rejouer dans les films de Star Wars. Puis c'est à ce moment-là que je disais justement qu'à part lui, Ian McDiarmid, il n'y avait pas beaucoup de gens autres que notre cher ami Anthony Daniels et Kenny Baker qui avaient eu la chance de tourner dans la majorité des films là, de Star Wars. Alors,
tu vois, un que je pense qui vit sincèrement l'expérience, c'est probablement un de ceux qui vit le plus sincèrement l'expérience de revivre le personnage, c'est Peter. Parce que
il est ramené comme à la dernière minute, si on veut. Puis c'est un personnage qui
n'était pas prévu au départ à être là.
L'empereur n'avait pas le choix d'être là. Mais j'ai l'impression que lui va permettre à créer le pont final entre la nouvelle série de films puis la vieille série, parce qu'il y a beaucoup de fans qui sont pas justement accrochés là, à cause qu'il n'y a pas assez d'éléments accrocheurs.
C'est ça. Il va sûrement avoir d'autres choses, mais on ne les mentionnera pas parce que c'est pas la chronique hyperespace.
Une chose qu'il disait qui est intéressante, c'est, vous savez, je mettais le costume, tout le kit, je fermais le zipper, tout le kit, puis là, c'est Peter Mayhew, je t'assieds, puis j'attends mon tour. Puis là, à un moment donné, c'est le temps de faire le rôle, je mets le casque, pouit!
Il devient Chewie.
Je deviens Chewie, puis c'est ça qui est le fun d'avoir des costumes où tu disparais en arrière du masque, parce que là, t'as vraiment, l'exercice est facile de devenir quelqu'un d'autre dans ce temps-là. S'il y en a qui nous écoutent qui ont déjà fait des mascottes des fois dans des attractions l'été là, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment une expérience complètement différente, les personnages, parce qu'on n'est pas perçu de la même façon en plus. Fait qu'automatiquement t'es forcé à devenir quelqu'un d'autre.
Exactement. Donc
faut jouer le rôle.
C'était l'entrevue avec Peter Mayhew, c'était très intéressant. Donc on espère qu'on va en avoir d'autres comme ça. Éventuellement,
ce qu'on a d'ailleurs réussi à extirper de notre chère Madame Mayhew.
Madame Mayhew.
Madame Mayhew, c'est qu'on va pouvoir fort probablement avoir une entrevue exclusive avec Chewbacca suite à la sortie de l'épisode.
Avec
3.
Chewbacca ou avec Peter?
Ben, ça dépend. Tu veux-tu faire la traduction du Chirook?
Je suppose. Twilling.
Alors, avec Chewbacca et Peter Mayhew, yeah. Suite à la sortie de l'épisode 3 pour avoir les opinions.
Exactement.
De
et peut-être même quelques commentaires de Angie elle-même sur l'univers étendu, parce qu'elle est une grande lectrice.
Il faudra jaser avec Ben pour la...
Mais sans vouloir mettre du feu aux poudres, là. Peter est assez...
Non, mais pas dans la même entrevue.
Non, non, mais Peter est assez première classe au niveau...
Non, non, il faut qu'il passe en avant.
Oui,
bien sûr.
Là, c'est normal.
Quand même un acteur.
Oui.
C'est ça. Donc, on vient immédiatement après la pause pour la partie de chronique Star Wars Galaxy par Wookie Mart.
Cyclan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore.
Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Hi, this is Steve Sansweet, and you're listening to Star Wars en direct.
Hi, I'm C-3PO, human-cyborg relations, and this is my counterpart, R2-D2.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Maintenant est venu le temps de la chronique Star Wars Galaxies. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une chronique Star Wars Galaxies. Et c'est Martin, Wookie Mart, qui va nous parler de tout ça.
Hey,
alors,
hey, hey.
Re-bienvenue Martin.
Merci.
Donc, il y a eu des nouveautés depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Justement, une nouvelle patch avec plein de nouvelles options.
Ouais, donc, le 13 novembre, il est sorti un nouvel ajout, là, ce qu'ils appellent les free updates.
OK.
Donc, qui sont téléchargés automatiquement quand tu connectes sur le jeu. C'est ça.
Excellent. Donc, ils comprenaient, on va parler individuellement, je vais les lister, mais on va parler individuellement. Évidemment, la venue des Jedi, les politiciens, les villes de joueurs, les montures et les assurances. Est-ce que c'était dans la nouvelle patch, ça?
Oui.
Et le reste, c'est plus des commentaires personnels que tu vas donner. Donc, on commence par les Jedi. Le premier Jedi apparu.
Ouais. Ça, c'est la grosse affaire que tout le monde courait après depuis que le jeu était sorti. C'était la question que tout le monde se posait. Les Jedi, si les Jedi, ça, que ça va être, que ça va faire. Puis finalement, ça a été. C'est drôle que ça soit. Ils ont vraiment bien synchronisé leur affaire parce que les Jedi sont arrivés à un moment de grosse mise à jour. Donc, je pense qu'ils ont. Je sais pas si c'était prévu que ça arrive exactement à ce moment-là, mais si oui, le coup est réussi.
Et c'est un joueur quand même qui est Jedi. C'est pas un non-player character.
Non, c'est impossible. Ben, des non-player characters, il y en avait déjà des Jedi. Okay. Il y avait des Sith Lords, il y avait des Dark Lords, il y avait les Night Witch sur Datomir, qui sont des Night Force Sister, users. Ouais. Là, en quelque part, il y a les liens sont là, la Force, la signature de la Force est présente, là, on la sent très bien. Mm-hmm. Mais pour qu'un joueur devienne Jedi, le processus est quand même assez laborieux. Mm-hmm. Mais c'est ça. Puis la semaine dernière, je crois, ou l'autre avant, le census c'était à une centaine de Jedi.
Déjà,
oui.
Il me semblait qu'au départ, il disait, bon, on va limiter les Jedi parce que tout le monde va vouloir devenir Jedi, puis ça sera plus dans la continuité. Ils ont pas fait quelque chose pour empêcher qu'ils se multiplient trop.
Ouais, mais il y a sûrement un plafond de population par serveur, parce que sinon, j'imagine qu'à un moment donné...
Un plafond de Jedi même.
Ouais, c'est ça, un plafond de Jedi, ça je veux dire, il y a un plafond de population, mais il y a un plafond de Jedi probablement aussi. La problématique, c'est que si c'est le cas, ce sera pas simple, parce que lorsque tu réussis à débloquer la clause Jedi, qu'on va l'appeler, tu peux juste la jouer sur le même serveur que ton personnage qui l'a débloqué. C'est ça. L'avantage de ça, c'est que tu peux jouer les deux personnages séparément sur le même serveur. Chose qui n'est pas fait habituellement dans le jeu. Je te dirais que 100 Jedi sur 275 000 joueurs, c'est pas beaucoup.
Et pour l'instant, c'est ça.
Ça reste très normal. Puis ça sera pas un métier simple, celui de Jedi.
Tu fais courir après tout le temps.
Oui, parce que lorsque le premier Jedi a été activé, il y a eu un message sur tous les serveurs simultanément, qui venait de l'Empire, évidemment. Le message se résumait à dire que le Seigneur Vador a senti...
C'est un message de Vador.
Oui, c'est un message de Vador qui a senti une vergence dans la Force et blablabla. Puis tous les citoyens...
Une perturbation dans la Force.
Tous les citoyens de l'Empire étaient appelés à communiquer...
À leur centre impérial le plus proche.
Exactement. S'ils étaient témoins de quelqu'un qui présentait un comportement hors du commun.
Des habiletés particulières.
C'est ça. Fait que c'était assez impressionnant. Puis là, c'était drôle parce qu'à tout bout de champ, t'as plein de prétentieux qui se disaient « C'est moi le Jedi, c'est moi le Jedi. »
Il se faisait tout dessus,
misère. C'était bien drôle.
Mais il a dû avoir un mouvement général de masse. Tout le monde cherchait le Jedi.
Oui, non. C'est sûr que les discussions ont commencé. Ça s'est mis ce soir-là, la discussion se résumait à ça.
J'imagine, oui.
Dans les cantinas, partout dans la galaxie, là, tout le monde placotait du nouveau Jedi, puis bon, les arguments sur est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, puis ainsi de suite.
Il ne s'est sûrement pas affiché.
S'il est intelligent, non.
C'est quand même. Parce mais que il était seulement force sensitive à ce point-là. Il n'était pas devenu Jedi. Là.
Non. Ben si ce qui arrive avec le Jedi, c'est que en temps normal, lorsqu'on crée un personnage, on a 250 points d'habileté à répartir partout.
Dans un arbre de compétences.
Dans un arbre de compétences, c'est ça. Dans le cas présent, lorsqu'on devient un Jedi Initiate, qui est le premier bloc, les 250 points sont utilisés à prime abord. Ce qui veut dire qu'on n'en a plus après. Donc, on peut pas multiclasser. Par contre, l'arbre Jedi est très complexe en soi. Parce qu'il faut remplir un bloc complet pour devenir Jedi Padawan. Donc, déjà là, c'est... juste te dire, là, c'est dans les 800 000 points d'expérience pour atteindre les blocs, les quatre blocs. Puis c'est tout du Jedi Experience.
Mais y a-t-il quel genre de mission que les Jedi ont pour monter ce genre d'expérience?
Les Jedi n'ont pas nécessairement c'est que ils vont évoluer à travers. C'est que le Jedi Experience va être acquis en utilisant leur pouvoir Jedi. Okay. Tu comprends?
C'est en faisant des bonnes actions.
C'est ça. Fait que t'as les quatre premières branches qui sont la fabrication des sabres laser. Ensuite de ça, t'as comment guérir à travers la force. T'as les Force Powers, évidemment. Là, ici, probablement que ça doit être les habilités comme Force Push, Force Jump, ainsi de suite. Puis aussi, t'as la manipulation de la force. Donc, la manipulation de la force, ça sous-entend...
Déplacer des objets, la télékinésie, dans le fond.
Oui, ben augmenter la télékinésisme, augmenter sa vitesse, désorienter les autres, et aussi l'intrusion mentale, qui est le mind trick, on imagine. Tout ça, une fois qu'on a rempli ces quatre blocs-là, ça nous mène à Jedi Padawan.
Il me semble un Padawan a déjà des grandes qualités de Jedi déjà. Il me semble faire des mind tricks, c'est pas nécessairement un Padawan qui.
Ben c'est que c'est en fait il y a pas mind trick en tant que tel. Il y a disorientation puis mental intrusion. Ça veut dire que t'es capable d'aller
lire les pensées de l'autre.
Mais t'es pas nécessairement capable d'influencer. Donc il y a déjà ça, c'est un début. Puis de toute façon quand on regarde Obi-Wan en tant que Padawan, il se débrouillait quand même très bien. Bon, il était sur le point de devenir un knight, mais
quand même.
N'empêche. Ce que je vais faire, j'ai le lien ici, je vais peut-être l'afficher sur le chat.
Le chat.
Ouais.
Quoi, c'est l'arbre des compétences?
Ouais, il y a un fan site qui l'a affiché, donc je suis pas convaincu
de la
fidélité de l'information, mais généralement c'est un site qui est plutôt bien reconnu, donc ça devrait être pas pire. Mais pour les Jedi, c'est ça. Puis une fois qu'on est devenu Padawan, parce que lorsque le joueur se crée un personnage Jedi, ce que j'ai lu, c'est que le personnage est automatiquement affilié à la rébellion.
Oui.
Je pense que c'est logique. La situation sociopolitique telle qu'elle est à ce moment-là, je rappelle aux auditeurs que on est juste un petit peu après la bataille de Yavin 4. Les rebelles se cherchent une nouvelle base, ainsi de suite. Donc, je pense que les Jedi seraient intelligents de camper du côté lumineux, si on veut, ou du moins du côté des rebelles. Par contre, l'influence que ça a chez les joueurs, c'est que les joueurs qui sont intrinsèquement impériaux ont de la difficulté à gérer le fait d'être obligé de jouer rebelle pendant un certain temps pour ensuite devenir...
Après, tu peux devenir un Dark Jedi.
C'est que après ça, une fois que à partir de Padawan, tu as le choix de devenir un Jedi Apprentice ou un Sith Apprentice.
OK.
Puis là, ça mène vers d'autres arbres, ainsi de suite. Ça monte. Donc, le charme du Jedi, c'est qu'il n'est pas limité par sa quantité de skill points. C'est tout simplement le travail qu'il est prêt à y mettre pour monter.
Puis ça doit être des quantités de points d'expérience exponentielles.
C'est faramineux. Écoute, c'est 800 000 points d'expérience, puis c'est tout du Jedi Experience. D'habitude, dans un arbre habituel, tu auras du Crafting Experience, du Combat Experience, du... peu importe si tu es un joueur de combat de mêlée ou un joueur de combat longue portée, c'est tout dépendamment de ce que tu utilises.
C'est plutôt spécifique.
C'est quand même dilué un petit peu l'expérience que tu as besoin pour avancer un bloc d'habilité. Mais là, c'est toute la même affaire. Donc, oh boy, c'est c'est un petit peu plus compliqué, plus long. Puis en plus, comme on disait tout à l'heure, il faut faire attention comment on s'affiche. Parce que si je me sers de mes pouvoirs de Jedi
en pleine ville.
C'est ça, en pleine ville. Mais encore là, le jeu calcule de façon différente. Si, en tant que Jedi rebelle, je manifeste mes pouvoirs devant des rebelles, il n'y a pas trop de problème. J'aurai pas trop de visibilité.
J'espère qu'il n'y aura pas des neutres dans le coin.
Par contre, si je fais ça devant des impériaux, mon taux de visibilité va augmenter. Puis à un moment donné, il y a une rumeur qui court que si le niveau de le taux de visibilité monte assez haut, mon nom va commencer à apparaître sur les missions de chasseurs de primes.
Okay.
Donc les joueurs vont savoir qui chercher.
Ah, c'est ça.
Même s'ils m'ont pas vu faire des pouvoirs Jedi, ils vont dire lui, faut le trouver.
Puis j'imagine que les gens se déguisent pas en robe Jedi là.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, depuis que le jeu est sorti, il y en a qui prétendent être des Jedi.
OK. Donc, ils ont acheté des toges, etc.
Oh, oui, c'est ça, mais il y a déjà des toges. Puis il y a même des gens, les costumiers, ceux qui favorisent les costumes, il y en a un qui vend ses robes comme étant Obi-Wan's robes.
Ben ouais. Oui.
Fait que,
peut-être sur le patron.
Genre, il a trouvé le cadavre d'Obi-Wan. Puis
Mais c'est bon quand même de voir.
Au niveau du Jedi, il y a beaucoup les gens sont excités. Moi, personnellement, je n'en ai pas rencontré dans le jeu encore. Mais j'ai l'impression que ça va être difficile aussi d'en rencontrer.
C'est quoi est-ce que le monde le sait à quel niveau le plus haut Jedi est rendu maintenant?
Non, ça c'est.
Y en a-tu qui sont rendus à Padawan?
Ça m'étonnerait bien gros. Parce que ça fait. C'était le 13 novembre, ça veut dire que ça fait quoi, 2 semaines à peu près? En 2 semaines, tu power push pas un Jedi, surtout s'il est tout seul. Parce que le jour où il y en aura plusieurs, ils peuvent travailler en équipe, puis ainsi de suite.
Imagine essayer de se retrouver en Jedi sans se.
Ouais, mais ce qui arrive, c'est que.
Donner notre identité.
Probablement qu'un Jedi qui est sensible à la force va être capable de sentir les autres Jedi présents.
Ah, ok. Ils vont avoir un petit quelque chose. C'est ça. Un petit logo spécial, peut-être.
C'est ça. Il y a une chose que j'ai pas faite parce qu'il y a un engin de recherche dans le jeu. J'espère qu'ils n'ont pas été assez nono pour faire ça. Parce que tu peux rechercher des gens en fonction de leur profession et de leur titre. Donc j'ai pas porté attention à savoir si on pouvait trouver quelqu'un en marquant tout simplement Jedi. Combien il y a de Jedi dans Corellia?
si les voix apparaissent sur la carte.
C'est ça, si c'est actif, c'est un peu nono là.
Ouais. J'avoue. Bon, ben c'est bien pour les Jedi. Maintenant, autre chose qui est apparue avec la mise à jour, c'est la profession de politicien.
Le politicien est directement attaché aux villes de joueurs.
Ok, bon, on va en parler immédiatement après ou avant?
Ben, je vais en parler les deux en même temps parce que ça s'interrelie beaucoup. Les villes de joueurs sont actives. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est plus obligé de fonctionner au sein des villes déjà établies. Donc, on n'est plus obligé d'aller à Mos Espa ou Mos Eisley. On peut aller se faire une ville sur Tatooine qui va s'appeler... Moss de montagne, ainsi de suite.
On peut s'amuser. Ça me voit des noms, noms francophones ou des noms allemands ou peu importe.
Saint-Jérôme.
Il y a des noms très en fait, il y en a une bande de ceux qui font beaucoup de jeux de rôle ont rebaptisé, ils ont baptisé leur ville sur, laisse-moi me souvenir, je crois que c'est sur Dantooine, ils ont baptisé leur ville, c'est sur Dantooine? Non. Je pense que c'est sur Naboo. La ville s'appelle New Alderaan.
Okay.
Donc, il y a quelque chose de beau là, pour essayer de ne pas oublier les crimes du passé.
Il y a une planète qui s'appelle New Alderaan, il me semble. Ça se peut-tu dans les romans?
Ouais, ça se peut. Ça vient peut-être de là. Ah, peut-être. Celui qui a fondé la ville a peut-être lu. Mais c'est ça, c'est que les villes sont fondées par les politiciens.
Okay. C'est les maires, dans le fond, les politiciens sont les maires de la ville.
Exactement. Puis il y a une mécanique de politique. À chaque semaine, il y a des élections. Donc, c'est encore plus rushant qu'ici.
Chaque semaine, mon Dieu.
C'est les élections. De la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une campagne électorale.
Chaque semaine, ça doit être assez ouais. Hallucinant.
Ça demande un investissement de part du maire. Donc, il y a beaucoup de villes qui ont fait surface. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces villes-là qui vont devenir des villes fantômes avec le temps. Tout dépendamment de l'implication du maire et ainsi de suite.
Les bons maires vont avoir beaucoup de monde.
Exactement. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que je pense que c'est à tous les 10 ou 15 jours, les villes ont le droit de monter d'un grade. Pour monter d'un grade, ils ont des prérequis. Donc,
avoir tant d'habitants.
C'est le nombre de citoyens, exactement. Il y a eu une espèce de rush final il y a une semaine là, pour essayer de, d'augmenter les villes un peu partout. On se faisait solliciter.
La grosse
partout.
Promotion de ville.
Ah, c'était fou. Là. On se faisait offrir des maisons gratuites là, pour aller habiter dans les villes là, pour permettre d'augmenter le niveau parce que les villes ne peuvent évidemment, en fonction du niveau de la ville, tu peux construire certaines choses. Comme là, présentement, quand tu commençais une ville, c'était juste un outpost.
Okay.
Donc, il n'y avait pas...
La mairie.
C'est ça, la mairie. Fait qu'il n'y avait pas de, de système de transport, il n'y avait pas rien. Tu sais, là, la deuxième étape permettait d'installer une cantina, une banque, des choses comme ça. Tout un, des éléments qu'on retrouve tout dans les
ville.
Grandes villes, les villes NPC, si on veut.
Les villes de base.
Les villes fixes, on va dire. Pardon, les villes qu'on connaît à travers les films. La problématique de ça, moi j'avais un gros problème quand les villes sont apparues, par contre, c'est que j'avais peur que les villes qui étaient déjà existantes deviennent des villes fantômes. Et c'est le cas présentement. Il y a beaucoup de villes qui ont perdu dans leur concentration. Parce que ce que ça fait, c'est que ça dilue la population, donc l'interaction en prend pour son compte un petit peu.
C'est étrange que les gens préfèrent d'autres villes. Que les comme Corellia par exemple mm-hmm. où tu sais ils vont être obligés de repopuler avec des personnages non joueurs éventuellement j'imagine.
Oui et non dans le sens où le jeu est pas axé sur le personnage non joueur est vraiment là pour
donner des missions
il est pas là pour interagir, il est là pour donner des idées, suggérer, permettre, tu sais, c'est souvent des... Parce que c'est ça qui est le fun de Star Wars Galaxy, c'est pas le genre de jeu qui te tient par la main.
Mm-hmm.
T'es appelé à faire des efforts toi-même. Puis, en communauté, ce que j'entends par effort, c'est de faire des connexions avec d'autres joueurs, mm-hmm. parce que c'est vraiment l'interaction entre les joueurs qui fait que des jeux de ce genre-là fonctionnent.
Mm-hmm.
Si t'embarques dans le jeu, te disant, bon, je vais faire ma petite affaire dans mon coin, ça va être correct. Tu vas t'amuser pour un temps, mais... Ça mènera pas très loin, là, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont extrêmement difficiles à surmonter tout seul. Et c'est évident qu'il y a toujours des joueurs qui cherchent le défaut dans le jeu pour dire « Ah, ben je vais être capable de le faire par ici, par là. » Bon, ben les développeurs font attention à ça, puis ils changent beaucoup de choses. Quand des missions sont trop faciles, ils les rendent plus difficiles, et ainsi de suite.
Mm-hmm.
Mais pour revenir aux villes de joueurs, ça crée quand même des communautés intéressantes. C'est sûr que ceux qui sont les mieux équipés pour fonder des villes sont les guildes de joueurs, parce qu'ils ont déjà une mécanique de regroupement.
Il y a une hiérarchie probablement.
Il y a une hiérarchie, il y a un système social établi, et ils ont le manpower pour faire arriver les choses, parce que ça requiert une énorme quantité de ressources pour fabriquer les bâtiments.
Juste promouvoir les gens à...
Exactement.
T'envoies toute ta guilde faire de la promotion.
C'est ça, oui. C'est des tracts à pu finir, là.
Produire des flyers pour...
C'est exactement ça. Non, le fameux soir là, de la mise à jour, de l'élévation des villes, là, c'était fou, là. Il y avait de la promotion, là, partout.
Mm-hmm. Mais toi, t'es chef de guilde?
Non, plus maintenant.
Plus maintenant?
Non, j'ai relégué contrôle. J'ai relégué mes tâches. J'ai quitté ma guilde pour des raisons d'interaction. D'interaction, parce que... Puis de toute façon, j'étais pas le chef de guilde, j'étais un cofondateur de guilde. C'est pour des raisons de manque d'interaction.
Okay.
Parce que la problématique, c'est que moi, je suis un joueur de rôle et non pas un pousseur. Moi, pousser mon personnage, j'aime bien, mais avec le temps.
T'es plus roleplay
que powerplay, si on veut.
Aller se battre puis aller.
Écoute, le roleplay, le combat à travers le roleplay, ça va, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit dans un contexte de jeu de rôle. Mm-hmm. Tu comprends?
Pas pour booster son personnage.
Non, c'est ça. Il y en a là que j'ai connu, ça fait déjà 6 ou 7 maîtrises là, qu'ils font. Puis d'ailleurs, pour revenir au Jedi, juste vite fait comme ça, la façon de débloquer la case pour devenir un Jedi, c'est de devenir maître de 6 professions différentes. La problématique, c'est la chose que je sais pas, c'est s'il faut les faire dans un ordre X ou non.
Okay.
Est-ce qu'il faut tout simplement devenir maître de 6 professions ou...
Selon les informations que Kevin O'Hara et notre cher... ancien collaborateur
Shunka
nous avait donné, il fallait les faire dans un certain ordre. Puis,
d'où la raison pour les holocrons.
C'est ça, puis ces ordres-là sont très difficiles à trouver.
Oui, mais c'est à travers les holocrons. C'est que tu consultes un holocron, l'holocron va te dire « Deviens maître pistolier ». Fait qu'apprends à tirer du pistolet comme un maître. OK, une fois que tu as fait ça, une fois que tu es maître pistolier, tu trouves un autre holocron, chose pas facile en passant. tu sais, genre, ça se vend 3 millions sur le bazar, un holocron.
C'est toute une décoration, c'est tout un poids pour papier.
Oui, parce qu'une fois que tu l'as consulté, ça n'est plus à rien. Fini.
OK, il y a une consultation.
C'est des holocrons jetables.
OK. This message will self-destruct in 5 minutes.
Exactement, ouais. Pour les Jedi, c'est ça la raison. Je reviens aux villes de joueurs maintenant. C'est ça, c'est quand des joueurs qui vont trop vite, trop loin avec leur personnage sont laissés pour compte après un temps parce qu'ils
se concentrent trop sur eux au lieu de partager
avec les autres. Ben, c'est pas juste ça, c'est qu'il y en a qui disent « Ah, je sais plus quoi faire avec mon personnage. » Ouais, mais t'as-tu pris le temps de le découvrir, ton personnage? T'as-tu pris le temps de t'asseoir puis jouer avec les autres joueurs?
T'as le physique du personnage puis ses capacités, mais t'as l'âme du personnage, comment que les autres le voient.
C'est ça. Moi, tu vois, mon personnage commence à être très performant, mais ça, il n'a pas été très performant au combat. Je commence à être bon au combat avec mon personnage. Mais je suis toujours entouré d'un bon groupe parce que les gens disent « Ah, c'est super de travailler avec toi parce que tu es à l'écoute des autres joueurs. Mm-hmm. » Puis en tant que médic, c'est important. Je veux dire que moi, je suis prêt à prendre un backseat qu'on appelle en anglais. Mm-hmm. Je suis prêt à être assis à l'arrière.
Être en second plan.
En second plan pour m'assurer que tout le monde ait pris soin d'eux, mm-hmm, lors du combat. Parce que maintenant qu'avec les nouveaux patchs, c'est devenu un petit peu plus rough. Avant, on mourait, puis on s'en foutait un peu, on reclonait, puis c'était pas grave. Ça commence à changer un peu. Il commence à avoir des risques à mourir dans le jeu.
OK. des risques que tu puisses pas revenir avec ton...
Ah non, tu peux revenir, mais c'est que tu perds des choses okay, quand tu meurs. Donc, pour les villes de joueurs, ma prédiction, c'est qu'il y a beaucoup de villes fantômes qui vont apparaître bientôt. Ce que ça va faire, c'est que les villes qui vont être bien travaillées puis bien encadrées vont prendre l'expansion.
Entretenues aussi, parce que...
Oui, c'est sûr.
Parce que j'imagine qu'une ville fantôme, elle ne restera pas nécessairement en ligne bien longtemps. Après un certain temps, il y a un système qui ne s'entretient pas, ça se détériore.
Exactement, il y a de l'usure. Il y a des pieds aussi, le fait qu'à un moment donné... Parce qu'il y a une taxe municipale, évidemment. Il y a trois taxes. Tu as une taxe municipale, une taxe de revenus, puis une taxe de vente. Fait que tout ce qui est vendu est taxé, tout l'argent que tu fais dans la ville est taxé. Mais ça dépend du maire. Qu'est-ce qu'il décide de taxer, qu'est-ce qu'il décide de pas taxer. Donc, c'est ça qui fait qu'il réussit.
Quelqu'un qui a un bon système, il va attirer beaucoup de monde.
Exactement. La problématique, c'est que pour détrôner le maire, ça prend un autre maire qui se présente à la course. Puis là, il y a un système de vote, et ainsi de suite. Fait que c'est pas toujours évident.
J'avoue. C'est quoi les prérequis pour être politicien? J'imagine que c'est pas faut que t'aies
c'est
plusieurs...
pas un métier de base. C'est pas un métier de base. Ce que ça prend, c'est 575 points d'apprenti. Puis les points d'apprenti, c'est ce qu'on accumule lorsqu'on enseigne aux autres joueurs des niveaux.
Okay.
Puis c'est une expérience générale. C'est les points d'apprenti d'ingénieur et les points d'apprenti de scout, ça tombe tout dans la même catégorie. Okay. C'est des points d'apprenti, point.
Fait que
c'est,
ça t'ouvre une autre branche,
quoi? Ben, c'est les points qui nous permettent aussi de devenir maître d'une profession.
Okay.
Lorsqu'on veut devenir maître, ça prend 620 points d'apprentissage pour devenir maître d'une profession.
Okay.
Donc là, c'était 575 points pour devenir politicien. C'est ce qui est drôle, parce que quand la patch a été mise à jour, j'ai automatiquement... Quand j'ai connecté pour la première fois après la mise à jour, j'étais automatiquement...
Ton arbre de compétences a apparu, oui.
Ouais, c'est ça, mais j'ai pas opté de l'apprendre, mm-hmm, parce que la politique ne m'intéresse pas vraiment dans ce contexte-là, mm-hmm, pour ce personnage-là, du moins.
Mm-hmm. C'est beaucoup trop de travail aussi, il faut vraiment...
Ben, c'est pas juste ça, c'est qu'à un moment donné, quand t'as un personnage qui est parti dans une direction, puis tu sais, tu fais du jeu de rôle, là, à un moment donné, fait que tu le continues dans cette direction-là. Mm-hmm. Tu sais, mon personnage est médic, n'a pas vraiment manifesté des habilités de leadership, mm-hmm, autre que de comment suggérer aux gens, comment éviter de se faire péter la gueule.
C'est un bon conseiller.
Exactement.
Et non le politicien.
C'est ça. Donc l'idée, c'est ça. On fait des choix avec nos personnages, puis ça va dans la direction que ça va.
Dans le fond, tu as un rôle qui peut être plus important que le politicien parce que tu peux les mener comme des marionnettes.
J'ai réussi à convaincre une couple de personnes à prendre des directions. C'est assez intéressant.
C'est ça.
Donc le politicien, c'est le maire de la ville qui a l'opportunité de construire les bâtiments municipaux, ou du moins de donner les droits d'établir les bâtiments municipaux.
Okay.
Fait que les bâtiments municipaux peuvent appartenir, la cantina peut appartenir à un autre joueur que le maire, mais c'est lui qui va octroyer les droits de
c'est un droit de construire de zonage, à cet endroit-là.
Les droits de zonage. Ben, tu donnes les droits de zonage au sein du rayon de la ville,
okay.
De la superficie de la ville. La okay, superficie donc, augmente avec les niveaux.
OK. J'étais pour dire, est-ce qu'il y a une limite de grosseur?
C'est ça, c'est que ça commence avec le premier niveau. C'était 150 mètres, je crois. Le deuxième niveau, 200, et ainsi de suite.
Parce que je peux pas croire qu'une ville de joueurs peut devenir plus grosse qu'une ville de base comme Corellia, par exemple.
Ça dépend. Ça dépend de ce que les joueurs en font.
OK.
Ben, c'est qu'une fois, à un certain moment donné, une ville devient une cité. C'est quand ça devient une cité que là, c'est le dernier. Il y a quatre catégories de villes.
Okay.
Pour devenir une cité, je pense que c'est 90 citoyens. Là. C'est pas, okay. pas évident d'aller chercher ça. Là.
Mm-hmm. Les citoyens qui vont payer, etc., pour habiter
ouais,
là.
Ouais, puis... c'est ça. Mais remarque que plus tu as de citoyens, moins tu es obligé de mettre les taxes hautes,
mm-hmm.
d'une certaine façon. Malgré qu'il y a des bâtiments municipaux qui coûtent cher en maintenance, là, c'est affreux. Là, parce qu'évidemment, tous les bâtiments ont une maintenance. Il faut payer les frais mm-hmm. d'utilisation pour ces bâtiments-là. Mm-hmm. Et puis, il y a des habilités aux villes aussi. Une ville peut être... si on veut faire une ville qui encourage les médecins, bon, ben ça veut dire que toutes les actions médicales vont être plus performantes dans cette ville-là.
Okay.
Mais c'est des
La frais, ville a un rôle.
C'est des frais supplémentaires par semaine, évidemment. Mm-hmm. Par jour. À l'heure ou par jour, je ne sais plus. Mm-hmm. Je pense que c'est à la semaine, les frais.
Une ville qui veut spécialiser dans la réparation de peu importe.
Ben c'est ça, c'est que tu peux vraiment orienter les spécialités des villes en fonction.
Mm-hmm.
Tu peux faire une ville généralisée, ce qui veut dire que ça va coûter une jolie fortune en frais de maintenance.
Mm-hmm.
Sinon, tu peux la consacrer. Si pratiquement tous tes citoyens sont des artisans, bon ben tu vas faire une ville mercantile avec, mm-hmm. c'est des choses comme ça. Pardon. Fait que pour les villes, c'est ça. Il y a les bâtiments, évidemment, qui sont plus performants. Les centres médicaux vont permettre plus de performance que les villes de base.
Récupération plus rapide.
C'est ça. Fait qu'ils ont donné, l'emphase sur les outils de joueurs. Mais ça, c'est une mentalité qu'ils ont depuis le début. C'est que ce que tu trouves dans le jeu va être bien, mais ce que les joueurs vont fabriquer va être mieux.
OK. Mais c'est bien quand même d'avoir des villes spécialisées.
Mm-hmm.
Parce que le fait d'avoir fait qu'une ville généraliste va coûter très cher va empêcher de compétitionner les villes de base qui sont des villes généralistes. Si ça coûte trop cher, il n'y en aura pas. Mm-hmm. Il n'y en aura pas d'autres.
C'est ça.
Éventuellement. Bon, ensuite de ça, dans la nouvelle mise à jour, tu avais les montures,
oui.
Monter les bêtes pour les.
Oui,
pour,
ça, servir comme ça, c'était très attendu. Ça, c'était très attendu, les montures, parce que la galaxie est grande. On est tous un petit peu écœurés de courir comme des Ben Johnson. Là.
Vous êtes bons pour le jogging, hein, maintenant.
Ah, et on a tous des mollets en acier. Là.
Ils shootent tout au stéroïde.
En fait, non, ça s'appelle. Comment ça s'appelle donc? Ça s'appelle du Neutron Pixie.
OK, il y a un équivalent des...
Ah, il y a des drogues dans le jeu, là.
Ah, ouais?
Ah oui, il y a des drogues dans le jeu, puis j'en ai ramassé une coupe, là, d'un ruelle, là, en état de décomposition avancée, là. On a réussi à en mettre deux sur le programme, là, puis ils sont corrects, là. Ils n'ont pas consommé depuis je sais pas combien de temps.
Mm-hmm.
Donc, les montures, c'est le fun, parce que ça permet... Ça rend ça a rendu le rôle du creature handler très populaire,
mm-hmm.
parce que c'est lui qui entraîne les créatures à devenir des montures. Ça permet de naviguer le territoire beaucoup plus facilement. La problématique lorsque tu es sur une monture, c'est que toutes les manœuvres de combat spéciales sont nullifiées. Tu peux pratiquement rien faire lorsque
tu
es sur une monture.
Tu peux juste en servir comme transport, point final.
Tu peux te battre, mais de façon très inefficace. T'sais, c'est vraiment juste
défensif. Faire foncer la bestiole dans l'ennemi, peut-être.
Oui, ben, l'avantage, c'est que tu te déplaces plus rapidement, mais tu te fais taper dessus quand même. T'sais. Fait que c'est pas toujours évident. Dans une expansion de la semaine prochaine... Non, excuse, c'est moi. À la mi-décembre, il va avoir la sortie des speeders.
Enfin.
Les repulsor lift.
Mais c'est individuel quand même.
C'est des monoplaces aussi, encore une fois, tout comme les montures.
Mm-hmm.
L'avantage des speeders, c'est que ça va aller mauditement plus vite. Ils vont monter ça de trois. Il va y avoir trois genres de speeders. Tu vas avoir le speeder comme le X-34 que Luke conduit dans New Hope. Tu vas avoir le swoop qu'on retrouve dans la version édition spéciale de New Hope. Puis
une
aussi,
moto, dans le fond. Le
swoop, c'est une version Harley Davidson, okay, si tu veux, d'un
repulsor. Speeder bike.
D'un speeder bike. Mm-hmm. Le speeder bike va être là aussi.
Okay.
Fait que dans l'ordre de vitesse, ça va être le speeder bike qui va le plus rapide, mais ça va être le plus fragile aussi. Mm-hmm. Facile à péter. Le swoop va être très résistant. très bonne performance, rapide, relativement rapide. Le moins rapide, mais le plus robuste, ça va être le Speeder, de le X34.
Excellent.
Puis ça va être...
Est-ce qu'on va pouvoir transporter du cargo dedans?
J'en ai aucune idée. C'est un sujet qui a été questionné longuement dans le jeu. Ça serait le fun, parce que c'est drôle, parce que sur les montures, sur la selle, on a ce qui ressemble à un petit radio portatif, là, ce qu'on appelle les Ghetto Blasters. Mm-hmm. Ça a l'air de ça, fait qu'on se dit, on n'en veut pas de radio, nous autres, on veut un espace de rangement, on veut des sacoches, quelque mm-hmm. chose. Fait que peut-être que les développeurs vont écouter les commentaires des joueurs, puis vont aller vers ça. Ça serait le fun qu'un je suis pas sûr que le speeder bike va avoir de l'espace de rangement, parce que c'est quand même assez petit. Mm-hmm. Par contre, le X34, lui, il a quand c'est même ça. Un petit peu plus de place de rangement. Mm-hmm.
Excellent.
Moi, ce qui me ferait, c'est le terme monoplace. Mm-hmm. Parce que si c'est peu, juste comme distanciément rapproché de Medal of Honor, où il y a des avions monoplace, que tu peux embarquer du monde sur les ailes, j'imagine.
Non, on parle de Battlefield, c'est pas
pareil. Battlefield, c'est ça.
Mais ça... Non, non, parce que l'interaction n'est pas physique dans le jeu. tu peux pas interagir physiquement.
T'as l'action embarquée. C'est ça. Puis après, tu déplaces.
Puis l'interface change en fonction du cockpit du véhicule. Ce qui est le fun, c'est qu'on a le contrôle de vitesse avec la souris. C'est qu'on va appuyer sur le bouton de souris pour aller plus rapidement. Puis on va avoir un système de zoom in, zoom out là, qui va nous permettre d'aller en première vue avec le cockpit. Okay. Puis la troisième personne aussi à l'arrière. Fait que ça peut être bien intéressant. Mm-hmm. Si tout va bien, je pense qu'ils sortent sur le centre de test cette semaine ou la semaine prochaine. Puis à mi-décembre. Si tout va bien, encore une fois, on devrait avoir ce cadeau-là pour les fêtes.
Tu vas voir la résurrection du Bunta Eve avec des courses de speeder.
Oui, parce que justement, la dynamique de mouvement va être faite que tu vas pouvoir sauter des collines puis t'amuser, fait que c'est garanti qu'il va y avoir des courses.
Et là, le pari va commencer.
Ouais. Ça va être génial.
Les guildes de pari, etc. Ça peut être assez quelque chose.
Le cobaye 2.
ensuite, les assurances ont été activées, que tu me disais.
Ouais, ça, les assurances, c'est une autre histoire. C'était quasiment inévitable parce que ça influençait.
Protéger tes objets, dans le fond.
Oui, parce que ça influençait directement ce qu'on appelle le PVP, le joueur versus joueur. Parce que lors des combats joueur contre joueur, il n'y avait aucun détriment à se faire buter. Je me fais taper dessus, pas grave.
Tu revenais, je reviens, tu reconnais tout ton équipement.
On continue à se taper dessus, puis il n'y a pas de problème. Okay. Donc, c'était un jeu de souk à corde infini parce que la corde ne finissait pas. Mm-hmm. Puis il n'y avait pas de marqueur dans le milieu pour dire qui avait gagné. Fait que c'était un peu stupide. Maintenant, avec les assurances, ce qui arrive, c'est que quand tu reclones, quand ton personnage revient dans le jeu après être mort, si tes éléments n'étaient pas assurés, tu as 5% de dommages à tout ce que tu avais sur toi. Okay. Pas tout, parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas influencés par les assurances, mais les vêtements sont influencés, l'armure est influencée, les outils sont influencés. Donc, tout ça peut se faire endommager.
Okay.
Donc, moi, ça fait déjà deux paires de pantalons. J'ai perdu un bijou qui m'avait été donné. Ça m'a fait de quoi? Puis, des gants. Je suis chanceux, c'est juste des items sans gros impact que j'ai perdu.
Mais quand tu meurs, il y a une certaine partie que tu perds automatiquement. Imagine le loot que tu peux te faire voler.
Le loot n'est pas activé encore.
Non, OK.
Ça, je pense que... Ben, de toute façon, ça, je pense qu'il y a encore des problèmes avec ça. Okay. Parce que le loot va fonctionner. Quand je meurs, tout ce que j'avais pas assuré est resté...
À l'emplacement de ton corps.
À l'emplacement où j'étais. Mais je pense qu'ils vont le nullifier, ça, le loot, en PVP. Parce que de la façon que je vois l'assurance, c'est le dommage. Mm-hmm. Les assurances servent à te protéger contre le dommage parce que si t'es pas assuré, tu vas recevoir 5% de dommage. Si t'es assuré, c'est juste 1% de dommage.
Okay.
Donc, il y a quand même une nette différence. Mm-hmm. Surtout quand tu considères que dans une grosse bataille, joueur contre joueur, tu peux recloner facilement 20 à 25 fois. Là.
Okay.
Ça fait bien les enfants qui ont disparu, ça. Si t'étais pas assuré. Le problème, c'est que ça coûte une fortune.
Exactement. Imagine quand les speeders vont sortir. Puis
les speeders, je sais pas s'ils vont être influencés par les assurances. Par contre, ils vont prendre du dommage à l'usure. Ils recloneront pas avec toi les speeders, mais il y a des garages déjà installés, fait qu'il va falloir que tu arrêtes au garage, faire réparer, puis ainsi de suite. Fait que je sais pas combien de gaz va coûter.
Si tu meurs à un endroit à côté de ton speeder, j'imagine que le speeder il va peut-être avoir une clé spéciale que.
Ah, il y a juste toi qui peux t'en servir.
Okay, okay.
Il y a juste toi qui peux t'en servir, mais ce qui arrive, c'est que le speeder, faut que tu le maintiennes, sinon il va s'user à la longue, puis à un moment donné, clac, il va disparaître.
Un petit tour.
C'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a de l'animation, parce que supposément, plus ils sont maganés, plus il y a de la fumée, puis des flamèches qui vont sortir de là, ça va être dangereux.
C'est moi, speeder avec le boucan noir.
Hey, tu brûles ton huile.
Oui, j'imagine. Aussi, tu m'avais parlé comme dernier point, c'était plus un commentaire, tu me parlais du PVP, puis de... Peut-être du fait que c'est pas au, selon tes attentes.
C'est pas non seulement mes attentes, mais les attentes des autres joueurs. Parce que moi, c'est ma première expérience en PVP. Mm-hmm. J'avais jamais joué de MMORPG avant. Et puis le problème avec le PVP, c'est qu'il n'est pas impliquant. Pour employer les termes d'un joueur qui m'en a parlé, qui a joué à pratiquement tous les autres jeux de MMORPG mm-hmm. avant. La problématique, c'est que t'as pas de rush d'adrénaline. Okay. Y a pas le stress du combat. Y a rien là. C'est la problématique présentement. Le jeu contre l'environnement est beaucoup plus intéressant. Là. T'as beaucoup plus d'intérêt à sortir des petites manœuvres plus intéressantes. Le PVP est à retravailler, je pense. C'est à peu près l'élément, le plus gros défaut du jeu, c'est ça présentement. Selon les dires de beaucoup de gens. Y a des problèmes à tous les niveaux. Juste dans le temps de chargement. Si j'ai une machine qui est moins performante que la tienne, le mm-hmm. temps que je recharge mon personnage, tu peux arriver, puis si je suis dans un état déclaré, tu peux venir me taper dessus, puis donc j'aurais même pas eu l'opportunité de répondre au combat. T'sais.
Ok.
C'était un peu nouille. Mais ça, je pense que c'est la dame de tous ces jeux-là. Les temps de connexion. Là.
Mm-hmm. Ouais. La latence, comme on dit. Exact. En français. Donc, merci Martin.
Pas de
problème. Je pense qu'on va arrêter là-dessus parce que ça commence à s'étirer drôlement.
Je veux pas dire qu'il y a des gens dans le chat qui commencent à s'endormir, là, mais...
Très possible. Donc, on part à une pause et on revient immédiatement avec la chronique événement et la fin de l'émission. Donc, on revient immédiatement à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
www.citycon.net.
Hi, this is Mike Gallo, the producer for Star Wars Knights of the Old Republic for LucasArts, and this is Star Wars on Direct.
Bienvenue sur Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Maintenant est venu le temps de la chronique. Événement, ce qui se passe autour de vous dans votre communauté.
J'adore mon intro. on va commencer par faire un petit retour sur SFX.
Okay.
On a des nouvelles de l'organisateur. Alors, la convention a compté un petit peu plus que 3000 visiteurs. En 3 jours.
Wow.
Excellent.
C'est bon. Pour un premier essai. Là,
premier essai.
Pour un premier essai.
Publicité anglophone seulement.
Oui, exactement. Puis en plus, le bouche-oreille va travailler.
Non, il y en avait un petit peu en français aussi. Oui.
Le bouche-oreille.
À Z-Télé, puis dans le ici, puis le bouche-oreille.
Si le bouche-oreille se fait l'année prochaine, il va en avoir plus.
Effectivement. D'ailleurs, il y avait quelques, voyons, des pôles.
Des sondages
qui ont été effectués à l'interne, qui nous ont demandé de qu'est-ce que vous avez trouvé qui était le mieux, qu'est-ce que vous augmenteriez l'an prochain, plus d'animés, moins d'animés, plus de BD, moins de BD, des choses comme ça.
Plus de Star Wars.
Ouais, c'est ça, plus de Star Wars.
Ah, mais moi j'ai constaté une chose. Dans l'entrevue que vous avez avec James, je pense qu'il disait qu'ils avaient couvert à peu près tous les buts, mm-hmm. Ils ont manqué une chose très importante, Babylon 5.
Ah,
effectivement.
Dans les séries Star Trek, tu parles, ouais.
C'est pas Star Trek.
Non, c'est pas Star Trek.
Mais dans les séries de science-fiction, okay. Il y avait Star Trek, il y avait Final Conflict.
Il y avait Gene Roddenberry.
Oh oui, en masse.
Ouais. Mais il n'y avait pas de. Effectivement, il n'y avait pas de Babylon 5. Mais je dirais que c'est peut-être pas la fin du monde parce que
non,
Babylon
non,
5,
non.
Ça reste dans science-fiction.
Tu aurais pu avoir Stargate, tu aurais pu avoir.
Aussi, oui, c'est
fait, ça. Si cette année, ils nous ont shooté 3 Gene Roddenberry, puis l'année prochaine, ils nous shootent. 3 Delenn, Sheridan, puis
ça pourrait être intéressant.
Peu importe qui d'autre qu'on pourrait avoir là,
ouais.
Ça pourrait être super cool.
Ouais, ouais. Ben, l'idée, c'est que je pense que c'est un milieu qui est très en mouvement, donc il faut qu'il fasse avec un peu. Là.
Exactement. Au niveau du comic, j'ai été très heureux de voir la scène montréalaise que je connais, des dessinateurs que je connais là, qui sont là. Qu'il y en avait beaucoup qui étaient là. J'étais très content.
Oui, c'est vrai. Je suis resté surpris de voir la quantité de noms réels, de français, de noms français ça, montréalais qu'il y avait, québécois.
Il y avait l'équipe de Mensuel qui était là. Mensuel qui est un communiqué mensuel sur les comics les comics montréalais. Et puis Éric Thériault qui était juste derrière nous, justement, qui était quelqu'un de très bien. Yannick Paquette, qui est le créateur de Nightwing.
Oui.
Qui est montréalais, était présent.
Cool.
Alors, c'est vraiment quelque chose de super cool. J'ai oublié d'amener mon comic de Nightwing.
Bon, numéro 1.
Enfin. Alors, c'était ça pour SFX. C'était donc un flagrant succès.
C'était un grand succès. Star Wars en direct.
On a passé un merveilleux souper avec Peter Mayhew. Moi et Martin, on a aussi
avec
beaucoup
de joie
à aller passer jusqu'à 3h du matin au Vieux Dublin avec Garen, Robert O'Reilly.
C'était pas mal de fun, ça.
Surveillez vos emails. Petit inside. Bref, pour ce qui se passe sur la scène maintenant internationale et...
Donc, François Masson, Farscape.
Les communautés.
Aussi,
oui, Farscape
c'est vrai.
Aussi.
C'est vrai. Il y en a beaucoup.
Farscape, d'ailleurs, qui est dans le trouble présentement. C'est des autres troubles.
C'est canadien, Farscape? Non.
Il y a une partie canadienne, oui. Okay. Si je ne me trompe pas, c'est...
Beaucoup de comédiens canadiens.
Il y a des choses faites à Toronto. Et justement, c'est sur le point d'être coupé, cette série-là. Okay. Là, il y a beaucoup de fans qui se battent pour la sauver.
Ah, le CRTC. Ouais. Le budget.
Sans commentaire. Bref. Alors, on veut signaler, évidemment, que... Il va y avoir le fameux souper du Nouvel An cet an qui va avoir lieu au mois de janvier, autant au Québec qu'en France cette année.
Hey, c'est le 3 ou le 4?
Pardon. Oui, effectivement, le 3 janvier en France. Et, pour
c'est le premier samedi de l'année 2004.
Donc. Exactement. Et puis, un peu plus tard, il va y avoir aussi le 5e anniversaire de cette LAN, au mois de février, à surveiller. On vous redonnera plus de détails sur ces événements. En attendant, vous pouvez toujours passer dans les forums de CiteLAN.net pour avoir tous les détails sur ces merveilleux événements qui s'en viennent. une convention que je veux.
Aussi en France, tu finis tu par.
Ouais, ben c'est okay. Ça, là. C'est notre cher ami JediCon okay. Qui va avoir lieu à Basildon, Essex, avec des invités de Star Wars comme Ray Park, Michael Sheard, qui était à Montréal il n'y a pas très longtemps, Tom Weldon, qui joue le rôle de Gila Jeans, Bounty Hunter et un Stormtrooper, Stephen Calcutt, un Gamorrean Guard, et il était le stand-in pour David Prowse et Peter Mayhew, Tim Dry, qui joue le rôle de G. Quile, Whipped Tennis Pijek, et Ilum and Captain Verak, un Mon Calamari Officer, Sean Crawford, qui a joué nul autre que Salt Mary Yakface. Hans Jensen, le co-illustrateur de Star Wars Incredible Cross Section. Et Richard Chase Moore, l'autre Darling Kinsley Star Wars Incredible Cross Section co-illustrator. Pardon. Alors, la convention de JediCon va avoir lieu le 14 décembre 2003 à Basildon, au Basildon Sports Center, Nethermain, Basildon, Essex.
C'est un point en Angleterre?
En Allemagne.
En Allemagne, ok.
Et ça va avoir lieu, je crois bien que ça va être le samedi de 11h à 4h et le dimanche de 11h30 à 4h. Mm-hmm. Les billets vont être... ah non, en fait, c'est seulement le dimanche de 11h à 4h pour ceux qui ont des billets qui ont acheté des billets à l'avance, de 11h30 à 4h pour les billets à la porte. Alors, une convention en Europe à surveiller, car elle risque d'être fort intéressante.
Star Wars Universe.
Star Wars Universe, effectivement. Il est déjà ouvert. Ah. Star Wars Universe et Sci-Fi Universe se réunissent pour créer l'événement en espérant que d'autres sites se joignent prochainement à eux afin d'en faire un des plus importants rassemblements de fans cette année. Quel que soit le lieu d'habitation, si vous souhaitez rencontrer d'autres fans et découvrir le retour du roi avec des personnes qui partagent cette envie, Star Wars Universe et les sites partenaires vous aideront dans l'organisation et le suivi des actualités de vos contrées. Alors, on fait un peu un retour sur l'attaque des fans. Mm-hmm. D'ailleurs, je vais revenir sur le Lord of the Ring pour ce qui se passe à Montréal.
Ouais,
si vous désirez
parler.
Si vous désirez faire des sorties costumées, n'hésitez pas à le signaler à Star Wars Universe et nous envoyer des clichés des cas rares. Ce sont les films qui peuvent se permettre de déchaîner un tel enthousiasme. Voilà. Alors, présentement, Star Wars Universe est malheureusement hors ligne. Mm-hmm. On leur envoie nos plus sincères sympathie.
On a eu le même problème exactement, donc...
Exactement, c'est une conspiration, Lucasfilm.
C'est ça.
Encore mes folles conspirations.
C'est pas un virus Yuuzhan Vong qui se promène?
Ouais.
C'est Alpha Red. Exactement. Alors...
La preuve qu'il fallait pas y aller.
Alors, pour ce qui est de la première montréalaise de Return of the King, on a... je me suis battu avec les têtes dirigeantes de la compagnie Alliance, qui sont les fournisseurs des films pour le Canada.
Distributeurs.
Exactement, distributeurs des films pour le Canada. Et le seul cinéma qui va avoir un marathon à Montréal sera le Paramount. On parle en version originale anglaise. En version originale française, ça va être... En version française, ça va être le Quartier Latin.
Quartier Latin.
Et à Québec, il va y avoir une version française, si je ne m'abuse, aussi au Star City. Ou quelque chose comme ça. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'ils pourront pas nous fournir des
extended edition,
des rouleaux, des films,
des
bobines de films pour l'événement que nous organisions en conjointement avec TheOneRing.net. Alors vous l'apprenez en primaire sur Star Wars en direct. Les autres personnes, tous les membres vont être contactés cette semaine. Mm-hmm. Bref, malheureusement, nous ne pourrons offrir un marathon pour Lord of the Rings le 16 ou le 17 décembre. Cependant, on veut confirmer que nous allons bel et bien faire un line party simplement pour le Return of the King.
Je suggère peut-être à ceux qui ne sont pas inscrits à cette sortie-là, qui voudraient le faire, de surveiller le site parce que, d'après moi, il va y avoir beaucoup de cancellations.
Il y a probablement des chances, qu'on espère un support assez intéressant des fans, qui, je me dois de le mentionner, les fans de Lord of the Rings qui nous ont suivis dans toute cette
cette saga.
Cette saga épique depuis le début ont été extrêmement supporteurs et supporteurs de nous. Alors, merci beaucoup à tous ces fans, s'il y en a qui nous écoutent.
Alors, voilà.
C'est tout pour la chronique.
Événement. Donc, rappel que ce soir à 19h, on reprend le bateau pour la version anglaise.
Non.
Et puis, la prochaine émission, le sujet sera les 10 premiers épisodes de Clone Wars, le dessin animé, qui sera le 14 décembre. Donc, on va parler des 10 premiers épisodes avec vous et en studio. Remerciements à nos commanditaires, bien sûr, c'est Clan.net, Legend Action Figures, simple-net.ca et aussi nos partenaires, la Ligue Costumée Francophone, le magazine R2, Star Wars, Fan Wars Belgique, StarWarsUniverse.com, R2D2 Menace, Roger One, Fan Wars avec un Z, Star Wars Holonet, Univers1.net, la 501e française, Star Wars Galaxies France, le site de l'officiel, Kamui Web et Anakin Web. Tous ces sites et liens sont disponibles sur notre site officiel de la radio Star Wars en direct, swendirect.com. Si vous avez des commentaires ou suggestions, écrivez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Je vous rappelle que si vous aimez cette émission, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille est la meilleure publicité que l'on peut avoir de la part de nos auditeurs. Et sur ce, je vais préparer le... Je suis le temps perdu, moi, dans mes playlists. Au nom de moi, Sébastien Martin, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Cette émission vous a été rendue possible grâce à SimpleNet. Que vous soyez webmestre, joueur en ligne ou administrateur de serveurs de commerce électronique, chez SimpleNet, nous aurons toujours une solution pour répondre à vos besoins.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct. Surveillez StarWarsOnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission.
Avez-vous localisé la base rebelle, capitaine?
Oui, Seigneur Vador. Nous avons repéré la fréquence de leur émission pirate, Star Wars en direct.
D'où émettent-ils?
Ils émettent depuis Hoth.
Changez de cap. Nous partons éliminer les rebelles. Personne ne se mettra sans route.
Oui, mais les rebelles sont menés par un certain lunatique.
La force est puissante en lui.
Oui, on l'abandonne?
Oui. C'est trop risqué. Nous prenons aucun risque.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Citlan.net, c'est
les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars.
Plusieurs dossiers sur la saga.
Des événements et rencontres entre fans.
Un énorme forum de discussion.
Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct.
Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe.
Et bien plus encore.
Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Hi, I'm Sean Williams.
And I'm Shane Dix, and we're the authors of the new Jedi Order trilogy, Force Heretic.
You're listening to Star Wars on Direct.
Troy Denning, author of Tatooine Ghost and the New Jedi Order novel Star by Star. You're listening to Star Wars Undirect.
Sir, if you'll not be needing me, I'll close down for a while.